Bonjour.
Avant le vendredi soir, je n'avais rien pour me divertir. Maintenant, j'ai l'hebdo Étienne. Bonne émission.
Il m'éclate Thomas de Sœur avec cette. L'impression qu'il annonce Michel Drucker un petit peu. Avant le vendredi soir, je savais pas quoi faire et maintenant, Samuel Etienne. Merci à Thomas de Sœur, merci à Sarah Coppona. On a pris l'habitude maintenant d'écouter ce petit générique, cette petite introduction signée par Sarah Coppona. C'est une musicienne, c'est une streameuse. Allez voir sa chaîne. C'est vraiment super sympa. Donc, déjà de merci et puis un grand merci à vous trois. Merci d'être là.
Bah, merci Samuel pour l'invitation,
Pardon
c'est
pour
un
cette voix
plaisir.
un petit peu sourde, c'est un petit peu les petits... Pas virus, j'ai pas de virus à vous donner, mais le petit
On l'a
rhume de l'hiver.
esquivé cet hiver, hein.
Ouais.
Vers Noël,
Vous avez été un peu...
ça
Il y a
porte
eu des
chance.
malades cet
Moi j'ai
hiver?
été malade.
Non,
Laure,
pas
Zach?
le moins du monde, la patate, j'ai rien
Ah,
eu.
je
Ouais,
suis
vraiment.
rarement malade, moi.
Donc un grand merci à tous les trois. Donc j'aime bien prendre un petit peu de temps au début pour qu'on se parle, qu'on se raconte nos actualités, qu'on se présente. À ma droite, Kayane, merci. On s'est pas mal parlé par message interposé ces derniers temps, mais c'est la première fois qu'on se voit en vrai.
C'est vrai, et je suis très heureuse de te rencontrer pour la première
Mais
fois.
moi aussi, ça y est, on est à la maison, on a parlé de plein de choses, notamment d'e-sport et de gaming ensemble, et de salon de thé, c'est très important. Et de salon de thé, hein, vous connaissez l'actu salon de thé, bien sûr. Laure, t'es au
Il s'est
courant?
sorti de nulle part.
Non, non,
Ah!
non.
Kayane, elle a ouvert un salon de thé à Paris, il y a
Oui.
quelques jours. Il y a quoi, il y a 15
Il y a
jours?
2 semaines.
Je l'avais
Oh,
vu
quelle
passer, moi. Ah
info!
si,
Désolée, bah,
énorme.
félicitations,
Un
trop
super
bien,
salon
c'est
de thé. Non, mais la
gentil.
carte, elle est folle.
Bah oui, mais avec tout ce que tu fais,
Ah
avec tous les voyages aussi.
Prochaine fois que je repasse en France, promis, je passerai.
Kayane, quand tu n'ouvres pas un salon de thé. Ah, plus près du micro, Kayane? Ok. Kayane, quand tu n'ouvres pas les salons de thé, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment te présenter? Gameuse.
Oui, je suis joueuse professionnelle de
Je...
jeux vidéo de combat.
Ouais.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui touche à Soul Calibur, Street Fighter, Tekken, ce
Ouais.
type de jeu. Et je joue depuis mon plus jeune âge,
Joe, c'est pas
depuis
Kayane qui est loin du micro, c'est
Ah.
un réglage que tu as sur le micro de
Ouais,
Kayane qui
c'est
fait un truc bizarre.
Ah!
Si tu pouvais nous mettre les mêmes réglages. C'est pas toi Kayane, en fait,
C'est
il y
pas
avait
moi?
un problème de déclenchement de
C'est
seuil.
les poils de ton chien,
Voilà,
en
sachez que sur nos micros,
fait.
voilà, on balance les coulisses, il y a des poils de chien, c'est vrai, les invités les ont vus, ils ont interrogé Joe, et Joe dit pourquoi il y a des poils de chien sur les chours? C'est le chien de Joe, qui est très gentil d'ailleurs, qui a des longs poils. C'est quoi comme race? Ouais, c'est un golden.
Oh, bah je
Donc
pardonne
ici,
alors.
on stream avec des micros et des poils de golden. C'est la classe.
Pas de
Voilà.
soucis,
Je pense
trop
que c'est
mignon.
réglé le problème
Ami des
de...
animaux.
Voilà. Mais c'est bien, ça sert à ça aussi. Donc joueuse professionnelle,
Oui.
tu nous rappelles les jeux?
Soul Calibur,
Ouais.
Street Fighter, Tekken, c'est le type de jeu de combat auquel je joue.
Ouais.
Et puis après, je suis animatrice sur Game One depuis bientôt 10 ans. Ça fait un sacré bout
Et
de temps.
il y a MMG7F dans le chat qui écrit est experte en humiliation de Pascal Pro. Et là, il faut que je vous explique. Et cette séquence, je vais vous la montrer. Moi, Kayane, c'est comme ça aussi que je l'ai repérée. Elle a été invitée d'RTL, la radio. Ah, vous connaissez la séquence, hein, vous
Bien
l'avez
sûr.
vue.
Ah ouais.
Kayane, elle a été invitée sur RTL il y a quelques temps, voilà, pour parler de jeux vidéo et d'e-sport, de compétition, de gaming, voilà. Elle a eu le droit aux questions, on va dire, les plus éculées, enfin les
Les plus
plus...
travaillés.
Ouais.
C'est
Voilà.
souvent le cas,
Les
ouais.
plus ratés sur le jeu vidéo. Et Kayane a été incroyable dans la qualité de ses réponses. Voilà. Et de à la fois, enfin, c'était super zen et super
C'est
carré.
super gentil,
Genre,
merci.
ok, vous avez rien compris, mais je vais vous expliquer super calmement, ça va bien se passer. Et la séquence est géniale et on la regardera ensemble. Voilà.
Ok,
Magnifique.
trop bien.
Super.
À ma gauche, Laure Vallée, qui est déjà venue à la maison dans une rencontre Étienne.
Oui, tout à fait.
J'étais super
Et
content.
c'était trop bien.
Ben
J'avais
oui.
passé une super soirée, un super moment et
Ah,
ravie d'être
mon ami
de
Joe.
retour.
Le problème que tu avais sur le micro de Kayane, tu le retrouves sur celui de Laure.
Ok.
C'est pas grave, on va
Bah
régler tout
arrivé,
ça.
c'est pas
Ça
grave.
switch les problèmes et
Non, parce
tout.
qu'on vient de
Non, mais on va les résoudre sur
on
l'instant.
vient de changer de table de mixage, voilà. Et donc on fait des petits réglages pour avoir un son encore meilleur que les semaines passées. Notamment quand on a Valérie Damido à la maison qui parfois envoie un max de volume. Et en fait, on a acheté une nouvelle table de mixage spéciale Valérie Damido.
Ah
Non mais Joe
oui,
aussi,
j'adore.
il faut le dire, pour que ça sature pas trop quand Valérie est là, quoi. Donc on essaie des nouveaux réglages. Donc Laure, donc moi je t'ai longuement reçu ici et c'était génial parce que moi qui suis très curieux de cet univers que je découvre à peine du gaming et de l'e-sport, ben à l'époque tu m'avais raconté plein de trucs.
Ouais, il se passait plein de choses. C'était pendant à peu près vers les championnats du monde, il me semble que j'étais venue. Et
Ouais.
ouais, non, c'était, on avait passé une super soirée.
Comment te
Très très bonne
présenter pour ceux qui
discussion.
te connaissent pas, journaliste spécialisé e-sport,
C'est
jeux
ça.
vidéo,
Ouais,
ça va?
journaliste, animatrice,
Animatrice.
spécialisée dans l'e-sport, beaucoup de League of Legends, d'autres jeux évidemment aussi. C'est comme ça que
Ça
j'avais
va pas, Joe, sur l'or.
rencontré Marie-Laure.
Ouais.
Et ouais, beaucoup de jeux vidéo de base.
Et actualité, beaucoup de choses en ce moment. D'ailleurs, vous étiez tous les deux hier, je crois,
ouais,
à un événement. Laure, c'est quoi ?
C'était la Ligue française de League of Legends qui avait un événement donc, avec du public, offline. C'était à la scène musicale. Ouais. Et il y avait entre 3 et 4 000 personnes. C'était une super journée.
J'ai vu le live. Je me suis dit, mais comment Laure va venir aujourd'hui ?
Mais j'ai dormi. J'ai beaucoup dormi. Je suis sortie de là. Non, ouais, je me suis vraiment effondrée. Mais c'est un super événement. Vraiment. Mmh. Donc, tu viens au prochain.
Et Laure enchaîne, parce que je crois qu'il y a un...
Et je repars à Berlin demain matin.
Demain matin, très 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 tôt. Zach, vous étiez ensemble hier.
Exact. Ouais. Exact, exact. Je suis aussi allé à l'événement parce que je suis un fan de League of Legends, j'aime beaucoup. Même si ce n'est pas forcément quelque chose que je partage de mon côté ou sur mes réseaux, ça fait très longtemps que je suis un gros fan d'e-sport, que je suis un petit peu de mon côté tranquillement. Et vu qu'il y avait un événement à Paris à côté, que j'avais une place, bah, je suis allé faire un petit coucou. J'avoue que je n'ai pas regardé les 5 parties parce que c'est quand même assez long. T'en as 5 en fait qui s'enchaînent, toutes les équipes jouent.
Donc ça dure combien de temps ?
Ça dure 6 heures.
6 heures à peu près, okay. Ouais.
J'avoue que 6 heures, ça mettait ma patience à rude épreuve, mais je suis venu pour les deux derniers matchs les plus intéressants. C'était très cool.
Zach, on se quitte plus parce que tu m'as reçu très gentiment dans Zach en roue libre il n'y a pas longtemps.
Oui, tout à fait.
J'ai passé un super moment.
Merci.
J'ai dit à toute la planète que je trouvais que Zach avait d'immenses qualités d'intervieweur.
Merci.
Non, mais en vrai, c'était super agréable.
Non, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Ça fait vraiment plaisir parce que je t'avais invité depuis un long moment, puis on n'avait pas pu réussir à savoir. Et là, on avait pu le faire et c'était vraiment un vrai bonheur parce que. Même si je suis quelqu'un qui a lâché la télé depuis longtemps, j'ai été intéressé un petit peu par ton parcours, par ce que tu faisais et tout. Et quand je faisais mes petites recherches, je me suis dit « Ah, là, on a une émission de qualité qui se trame. » Et tu as été un vrai bon client, les gens ont apprécié, c'était très cool.
Non, c'était super, vraiment.
Et j'ai été impressionné d'apprendre que tu te levais à 2h30 tous les jours et que tu tournais, si je me rappelle, 7 questions pour un champion tous les jours pendant 6 jours,
ouais, c'est
tous
ça.
Les X mois.
Ouais, une fois par mois, ouais.
Wow.
Ceci est ce qu'on appelle, les amis, quelqu'un qui a un mental d'acier.
C'est débile, hein, je le recommande à personne. Hein, après, quand tout est sympa, quand le café est bon, voilà, quand on a des petits choux au fromage, et je présente le menu, et des petits gâteaux au chocolat maison. À chaque émission, le buffet s'améliore un petit peu. C'est pas encore formidable, mais voilà.
On est très bien sûr.
On progresse doucement. Zach, pour ceux, encore une fois, qui ne te connaîtraient pas, streamer.
Oui.
YouTuber.
Exact.
Spécialité. Alors, le sport.
Ouais.
Passionné de sport.
Oui, beaucoup de sport, effectivement. Après, aussi autre chose. En fait, c'est vrai qu'à la base, j'étais beaucoup jeux vidéo, notamment sur YouTube. Je faisais du Call of Duty parce que c'était ma licence de quand j'étais gamin. Puis après, j'ai rapidement arrêté Call of Duty parce que c'était plus très intéressant. Et maintenant, je fais beaucoup de choses, du storytelling. À des moments, je fais du react, à des moments, je voyage.
Ouais.
Franchement, maintenant, il n'y a pas vraiment de choses qui me
défendent. Et des interviews et des rencontres.
Exactement, exactement. Mais c'est assez marrant que tu me demandes ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur l'industrie pharmaceutique américaine. Mais après, la fois d'après, c'était une vidéo, on faisait un jeu avec Yas sur des commentaires. Ça n'a pas vraiment de sens, mais on essaye de divertir du mieux qu'on peut. Donc voilà, merci.
Quel crack ce Zach, écrit les LS dans le chat. Il y a plein de petits messages sympas pour tous les trois. Il y a le garde qui arrive à la bourre qui dit « Quelqu'un peut me présenter Kayane en quelques mots, je viens d'arriver. » Non, elle vient de le faire, mais comme le chat est super sympa, les autres viewers vont te le dire. Voilà. On a vu un raid au tout début que je n'ai pas remercié.
Wow.
Linkorep nous a raid, le stream nous a raid. Voilà, merci les amis.
Oula, ça va venir
merci
avec 10 000 personnes.
C'est clair.
Quoi ?
Oui, wow. Bonsoir à tous.
C'est impossible.
8 à 5.
Bah oui, bonsoir à tous, hein, super.
C'est impossible, on vient de démarrer.
Oui.
Bon, bah alors ça, c'est
vous.
Dis donc. Bah c'est vous, ça. C'est vous.
Oui.
Merci pour les raids. Alors, je m'en veux toujours, mais vous devez connaître ça aussi. Quand je reçois des invités, des amis sur un stream, du coup, je suis beaucoup vers vous et beaucoup moins sur le chat. Et ça m'ennuie parce que je trouve que Twitch, c'est ça, en fait, c'est l'échange. Et en fait, je m'en excuse et je le redirai dans la soirée, mais je suis moins sur le chat. Donc par exemple, je loupe les raids, je loupe tous les messages sympas, toutes les petites questions, tous les rebonds par rapport à ce qu'on dit. Les subs, n'en parlons pas, je n'en vois aucun. Donc un grand merci pour tous les messages, pour la participation. Je vais essayer de vous lire un maximum, notamment pour vous faire réagir à l'actualité, au sujet qu'on a choisi ensemble cette semaine. D'ailleurs, je vais vous faire décider dans un instant l'ordre des thèmes, c'est vous qui décidez. Et merci d'avance pour tous les subs et les abonnements, parce que je sais que je ne vous remercierai pas beaucoup. Je vois Yodrey qui dit « T'en fais pas Samuel avec un joli cœur, merci, vous êtes sympa, merci beaucoup. » Je suis content, par contre je ne reviens pas qu'on soit aussi nombreux, ça c'est vous. ça c'est vous trois, et les gentils raids. Il y a plein de choses dont je voudrais parler avec vous, vos actualités réciproques. Il y a une histoire de salon de thé pour le gourmand que je suis qui est très importante.
Je t'attends.
On en parlera.
Chez Yumi.
On en parlera. Mais d'abord, vous proposez les thèmes qu'on a imaginés ensemble, dont on va débattre ce soir. Alors évidemment, vous connaissez mon côté un peu actu, Accro Actu, ma matinale de France Info. Alors cette semaine, très présent, la guerre en Ukraine. Voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Il y a le débat complètement fou à l'Assemblée sur la réforme des retraites. Voilà. Il y a l'ami d'ailleurs, Jean Massier, qui est en stream actuellement. On est dans la dernière ligne droite du débat à l'Assemblée. C'est une dinguerie ce qui se passe. Je crois que ça se termine à minuit. Il y a aussi une histoire un peu très fumeuse et très inquiétante quant à la qualité de l'information, qui est un journaliste de BFM qui a apporté des trucs à l'antenne de BFM, en gros, qui aurait été commandé plus ou moins par des clients étrangers, des États étrangers ou des sociétés étrangères. Bon, c'est une sale affaire. Mais ça, on en a parlé toute la semaine dans les journaux, sur France Info. Et je me suis dit que peut-être on pouvait passer à autre chose, notamment parce que la réforme des retraites et l'Ukraine, j'en parle quasiment toutes les semaines ici. Alors je me suis dit, tiens, on va partir sur autre chose. Et du coup, je vous propose à la maison ce soir 4 thèmes. Voilà. Et c'est vous qui allez choisir l'ordre dans un instant avec le sondage. Premier thème, attention. Ah ben, regardez la qualité de la réalisation de Joe. Joe, on t'a pas vu là. T'as ta petite caméra ou quoi tu...
ah, voilà.
Est-ce que t'as ton micro? Parce que tu mets plus ton micro.
Non, la semaine prochaine.
Alors, j'aime bien quand tu participes.
La semaine prochaine, je mettrai la deuxième
console avec mon micro. Ah, ok, il met plus son micro. Joe, merci. Donc voici les thèmes, mais ça c'est l'ordre initial. Cet ordre il va changer, c'est vous qui allez voter. J'ai oublié de remercier mon sponsor quand même, puisque depuis quelques semaines, c'est grâce à ce sponsor qu'il y a des choux au fromage et des gâteaux au chocolat.
Merci. Ah bah merci à eux.
Je sais pas si vous savez, mais depuis Joe, c'est la combienième? C'est la 22e émission, mais avec un sponsor, c'est la. Depuis, c'est la 6e émission avec un sponsor qui est France Télévisions.
Oh,
ah ouais, carrément. Oh, bah,
c'est bon. Tu sais, je vais le chercher dans le décor. Mais...
En fait, pourquoi? Je suis allé. Alors, France Télévisions est mon employeur. Et quand je fais un nouveau truc sur Twitch, je leur en parle. Et à un moment, je leur ai dit, écoutez, pour l'émission du vendredi, j'ai besoin d'un sponsor pour faire vivre cette émission, pour investir un petit peu, pour acheter un peu de matos. Il me faudrait un sponsor. Est-ce que c'est OK pour vous? Parce que mon image, elle est rattachée à mon employeur.
Ouais. Ouais.
Alors, ils m'ont dit, ben ouais, on comprend la problématique. Et ils m'ont dit, on va peut-être faire même mieux. Et si on était ton sponsor? Si on mettait notre marque dans un petit coin pour un peu t'accompagner? Et voilà, le petit sponsor qui s'affiche. Donc, merci au sponsor France Télévisions de me permettre de développer cette émission. Les thèmes. TikTok, toxique, point d'interrogation. Alors, pourquoi maintenant cette question? En fait, c'est la une du journal La Croix cette semaine qui était vachement intéressante et qui part d'une actualité. Le réseau social préféré des jeunes, c'est comme ça qu'on le présente souvent, TikTok, qui est très puissant sur les plus jeunes, est accusé de plusieurs choses. D'être trop addictif, le scroll pendant des heures. D'être opaque aussi au niveau de son algorithme, au niveau aussi de l'utilisation des données personnelles, tout ça. Et de plus en plus dans le viseur de pas mal de pays, notamment aux États-Unis. En plus, ça vient de Chine. TikTok, donc on connaît les tensions entre Washington et Pékin.
Ouais, complètement.
En France,
les histoires de ballons.
Ah ouais, de ballons notamment, mais pas seulement. C'est la guerre commerciale, c'est plein de trucs. Tu vois. Les puces électroniques, enfin. Et TikTok est un élément de ce bras de fer. Et puis en France, par exemple, et c'est super concret, le Sénat va lancer dans pas longtemps une commission d'enquête sur TikTok. Donc on voit que le sujet est assez sérieux. Voilà. Donc est-ce que TikTok est toxique? Vous me direz ce que vous en pensez, et puis vous-même, vous me direz quel est votre rapport à TikTok. Moi, j'ai créé mon compte genre il y a 15 jours, donc. Donc, je suis un grand spécialiste de TikTok. Joe?
Ouais.
On est sur TikTok.
En plus, tu dois les faire toi-même, les poster toi-même et tout.
Alors non, parce que je ne sais pas comment ça marche.
Étonnant.
Je gère mon compte Twitter parce que ça, j'adore. Mais j'ai toujours pas compris comment marcher Instagram. Et encore moins TikTok. Cet été, je vais passer du temps là-dessus parce que je trouve...
C'est rigolo,
que...
je trouve.
Ouais. TikTok?
Non, d'apprendre à se servir de nouveaux réseaux.
Mais oui, j'ai manqué de
TikTok,
temps.
TikTok, j'arrive pas non plus.
Toi non plus? On va en parler. Deuxième sujet qui va vous surprendre, l'intitulé est un peu bizarre, la récession de l'amitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est en train de vivre, en France, dans les pays occidentaux, peut-être partout dans le monde, une révolution de la vie amicale? Les amis, on les verrait de moins en moins, en vrai. Voilà. Aux États-Unis, il y a des chercheurs qui ont bossé là-dessus qui parlent même d'une récession de l'amitié. La crise sanitaire n'est pas la seule explication. Évidemment, la crise sanitaire nous a tous un petit peu éloignés, mais il n'y a pas que ça. Il y a les réseaux sociaux dont on parlait. Il y a une plus grande mobilité professionnelle, c'est-à-dire que les jeunes, notamment les jeunes adultes, bougent plus qu'avant, études, travail, dans un pays donné ou à l'étranger, donc parfois perdent de vue leurs amis, parfois leurs amis d'enfance. Donc on voit moins ses meilleurs amis et en même temps les connaissances se multiplient, notamment par les réseaux sociaux. Donc des chercheurs en sciences sociales s'interrogent, est-ce qu'on gagne au change en multipliant ce que certains appellent des liens faibles, c'est-à-dire qu'on parle avec plus de gens, mais de façon moins intense, et en perdant en lien fort avec des amis. Quoi. Voilà, donc question autour de l'amitié. On parlera d'amitié, on parlera de famille aussi ce soir, troisième thème. Hop, le voici. La famille qui se réinvente. Il y a deux jours est paru le dernier livre d'un célèbre sociologue qui s'appelle François de Singly, qui montre comment le modèle familial est en train de se réinventer sous l'impulsion de qui, Zach? Des femmes.
Okay.
Donc c'est pas grâce à nous. Selon ce sociologue, ce qui caractérise la vie de famille moderne, la famille moderne, c'est pas le refus d'avoir des enfants, même si c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. C'est pas l'ouverture à l'homoparentalité, même si ça progresse aussi, mais c'est le refus de la part des femmes de prendre en charge les hommes en assurant notamment l'essentiel du travail domestique. Voilà. Donc les femmes qui disent de plus en plus, bon, dis donc, maintenant c'est fini, donc il faut rediscuter de tout ça. Et d'une manière générale, François de Singly constate que la famille reste importante, mais qu'elle occupe moins de place qu'elle a occupée, au détriment d'autres choses, notamment d'autres objectifs, l'équilibre personnel, les amis peut-être. Et puis, dernier thème, et là il est spécialement pour vous. Voilà. À un moment, quand je me suis penché sur votre profil à tous les trois, je me suis dit il fallait un moment qu'on parle de gaming et d'e-sport, parce que c'est un petit peu le fil rouge entre vous. Et moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de tout ça, et donc j'ai fait un tweet hier ou ce matin en disant, mais si on parle de gaming ou d'e-sport aujourd'hui, de quoi on parle?
Il y a eu beaucoup de réponses.
J'ai vu.
J'ai vu tous les tweets là, tout ça.
Justement, moi j'essaie de ne pas en regarder trop pour rester un peu dans la surprise.
Et en fait, les gens ont eu plein de propositions et j'ai sélectionné quelques thèmes. Les filles dans le jeu vidéo et dans l'e-sport aujourd'hui, quelle place? Quel avenir? Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, par exemple, est-ce qu'il faut des équipes mixtes? Voilà, donc on va parler de ça. Quelle perspective pour l'e-sport? Quel budget? Quel développement? On voit que ça grandit de plus en plus. Est-ce que les médias traditionnels, quand tu en parlais d'RTL, Kayane tout à l'heure, est-ce qu'ils vont s'ouvrir à l'e-sport? Est-ce qu'on va voir demain des matchs d'e-sport à la télé? Tu vois, quelle place pour la France dans l'e-sport mondial? Parce que manifestement, on n'est pas trop mal placé.
Mais très fort.
Voilà. Est-ce que ça peut s'améliorer? Est-ce qu'il peut y avoir des aides publiques, gouvernementales pour aider ça? Et dernière question, est-ce que l'e-sport doit devenir olympique? Est-ce qu'il peut y avoir demain des sports olympiques qui seraient des jeux vidéo? Parce qu'on commence un petit peu à en parler. Ça, c'est les quatre thèmes, sauf que c'est vous qui décidez de l'ordre. Je lance un sondage.
Très bon choix. Hein. Voilà. Je tiens à le dire, les quatre sont vraiment archi
intéressants. C'est vrai.
J'ai envie de parler sur les quatre là.
Ouais. C'est fou, c'est des sujets sur lesquels je ne suis pas du tout habituée à parler. Parce que,
sauf le dernier.
Voilà. Sauf le dernier, évidemment, mais bon, t'as vu les questions qu'on m'a posées sur RTL.
Non, mais c'est mine de rien des choses qui sont assez proches de nous et des choses du quotidien, mais sur lesquelles on n'a pas forcément l'habitude d'être soit challengé, soit se poser des questions, soit être confronté à d'autres avis. Donc,
ce n'est pas généralement des sujets qu'on évoque sur les réseaux sociaux en plus.
On peut pas trop parler sur les réseaux sociaux de base, de toute façon, ce n'est pas le meilleur endroit pour avoir un débat, je pense. Donc c'est cool.
Ah, c'est clair.
Je mets TikTok toxiquant à la récession de l'amitié en deux, en
trois. Je ne sais même pas par quoi je voudrais commencer. En vrai, je pense que j'aurais des trucs à dire sur.
Ce qui est bien, c'est que nous, on n'a même pas se poser la question.
Parce que nous, on va laisser le choix au
chat. C'est le choix au chat. Hein.
Voilà, se réinvente et e-sport. E-sport, on va dire état des lieux, quoi. Voilà. Et moi, c'est un thème, je suis content de l'aborder avec vous parce que c'est un thème dont je suis très curieux, dont la presse traditionnelle ne parle pas beaucoup.
Ou parle pas très bien.
Ouais.
T'as raison.
Surtout, pas très bien.
Après, il y a des journaux. Bizarrement, le Figaro, qui est un journal plutôt conservateur et traditionnel, s'intéresse un peu plus que les autres aux jeux vidéo. Et
il y avait Chloé pendant longtemps qui bossait au Figaro. Un autre journaliste, un homme, j'ai oublié son nom, je suis navrée. Mais pareil, qui était plus. Aussi. Chloé était plus.
Et les Échos, e-sport. Le journal économique. Mmh. Alors, pour une autre raison, parce que les Échos se rendent compte du poids économique de ce domaine et font pas mal de papiers aussi. Plus sur l'angle économique du jeu vidéo, mais en vrai, ils sont pas mal faits.
Il y a Paul Arrivé aussi.
Paul Arrivé avec l'équipe qui porte l'e-sport depuis.
Lui, pour le coup, il est sur l'e-sport. Et il ne dit pas de bêtises.
Non,
il est très carré et très professionnel.
Quel ordre, c'est vous qui décidez? 1. TikTok toxique. 2. Récession de l'amitié. 3. La famille se réinvente. E-sport, état des lieux. Le sondage est parti, vous avez 2 minutes. Et on respecte scrupuleusement l'ordre. Voilà, c'est parti. Hop, c'est vous qui décidez. Et moi, je vous lis un petit peu maintenant. Il y a Lazarette qui dit que la chronique du Monde sur les jeux vidéo est plutôt pas mal aussi, c'est vrai.
Ouais, ils ont toujours eu des bons journalistes.
Le Monde, ils sont bons. Je suis abonné à eux depuis quelques mois, ils ont toujours quelques dossiers qui sortent, ils sont vraiment super intéressants.
C'est un bonheur à lire. Laure, un message pour toi de Warkizaru. Ouais. Laure, merci pour ton boulot en e-sport, tu rends les matchs vraiment magiques et tu es une personne exceptionnelle.
Merci beaucoup.
C'est beau.
Voilà.
Merci beaucoup.
Je vous lis pendant le petit sondage, on a 2 minutes. Le Figaro a de très bons journalistes tech, ok. L'équipe fait un super boulot, tu en es d'accord? On vote où? On vote dans le sondage. Il est lancé, ça y est, il est lancé. Allez, je vous lis.
Moi, j'ai une question pour toi, mais je suis pas issu du chat.
Dis-moi.
C'est ton combienième café de la journée?
Alors j'ai une bonne nouvelle.
Faut pas poser la tasse, tu sais, tu peux la soulever, la tasse à la main. La première réaction, c'était oh.
C'est une safe space.
J'ai une bonne nouvelle, je diminue. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais monté trop haut, j'étais monté à 12-13 cafés jour sur mes grosses journées.
Ah oui.
Celle qui démarre de 2h à 19h.
Ouais.
Et donc j'étais monté à 12-13 cafés. Et puis, aigreur, acidité, tu vois, brûlure non-stop.
Ouais.
Donc j'étais allé voir un spécialiste du ventre, là, je sais plus comment, stomate. Je sais plus.
Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais.
Il m'a mis la caméra et tout. Il m'a dit, monsieur Étienne, ça va à peu près, mais il faut arrêter le café. Je lui ai dit, non.
Il a bien ciblé.
Ouais, mais je peux pas.
Comment tu sais?
Mais je peux pas. Et donc, il m'a dit, bah si, obligé. Je lui ai dit, mais non, je peux pas. Donc, alors j'ai diminué. Et donc, par exemple, dans une double journée comme ça, France Info Question, je tourne au café de 2h à 9h. Mmh. Donc, je vais en boire pas trop, en fait, 4-5.
Ouais.
Tu vois. Et après, je passe au thé matcha.
Ah bah c'est très bien.
Ok.
Voilà. Le thé matcha, je bois énormément de café. Ouais. Oui. Le thé matcha, c'est vraiment.
Enfin, c'est voilà.
Et ça m'empêche plus de vraiment dormir parce que je sais pas si t'avais ce problème-là vu que tu dors peu aussi.
Ouais.
Tu te reposes pas vraiment sur les temps où tu dors quand tu bois du café constamment. Donc ouais, le thé matcha, ça change beaucoup.
Théine, ça t'aidait un petit peu.
Ouais. En fait, je garde la concentration et la pêche, mais en termes d'acidité, c'est mieux. Donc je travaille là-dessus.
Bravo.
Le sondage est tombé.
Ah, alors, et je suis pas sport en premier.
Ben ouais. Okay. Je m'en doutais un petit peu. Résultat des courses, vous êtes à la louche un gros, ouais, 1500 à avoir voté.
Ah ouais.
E-sport état des lieux, 48%.
Ah ouais,
c'est votre choix. On va commencer avec ça. Ça m'arrange bien parce que moi, je suis très curieux de tout ce que vous allez dire. Je vais apprendre un milliard de trucs. TikTok toxique en 2, 30%. Donc, c'est un bon score. La récession de l'amitié, 16%. Et la famille qui se réinvente, un petit 6%. Donc, si jamais on est très bavard sur l'e-sport, par exemple, les TikTok toxiques, ça peut arriver. Peut-être qu'on n'aura peut-être pas de temps pour la famille. C'est pas très grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de traiter ces trois principaux thèmes. E-sport, TikTok toxique, récession de l'amitié, c'est votre choix.
TikTok, cool. Ça va être rigolo.
Ça va être rigolo. Ah, il y a quelqu'un qui dit je me suis trompé dans la réponse. Ah bah, c'est pas grave. Sur 1500, ça va. Très content de revoir Zach dans ce genre d'émission. Merci. Dit CCB. La dernière fois que je l'ai vu réagir à l'actu, c'était chez le Raptor et il était très pertinent. C'est quoi le Raptor? Tu connais le Raptor?
Ouais, je t'ai passé une émission il y a. Mais ouais.
Ça doit dater.
Ouais. Ah, ben, c'est
ça doit dater de fou parce qu'on n'entend plus trop parler de lui pour le coup. Non, genre.
C'est, ouais, c'est un nom qui me parle, mais
après,
je sais plus combien de temps.
La dernière fois, je suis passé sur Backseat il y a quelques mois.
Oui, je t'ai vu. Excellent.
On est de retour en 2015.
Après, j'ai popcorn.
Ça s'était bien passé
à peu près. Oui, oui.
Backseat. Oui, je t'avais vu chez Backseat.
Moi, j'avais bien aimé. Il y avait eu Clément Beaune, comment s'appelle
Oui, secrétaire d'État aux Affaires européennes, non?
Exact.
Ouais.
J'allais dire
ouais.
Le ministre des Affaires européennes.
Ouais.
C'est pareil. Ouais, c'était vraiment top. J'ai bien aimé.
Kanyani qui représente le Versus auprès du grand public ce soir, ça fait plaisir. C'est quoi le Versus?
Le Versus Fighting, c'est les jeux de combat.
Je vais apprendre tellement de nouveaux mots.
Le 1 contre 1, le Versus.
J'adore. Bon, je ne vous lis pas tous les compliments, il y a des milliards de compliments pour vous.
Oh, voilà. Ils sont gentils. Hein.
Ok, eh ben, c'est parti les amis.
Let's go.
Ok, allez. Voilà, le sondage, on l'a, on commence donc, mon ami Joe, par l'e-sport. Donc ben... Si ça vous va, je vais lire des questions dans le chat et puis je vais prendre les questions que j'ai vues sur Twitter aussi qui vous étaient adressées. Peut-être d'abord sur les filles dans le jeu vidéo.
Ouais.
Et dans l'e-sport, quelle place aujourd'hui? Quel avenir? Faut-il des équipes mixtes dans l'e-sport? Ben, Kayane, alors vous connaissez ça par cœur.
Ça fait 10 ans qu'on
est 100 fois par jour.
On en est où aujourd'hui? On fait une petite photo là. On en est où?
Moi, ça fait 20 ans que je suis sur la scène e-sport.
20 ans.
J'ai commencé quand j'avais 9 ans les tournois, donc ça fait plus de 20 ans.
Waouh.
Et j'ai vu des équipes déjà à l'ancienne sur Counter-Strike 1.6, les BTB, hein, pour ceux qui s'en rappelleraient peut-être.
1.5, 1.6, c'est le début des années 2000.
C'était vraiment début des années 2000, en effet.
J'ai l'impression d'être avec des anciens combattants, j'adore.
Et moi, j'ai le 1 contre 1. C'est mixte, donc j'ai toujours affronté des hommes, des femmes, et peu importe en fait le tournoi où je vais, partout au monde. Et,
le 1 contre 1, c'est mixte.
Ouais.
Ok.
Ouais. C'est toujours mixte.
Mais l'e-sport est mixte de base en fait, c'est juste que par construction sociétale et développement, effectivement, t'as beaucoup de garçons, mais il y a rien qui dit qu'une équipe de League of Legends doit être purement masculine ou ce genre de choses, et c'est la même chose dans les jeux de combat.
C'est ça. Et justement, le fait de pouvoir être en 1 contre 1, ça fait que je m'inscris. Et je me fais dégommer ou je poutre les gens.
Ouais.
C'est tout, c'est la seule règle. Alors que quand tu dois jouer en équipe, tu dois former cette équipe. Et c'est là la difficulté, c'est que les femmes, elles ont du mal à trouver des joueurs qui veulent bien d'elles dans l'équipe. Mmh. Souvent, c'est des gars qui vont dire « Oh non, on veut pas d'une fille dans l'équipe, ça va créer des problèmes, des ambiguïtés hommes-femmes, alors qu'elles veulent juste jouer, juste performer, s'entraîner, être plus fortes. » Et eux, ils y voient tout de suite un aspect « Ah, on peut être plus, peut-être. »
Mais en fait, c'est ce que voilà. Je disais, Laurent, en fait,
il y a beaucoup de choses.
C'est la construction sociale après, en fait.
Bah, il y a beaucoup de choses. Il y a le fait que conventionnellement, je pense que... Enfin, c'est bête, mais quand on pense aux jeux vidéo, on va plus penser à des garçons qu'à des filles. Il y a eu pendant longtemps les garçons bleus, les filles roses, les filles jouent à la poupée, les garçons aux jeux vidéo, ce genre de choses. Et de base, je pense qu'il y a beaucoup... Enfin, comment dire, il y a une construction sociétale qui fait que les filles... Soit on pense qu'elle joue moins aux jeux vidéo, soit justement il y a peut-être une honte qui s'est développée aussi autour du fait de dire qu'on joue aux jeux vidéo. Je sais que, enfin, je sais pas comment c'était pour toi quand t'étais plus jeune, mais c'était pas forcément quelque chose que tu partageais. Ou alors à moins que t'aies grandi avec des grands frères,
ouais,
qui étaient comme moi. Ouais, voilà, moi c'est mes grands cousins qui étaient des garçons qui m'ont mis aux jeux vidéo. Mais moi j'ai découvert que très très tard, justement en regardant des filles comme Kayane, je me disais, ah mais il y a plein de filles qui sont spécialisées là-dedans.
On a des chiffres aujourd'hui sur la pratique, c'est-à-dire en France par exemple, le rapport garçon-fille pratiquant jeux vidéo, est-ce qu'on est sur du 50-50?
On dit que la moitié des joueurs sont
ouais.
des joueurs.
Non, c'est ça, c'est
à ouais, peu ouais, communément c'est à peu près ça, ouais. Ouais. Mais par rapport à la compétition, ouais, il y a effectivement le facteur dont tu as parlé, je pense. Il y a aussi le fait que, vu qu'il y a eu je pense que pas mal de femmes se sont désintéressées même du haut niveau compétitif parce que c'était quelque chose d'hostile et que t'avais, enfin que t'es, que comment dire, à l'entrée c'était très difficile de par la toxicité et il y a vraiment un gouffre qui s'est créé entre les joueuses de haut niveau et les joueurs de haut niveau et le fait qu'on en a de moins en moins. Je pense que je dirais pas que la tendance s'inverse aujourd'hui, mais on est sur une période de reconstruction alors que pendant longtemps il y avait vraiment. Enfin toi t'as été une des premières vraiment en France et même dans le monde à jouer à très très haut niveau quoi et à vraiment rester à ce
niveau-là. Il y a quelqu'un dans le chat quand t'as dit 9 ans qui était quand on n'est pas dit
quoi. Il y a une vidéo si vous voulez la retrouver. Il y a une vidéo de Kayane, je l'en avais. Ça te dérange pas Elle est hyper drôle. Ouais, en compétition, je sais pas quel âge t'as, mais t'es très jeune et je sais plus si c'est un joueur ou un journaliste à côté de toi, mais il se fout de toi genre ouais non mais de toute façon tu vas rien faire ou ce genre de truc et tu l'as démonté en jeu et à côté de ça tu lui as vraiment fait fermer, tu lui as fermé son clapet juste derrière. Et tu lui as balancé un énorme pic, et c'est une séquence d'un reportage.
Il y a quelqu'un dans le chat qui me disait
absolument
tout à l'heure,
incroyable.
Toujours agréable de voir un macho se faire ratatiner par Kayane.
C'est parce que ça arrivait souvent, et je me rappelle de toi toute petite en compétition, genre assez jeune, dans une des premières.
Comment je pourrais trouver cette vidéo? Qu'est-ce que je pourrais
pas,
taper?
Est-ce que quelqu'un peut aider dans le chat?
Est-ce que c'était la Gamers Assembly?
C'est possible. Ah, je sais plus si c'était un journaliste ou un joueur, mais tu.
C'était...
ratio,
ah bah,
le ratio
original.
Moi j'ai vu une toi effectivement avec tu affrontais des garçons qui venaient te défier un par un.
Oui.
Et certains qui manifestement vivaient pas très très bien de se prendre une correction.
Bien sûr.
Tiens là par exemple j'ai une vidéo de 2022 Kayane versus public
voilà,
dans
ça,
la Gamers Assembly.
Ouais non c'est la Gamers Assembly
récent,
de cette année
ça
va.
Tu veux regarder?
Alors je crois même que cette vidéo dont tu parles c'était à l'ancienne sur Dailymotion. 2006.
Oui, c'est exactement ça.
C'était l'interview.
Ah, attends,
oh, merde, j'ai honte de cette vidéo.
Laure, elle l'a déjà retrouvée. Ouais, attends, on va la mettre, on peut la mettre en plus.
Ah non, je l'ai vraiment envoyé chier le journaliste un peu quand même. J'étais dans ma période adolescente.
Ah, ça a l'air d'être ça, hein.
Oh mon dieu, t'as vu cette vidéo, Laure?
Mais regarde.
Tiens, tu peux la mettre, Jo? Bah oui, tu balances.
Attends, je la.
Dans quel cas tu vas.
Je la remets au début. Vas-y, monsieur.
J'étais très froide. Hein.
Après, c'était en 2006.
C'est incroyable.
J'avais 15 ans.
Et c'était complètement mérité.
Joe va nous montrer la.
Ça m'a. La communauté m'a plu, donc j'ai continué.
Non, c'est bon.
D'accord. Et alors là, à la Gamers Assembly, tu fais des animations. Tout le monde, enfin, les gens peuvent t'affronter. Les meilleurs remportent des lots. Pour l'instant, ça se passe comment? Tu domines plutôt ou il y a quand même des gens qui risquent d'arriver à t'accrocher?
Il y en a quelques-uns qui m'ont mis un round, mais ensuite, je les enchaînais facilement, donc j'ai mis 120-0 hier.
Eh ben ça c'est du score. Alors sous le calibre 3, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de technique, il y a des combos, il y a du timing?
Il y a beaucoup de timing pour les enchaînements, il y a des combos. Ensuite il faut savoir les priorités, c'est-à-dire lorsqu'on fait un coup et que le mec l'a dans la garde, il faut savoir par quoi il faut punir et tout ça. Donc il faut vraiment de la mémoire, de la rigueur et tout ça.
D'accord. Et tu es aussi forte, quelle que soit la version du jeu, Xbox 360, PS2?
Mais il est sorti que sur PS2 pour le moment.
D'accord. Donc ma question n'avait pas vraiment lieu d'être. D'accord. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un match. Et puis, on va voir ce que ça donne.
Il n'y a pas de soucis.
D'accord, on va regarder ça. Eh ben, tu es très 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 forte, il n'y a pas à dire. 3-0, donc j'ai complètement perdu. Bah, bravo à toi en tout cas, c'est vrai que le niveau est présent. Et puis, je te souhaite bon courage pour la fin de la journée, pour affronter tous les gens et continuer à faire des scores parfaits.
Bah, t'en fais pas pour ça.
Merci Kayane. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à tout à l'heure.
Eh, Kayane, quand t'as dit que t'avais été froide, t'as été ice cold, parce que je te jure.
Tu sens qu'elle en avait marre.
Là, c'est la première fois que je regarde la vidéo, le pauvre, il est tout gentil. Non, mais, le pauvre... Et toi, tu vas voir 120-0. Mais... T'inquiète pas pour ça.
Je l'avais dit.
Ah, le pauvre.
Oh mon dieu, Laure, t'as ressorti un dossier.
Mais
elle est trop drôle, la vidéo.
La manette, elle marche pas. La manette, elle marche pas.
Bon, bah, en vrai, ça va, il est pas méchant.
Non, il est pas méchant.
Il est calme. La séquence est tranquille. Je m'attendais à avoir quelqu'un, genre un flexeur ou quoi, quelqu'un de vraiment odieux.
T'en as qui ont été genre pénibles, je pense.
Mais en fait, je pense que là, c'était ma crise d'ado. Hein. Ouais. Ouais, ça, c'était vraiment parce que ça, j'avais 15 ans, ça faisait 6 ans que je faisais des tournois, 6 ans que je voyais des gars me sous-estimer. Ouais, et ouais. Le gars, quand il m'a parlé et tout, je me suis
dit. Puis même, tu sais, je me doute du mood que tu dois avoir. Tu dois avoir les crocs, tu voulais prouver, tu vois.
Ouais, alors là,
je pense que t'en as marre, ouais.
Est-ce qu'aujourd'hui ça t'arrive encore, c'est-à-dire de te confronter à, oui, à des réactions masculines de...
Ouais, ça arrive toujours.
Toujours, toujours.
Mais cette fois, je le prends beaucoup mieux et en rigolant.
En rigolant.
Et ça arrive qu'il y a des séquences, bah, là, des fois, je les poste aussi sur les réseaux sociaux. Parce que c'est streamé maintenant. Quand je vais en salon, comme à la Paris Games Week, il y a des fois des joueurs qui flexent en mode « je suis champion d'Europe », je le regarde, champion d'Europe d'où ? Parce qu'on se connaît tous, les joueurs. Mmh. Ceux qui font de la compétition, on voyage un peu partout. Et le gars, il dit champion d'Europe. Je dis, bah non. J'avais mis un triple perfect. Et oui, à la fin, il a dit, ouais, non, mais.
Champion d'Europe du Val d'Oise. En fait, si tu veux, c'est quoi cet effet ? C'est l'effet FIFA PES où, à l'époque, il n'y avait pas de online. Donc, tout le monde était trop fort dans son quartier, dans son petit chez-soi, parce qu'il battait son frère, ses cousins, son voisin. Puis un jour, il va aller faire un tournoi, peut-être à la Fnac du coin ou quoi, parce que c'est comme ça que ça se faisait souvent à l'époque. Puis il se fait casser la bouche au deuxième round et il commence à comprendre que le monde est peut-être un petit peu plus vaste que le 12 rue Jean-Michel, tu vois. Alors,
Kayane a clairement fait, elle a créé sa place dans cet univers-là. Laure disait tout à l'heure que, bon, aujourd'hui, en termes de pratiquants, on est en gros sur du 50-50. Sauf que dans l'e-sport, notamment dans les équipes, c'est très, 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 très masculin. Et ça, c'est en raison de tout ce que tu as évoqué, c'est-à-dire en fait...
Ouais, je pense que il y a beaucoup de facteurs, et selon moi, en tout cas quand je regarde League of Legends et même les scènes féminines, parce que quand j'ai commencé à suivre l'e-sport, la scène de CSGO féminine était très développée. Et c'est quelque chose qui est devenu un petit peu plus secret avec le temps, voire qui a vraiment commencé à chuter.
Et pourquoi du coup ?
Je pense qu'il y a eu, un désintérêt de certaines filles de la part de... Enfin, pour la compétition, parce que, encore une fois, hyper toxique... pas facile d'accès et enfin on se sentait peut-être pas les bienvenus au sein de la compétition. Il y avait aussi le facteur qu'a expliqué Kayane, qui est que il y a pas mal de cas où pas mal d'équipes avec pas mal de garçons se disent que c'est moins embarrassant de prendre, admettons qu'il y ait une fille et un garçon au même niveau, ça sera on a vu ça l'an dernier sur League of Legends dans une ligue d'un des pays de l'Est.
Avec Kaltis, non ?
Exactement, avec Kaltis, où une fille et un homme de même niveau, on va prendre Kaltis, on va prendre cette fille qui se fait bench au bout de quelques semaines, pas pour un manque de résultats compétitifs, mais parce que c'était trop compliqué à gérer. Donc t'as aussi un manque de pédagogie, je pense, et un manque d'efforts de la part de certaines structures, qui est compréhensible d'une certaine manière, économiquement, quand tu regardes... Quand tu regardes la construction de certaines compétitions, tu as des clubs qui sont implémentés, enfin qui sont intégrés sur plusieurs jeux qui sont différents, qui ont un business model qui est différent, où tu as un besoin de résultat qui est très rapide et qui est constant, ou si tu rates une saison, tu as des investisseurs derrière qui vont te demander des comptes. Donc je vais pas dire que je comprends, mais je veux dire que quand tu es devant ce bilan-là, oui, tu vas avoir tendance à choisir la solution de facilité. Après, on va pas se mentir, aujourd'hui, quand tu regardes l'exemple sur League of Legends, certes, tu as un développement de l'e-sport féminin et de l'inclusivité, mais il n'y a pas de filles, il y a pas autant de filles au même niveau que les garçons, ça c'est sûr.
Et même moi, je sais pas si c'est. T'as fini ce que tu veux
dire? Non, bien sûr, non, t'inquiète.
Je sais pas à quel point ça va être pertinent ce que je vais dire, tu vois. Je pense qu'il y a déjà des papiers qui ont été écrits dessus ou quoi, mais je pense que ça peut aussi être un facteur lointain ou quoi, tu vois. Mais il faut quand même aussi se rappeler que la pratique du jeu vidéo, pendant très longtemps, ça a été marginalisé. Que ceux bien qui étaient vus comme des geeks, des vrais joueurs, des hardcore gamers, tout ça machin, soit ils passaient dans le reportage de TF1 pour dire mon fils il pue et il fait que de geeker, ou alors au collège il parlait que de jeux vidéo et il se faisait bully dans un coin de la cour. Donc déjà de base, faut savoir que ça a donné beaucoup d'hommes, tu vois, qui étaient un petit peu foutus sur le côté, tout ça machin. C'était pas très grand public, ça donnait pas beaucoup envie de s'y mettre. Donc du coup, ça a aussi donné des gens, tu vois, alors je sais pas à quel point, encore une fois, je dis pas c'est pertinent, pas pertinent, ça a été un frein à l'entrée pour les femmes, mais du coup, des gars qui. Tu vois, on le disait toujours, on en rigolait, tu sais, souvent, qui avait peut-être un peu du mal dans les rapports sociaux avec d'autres gars, ou alors notamment du coup avec des filles, et qui du coup pouvaient être un peu beauf, naze, avoir des mentales un peu, tu vois, naze, et je pense que ça a aussi un petit peu influé, tu vois. À quel point, aucune idée, non, mais je pense que ça a été un facteur, tu vois.
C'est intéressant. C'est intéressant. Là, j'ai vu des actus là, cette semaine, ces deux dernières semaines, des annonces de création d'équipes féminines,
ouais.
C'est ça, non?
Oui, la Carmine. Ouais. La Carmine a créé son roster Valorant Game Changer, donc un roster féminin.
J'ai même vu un joli clip sur Twitter. Oui. Je trouvais ça vachement bien fait, d'ailleurs. Et ça. Alors, la question qui était posée notamment par certains internautes sur Twitter quand j'ai dit qu'on avait parlé de ça, c'était la solution pour faire progresser le gaming et l'e-sport au féminin, est-ce que c'est plus d'équipes féminines ou c'est plus d'équipes mixte, votre avis?
Je pense que l'un va pas sans l'autre. Ouais. Je pense que les équipes féminines, ça va être une étape qui est aujourd'hui devenue nécessaire pour aller vers la mixité derrière. Mmh. En fait, du jour au lendemain, on va pas. Ça serait pas juste de forcer de la mixité pour qu'il y ait plus de filles. Et t'as aussi envie, enfin, l'envie profonde, c'est vraiment de redonner envie et de redonner de la motivation à des jeunes filles pour qu'elles puissent devenir des. Enfin, pour qu'elles puissent être compétitrices. Et en le forçant, je pense que ça servira à rien. Mmh. Donc redonner un espace, entre guillemets, pas une safe space, mais un espace qui est dédié justement pour qu'il y ait plus de joueuses, qu'elles se remettent dans un environnement compétitif pour ensuite faire le pont vers les équipes mixtes, que ce soit vers les sessions d'entraînement, les try-outs, quand les équipes cherchent d'autres joueurs, qu'on leur suggère des joueuses également.
Avoir l'expérience de ce que c'est en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais on peut pas, c'est une étape que je pense qu'on peut pas sauter aujourd'hui. Mais j'espère en tout cas que c'est une étape... palier et qu'on va pas s'arrêter là.
Noak dit, et d'accord avec toi, c'est un problème d'éducation et de pédagogie. Je vais vous donner un exemple, vous allez trouver ça super bizarre.
Vas-y.
Mais en fait, dans Question pour un champion, j'ai vécu ça. Je vous explique. Quand je suis arrivé il y a 7 ans à Question pour un champion, j'avais à chaque émission, j'avais 3 hommes, une femme. 3 hommes, une femme. À un moment, je leur dis, c'est bizarre, votre émission, il y a que des garçons. Et on me dit, oui, en fait, on triche déjà, on met plus de femmes qu'on a de candidates parce qu'en fait, les femmes sont très peu nombreuses à se présenter. Et donc, on m'a dit, ben, c'est comme ça. C'est une émission, il y a 3 hommes, une femme. Je leur dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, dans un pays, dans une société, on essaie de mettre la parité en avant et d'équilibrer les droits hommes-femmes. Tu peux pas faire une émission, même si c'est un jeu télé, avec 3 hommes et une femme. Et on me disait, oui, mais on les a pas les femmes. Et là, je leur ai dit, oui, mais si vous mettez pas les femmes à l'antenne, que les femmes ne se voient pas jouer, comment voulez-vous qu'elles se projettent pour jouer? Et donc, je leur ai dit, je m'en fous. Je veux que vous mettiez des femmes. Donc, vous me les trouvez, vous les mettez à l'antenne et vous verrez que quand les femmes vont se voir jouer, elles vont jouer. Donc j'ai vraiment été très lourd avec ça. Aujourd'hui, dans les émissions de Questions pour un champion, on a 2 femmes, 2 hommes sur chaque émission. Et les femmes se voient jouer. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles sont plus nombreuses à candidater.
Donc ça a été un facteur. Tu penses que, enfin, t'as vu qu'il y avait plus de femmes qui candidataient parce que c'était.
Oui. Parce qu'elles se voyaient.
Ouais, ouais. Non, mais
et donc
je
vidéo, c'est pareil. Donc c'est le petit parallèle que je me permets. Si les femmes, les jeunes femmes aujourd'hui, se voient pas dans les compétitions e-sport, comment à un moment elles peuvent se projeter? Tu vois, et en fait c'est vrai pour tout. On a reçu une invitée ici qui était comment s'appelait la comédienne Zut, tu sais qu'on a reçu Joe qui est Julie Gayet, elle est fan de foot, l'actrice, la comédienne.
Oui.
Et quand elle était petite, elle était passionnée par le foot, mais elle voyait que les garçons jouaient, notamment à la télé. Donc pour elle, le foot féminin, ça n'existait pas. Et en fait, elle a mis beaucoup de temps à comprendre que le foot féminin, ça existait, sauf qu'elle le voyait pas à la télé. Et donc je pense que le jeu vidéo, c'est un peu pareil en fait.
Ouais, bien sûr. Hein, mais c'est pour ça que tu vois, à l'heure actuelle, je pense que ces passerelles féminines sont nécessaires, tu vois. Parce que déjà, il y a beaucoup de joueuses potentiellement avec un bon niveau qui ont un retard énorme en expérience de tout l'environnement que tu viens de décrire parce que justement elles n'ont pas eu l'occasion de l'expérimenter et qu'à l'heure actuelle c'est simple, tu as deux solutions, c'est parce ça. Que j'ai vu des gens dans le chat dire mix c'est mieux, oui d'accord, bah ce serait déjà la possibilité actuellement et c'est pas le cas. Donc à l'heure actuelle la mixité forcée ce serait quoi? Ce serait de mettre une sorte de discrimination positive, obligation de 3 gars 2 femmes, 3 femmes 2 hommes, sauf que là ça crierait dans tous les sens.
Non, mais bien sûr.
3 fois plus, tu vois, et puis peut-être avec des arguments qui s'entendent, raisons. Tu vois, alors que avoir juste une ligue qui leur est réservée, qui leur permet de rattraper ce retard pour éventuellement à X mois, années, je sais pas, éventuellement avoir des candidats crédibles pour pouvoir, tu vois, à terme avoir de la mixité. Parce que c'est vrai que dans le jeu vidéo, t'as moins ce côté physique par rapport au football, au rugby ou à X sport, tu vois. Donc c'est vrai que techniquement, purement, il n'y a aucune raison qu'une femme soit moins forte qu'un homme sur un jeu vidéo avec le même temps de jeu, tu vois. Donc peut-être qu'à terme, ça fonctionnera.
Qu'est-ce que tu dis, mon Joe? N'hésite pas, hein.
Il parle bien
face au micro. L'étape
d'après, Joe, le micro est dans ma gorge.
Après, il le bouffe. Ah non, il est parfait. Je le regarde, il est parfait. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Kayane, qu'il faudrait peut-être.
Alors, moi, j'avais un exemple. Ah. Alors, en plus, c'est un tournoi auquel j'ai participé. C'était d'ailleurs le seul tournoi féminin auquel j'ai participé. C'était l'Evo 2010. Donc, c'est un tournoi de jeux de combat. C'est le plus gros au monde qui se déroule à Las Vegas chaque année. Il y a 12 000 joueurs sur place en un week-end, en physique, hein, je précise, qui s'affrontent sur plein de jeux de combat. C'est juste gigantesque. Et en 2010, du coup, je vais avoir 19 ans, il y avait une édition spéciale pour les femmes où il y avait un tournoi féminin sur Street Fighter 4 à l'époque. Et j'étais du coup la seule joueuse française à voyager pour ce tournoi-là et à du coup affronter toutes les Américaines qui étaient présentes. De toute ma vie, hein, je pense avoir vu 5 femmes participer au tournoi de jeux de combat en France, à l'international. Et dans ce tournoi-là, parce qu'il y avait une section féminine, il y a eu 64 filles qui ont fait le déplacement d'un peu partout jusque Las Vegas. C'est déjà l'engagement financier que je trouve très, très impressionnant. Mmh. C'est que pour celles qui vivent aux États-Unis, c'est déjà des centaines d'euros. Parce que le trajet pour aller à Vegas, l'hôtel, etc., voilà, faut vouloir y aller. Et quand tu es étrangère comme moi, c'était au moins 3000 euros. Donc, c'était déjà important pour moi. Mais de là, avoir autant de femmes motivées et qui ne se sont déplacées que pour ce tournoi féminin, j'ai trouvé ça incroyable. Et surtout, ça ne les mettait pas de côté parce qu'elles étaient... Il y avait une règle comme quoi, si tu participes au tournoi féminin, tu es obligatoirement inscrite au tournoi mixte. Du coup, d'un coup, il y a 64 femmes qui débarquent dans le tournoi mixte alors que s'il n'y avait pas ça, il y en aurait eu
c'est génial comme
maximum,
organisation.
Quoi. Et du coup, ça a été très décrié, malheureusement.
Ah bon? Pourquoi?
Les gars qui ne comprennent pas.
Hein?
Les gars qui
ne
comprennent
super.
Pas en mode « Non, mais vous séparez les filles, les hommes, alors qu'il n'y a pas de distinction physique entre les hommes et les femmes dans les jeux vidéo. » Oui, mais là, c'était pour histoire qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles se disent qu'il y a des femmes qui jouent, elles seront là.
Et en plus,
elles étaient
reversées dans le tableau masculin, après, c'est ce que tu nous dis.
Et en plus, oui, on est obligé de participer au tournoi.
Pas mal comme système.
Tu vois, c'est...
Ouais.
J'ai trouvé ça
génial. T'as bien marché? T'as battu toutes les Américaines?
J'ai gagné le tournoi.
Elle le dit pas.
120-0.
Elle le dit pas.
J'ai gagné, c'était quand même un peu... C'était l'expérience de ma vie. Hein. C'était mon premier voyage toute seule. J'ai menti à mes parents pour aller à Vegas.
Attends, tu leur avais dit que t'étais où?
Non,
Je suis au festival de la BD d'Angoulême.
Là, je suis à Créteil, il fait super beau. Je suis avec des potes, on joue tranquillement.
Justement, j'ai dit que j'aurais plein d'amis sur place qui m'accueilleraient. Il y avait 0 ami. J'étais la seule française.
Je suis mort.
J'étais juste motivée.
C'est que j'ai fait la même chose pour ma première LAN en Angleterre. J'avais
c'est
menti comme pas possible. Oui. J'avais dormi par terre dans un hôtel, sous une table, comme
c'est
un débile. Vraiment gros Ryanair de Beauvais. Je te comprends sur celle-ci. Je te comprends.
Mais c'est des bons souvenirs à raconter après.
Alors, Kayane, ça va peut-être te gêner. Moi, quand j'ai commencé à regarder tout ce que tu faisais, c'est notamment après de tomber sur une interview sur RTL de toi.
Oui.
Une espèce de masterclass que plein de gens ont retweeté en France.
Incroyable.
Voilà, parce que c'est pas vieux, hein, c'était le 2 novembre 2022. Voilà, t'étais invité d'RTL, émission de la mi-journée, avec notamment Pascal Praud. Et donc, l'interview, vous allez voir, c'est un peu toutes les questions poncives sur. Le jeu vidéo, hein, ce que le jeu vidéo rend violent, enfin les vieux trucs d'il y a 30 ans. Et Kayane garde un calme imperturbable et répond avec une précision dans ses réponses. Ça dure 4 minutes 25. C'est un bonheur. Voilà, je veux absolument qu'on regarde cette séquence parce que ceux qui ne la connaissent pas, vous allez vous régaler. Pour toi, c'est bon, Joe ? On va se régaler. Let's go.
Et vous êtes joueuse professionnelle. Donc c'est un vrai métier. C'est un métier, j'en vis, j'ai créé ma boîte en 2015 et je suis sponsorisée par des marques pour les représenter dans les tournois et dans les événements que j'organise. Pardon, allez-y, Pascal.
Non, allez-y, j'imagine que ça demande un entraînement et que chaque jour vous entraînez longuement.
Oui, alors je joue à des jeux de combat, donc en fait on a deux personnages qui s'affrontent et l'objectif c'est de réduire la barre de vie de l'adversaire le plus possible. Mmh. Et moi je joue avec un personnage, ça prend entre 3 heures et 7 heures par jour, en particulier quand on a des tournois, on doit se préparer, faire des sessions d'entraînement et regarder des matchs en ligne sur YouTube, au Twitch, et on regarde, on analyse des adversaires et ensuite on se déplace dans le monde entier pour participer au tournoi.
Question peut-être provocatrice, mais il y a beaucoup de parents, de grands-parents qui s'inquiètent de voir les jeunes passer beaucoup de temps devant les jeux vidéo. Je vais être très abrupte dans ma question, ça rend pas idiot?
Non, tout comme les contenus en fait qu'on a à la télé ou sur Netflix et autres plateformes de streaming, il faut savoir limiter le temps de visionnage de jeux sur les consoles, sur PC. Il faut que les parents s'intéressent aussi à ce que les enfants jouent. Il faut leur mettre des jeux qui soient adaptés à leur âge et aussi à leur sensibilité.
Par exemple, vous jouez à Street Fighter, on l'a dit, c'est un jeu de combat. C'est pas préconisé pour les plus jeunes. Par exemple, on commence pas avec ces jeux-là.
Ça pourrait, parce que moi j'ai commencé très jeune, à 7 ans, les jeux de combat, mais c'est plus des valeurs d'arts martiaux qu'on apprend sur ce type de jeu, puisque c'est des combattants, mais c'est des personnes qui, des personnages qui ont appris du karaté, du judo, ce type d'arts martiaux, et qui ont vraiment ces valeurs de dépassement de soi, et moi ça a été mes modèles quand j'étais plus jeune.
Alors ce qui fait peur évidemment dans ces jeux, c'est pas qu'on en joue, c'est qu'on ne fasse plus que ça, et que les gosses ne fassent plus qui n'aille plus au cinéma, qui n'entre plus dans les musées, et que ça devient une passion dévorante. Vous parliez avoir commencé les jeux vidéo à 7 ans. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est votre seul intérêt dans la vie, si j'ose dire?
Moi, je pense que le jeu vidéo m'a vraiment permis de m'ouvrir au monde. Parce que le week-end, je me déplaçais dans des événements physiques pour rencontrer des joueurs de tout âge, hommes ou femmes. Et je jouais avec eux, ce sont devenus des amis. Ça m'a permis de rencontrer des joueurs étrangers. Donc
mais
ça
est-ce qu'il y a d'autres passions à côté de ces jeux vidéo?
Des passions pour moi?
Oui.
Oui, je suis passionnée de piano. Je joue du piano parce que des musiques de jeux vidéo comme Final Fantasy m'ont passionnée et m'ont donné envie de me mettre à la musique. Je fais de la boxe thaïlandaise parce que ça a été mes modèles quand j'étais plus jeune.
Alors, ce qui fait peur, évidemment, dans ces jeux, c'est pas qu'on en joue, c'est qu'on ne fasse plus que ça. Et que les gosses ne fassent plus que ça. Quel intérêt dans la vie, si j'ose dire?
Moi, je pense que le jeu vidéo m'a vraiment permis de m'ouvrir au monde. Parce que le week-end, je me déplaçais dans des événements physiques pour rencontrer des joueurs de tout âge, hommes ou femmes. Et je jouais avec eux, ce sont devenus des amis. Ça m'a permis de rencontrer des joueurs étrangers. Donc
mais
ça
est-ce
m'a
qu'il y a d'autres passions à côté de ces jeux vidéo?
Des passions pour moi?
Oui.
Passionnée de piano. Je joue du piano parce que des musiques de jeux vidéo comme Final Fantasy m'ont passionnée et m'ont donné envie de me mettre à la musique. Je fais de la boxe thaïlandaise parce que
c'est le player Twitter qui marche pas très très bien, c'est pas très grave.
Il m'a énervé.
Mais vous avez vu, moi ce qui est fou, et je veux pas te faire rougir, Kayane, mais ce qui est fou, c'est que bon, on a toutes les questions poncives sur les jeux vidéo. Ah, mais alors si tu fais que du jeu vidéo, tu vas te couper de tout le reste, tu vas rien faire d'autre. On n'a pas eu les questions sur la violence, mais on sent qu'elle arrive dans pas longtemps.
Il y a eu la question de l'argent juste après.
Voilà, exactement. Donc tous les poncifs, et en fait, tu réponds avec un calme fou, et on sent même que tes interlocuteurs, qui sont des journalistes donc, qui s'y connaissent manifestement pas très très bien en jeux vidéo, sont un peu décontenancés parce que ça tombe pas à ce que tu parles de piano, de voyage, de curiosité. Voilà.
Ouais, mais en plus, il me coupait à chaque fois. Je voulais parler des différents métiers qu'il y a dans l'écosystème jeux vidéo et e-sport. Au lieu de ça, il me dit « Vous n'avez pas compris la question, en fait. On demande combien vous gagnez. »
Ouais. Et... Mais comment tu as réussi à garder ton calme? Parce que c'est ça qui me surprend, moi. C'est pas mal.
Ah, je pense que les jeux de combat m'ont canalisé pas mal. Et je fais de la boxe aussi, donc les sacs de frappe, c'est eux qui prennent.
Non, mais surtout, je crois que ça fait longtemps. Genre, tu t'es passé dans des médias il y a 10 ans avec Game One et tout. Oh, donc, en fait, tu l'as déjà tapé, ce genre de choses, non?
En fait, en réalité, je suis très habituée à ce type de questions parce que c'est un peu mon quotidien, en réalité. Déjà, je suis une femme qui joue à des jeux vidéo, donc depuis plus de 20 ans, c'est toute ma vie. J'ai été assez marginalisée depuis petite. Avoir une passion comme le jeu vidéo, c'est en mode t'es dans une cave, tu joues, t'es sale.
Elle existe vraiment.
Voilà, tu joues.
Dans une cave.
Vraiment. Donc j'ai été habituée à ça. Et maintenant, je m'adresse aussi, par exemple, à la mairie d'Argenteuil pour organiser des événements là-bas, pour avoir des salles et tout ça. J'ai été ambassadrice de la ville. Je m'adresse des fois à des élus. Et parfois, on me dit qu'il faut adapter le discours. Attention, on ne peut pas trop parler de jeux de combat parce que déjà, si les gens se battent dans la rue, c'est-à-dire que dans le jeu vidéo aussi, on se bat. Bon, là, j'ai des haussements de sourcils, mais je les cache. Et du coup, à chaque fois, je dois essayer de montrer ce que moi, ça m'a apporté. Et j'essaie de le faire le plus positivement possible et le plus calme possible parce que si je m'énerve, après, je vais rentrer dans le moule où ils vont dire « vous avez raison, enfin, vous avez vu, ça la rend violente ».
Mais alors, Zach et Laure, moi j'ai une question pour vous. Comment, on est en 2023, aujourd'hui, enfin, quand on voit l'importance économique et culturelle du jeu vidéo, en France et dans le monde, comment on peut encore avoir ce regard, alors d'une partie des médias ou de la société, je ne sais pas, parce que là on parle par exemple d'élus ou de responsables, sur le jeu. Pourquoi ça n'a pas évolué plus vite?
Samuel, je pense franchement là sur la séquence, il y a deux raisons simples.
Ouais.
Déjà, par une incompétence crasse, si on veut commencer, ils ont absolument pas travaillé le
sujet.
Tu as
raison.
Ils sont complètement nuls, franchement, ils sont dépassés. Donc déjà pour commencer, il y a pas grand-chose à dire.
On dirait qu'elle a 20
ça.
Ans quoi.
Non mais vraiment, vraiment, je te jure qu'ils auraient tapé. Qu'est-ce que je peux poser comme question naze à quelqu'un qui vient du jeu vidéo
et
ils auraient eu cette. Ouais, ils auraient eu ce meuporg, ils auraient eu ce genre de choses.
C'est un copain qui a prononcé.
Et aussi parce que ça, c'est...
Je le connais, pas, je sais qui c'est.
Et je pense que tu vois, en découlant de ça, du fait qu'ils bossent mal et qu'ils travaillent mal, du coup, ils sont jamais au fait des choses. Ils sont pas au courant, ils sont pas curieux, ils ne connaissent pas. Donc du coup, en fait, ils subissent. Ils subissent l'évolution. Ils ne la vivent pas, ils ne l'acceptent pas, ils la subissent. L'évolution, elle prend son cours, tu vois, le train y va, et eux ils passent à côté, et donc du coup ils ne le voient pas passer, ils sont là. Puis on arrive en 2023, sinon ça vous rend violent un peu, et combien vous gagnez, sérieux, vous êtes dans une cave. Donc en fait, si tu veux, ils sont vraiment complètement à la rue.
Dépassés.
Ça les intéresse.
Après,
pas
ça les intéresse aussi peut-être pas, et il y a pas de mal à ça, tu vois. Moi, mais après pour moi la question en fait, au-delà de pas être intéressant, parce que moi je vais pas m'en vouloir à une personne qui a 55 ans et qui connaît pas et qui a des questions basiques poncives, mais à la personne de 55 ans, je m'attends pas à ce qu'elle a fait des recherches avant d'avoir une tribune devant X dizaines ou centaines de milliers d'auditeurs et poser des questions à personne, tu vois. Et là, pour le coup, je les trouve vraiment très nombreux.
Mais t'as raison, ça, c'est embêtant parce que RTL, la radio dont on parle, c'est une radio qui parle à des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Mmh. Donc, c'est pas anecdotique, tu vois, de poser la question. Juste un message de Clamakin, là, à l'instant. Zach, il tacle aussi bien sur un terrain qu'au micro. Je valide.
Tu l'as vu, ce tacle.
À mort.
Oui.
Toi, Samuel, t'as décidé quand tu lis des messages sur moi de mettre.
Bah non, c'est un super compliment. Attends, bah non, c'est parce que tu dis des termes.
Ouais, pas de problème, t'inquiète.
J'adore.
Laure, toi qui connais ce milieu par cœur, qui est à cheval entre les deux mondes, du journalisme et puis du jeu vidéo, comment tu expliques que ça évolue pas plus vite? Il y a des milieux économiques qui ont très très bien compris cette révolution culturelle et économique du jeu vidéo. Là, le foisonnement de la créativité, des univers de plus en plus riches, fascinants. Et puis, il y a une partie de la société peut-être, et en tout cas des médias, qui n'ont toujours pas compris ça. Pourquoi c'est si lent? Au-delà de l'incompétence et du non-travail.
Il y a une grosse partie de ce que Zach a dit, et ce que, dont malheureusement, Kayane, t'as fait l'expérience. Je pense aussi qu'il y a pas mal de médias qui vont avoir le traitement qu'ils veulent de n'importe quelle actu et leur donner n'importe quel angle. Et si les jeux vidéo se rattachant à quelque chose de culturel... duquel, enfin, comment dire, tu te permettrais pas d'avoir la même souplesse et le même, pour moi, manque de respect sur un sujet peut-être un peu plus grave ou sévère, entre guillemets, pas que ce soit pour moi normal de manquer de respect à quelqu'un comme ils l'ont fait, tu vois. Mais je pense que t'as des personnes, des journalistes qui, au sein de leur chronique, au sein de leur tribune, au sein de leurs médias, de la liberté qu'on leur laisse du traitement de l'info, comment ils veulent le faire, s'ils veulent regarder les jeux vidéo avec dédain, ils regarderont les jeux vidéo avec dédain parce que c'est ce qui, pour eux, résonnera le plus avec leur audience, je pense. T'as aussi une partie des médias, et ça, je l'ai beaucoup vu à partir de 2017.
Flatte, peut-être. Ce qu'ils pensent être la pensée générale.
Je pense que t'as aussi une culture du buzz qui est que tu sais qu'aujourd'hui, si tu fais, on a bien vu ce qui s'est passé avec Dokkan il y a quelques années, si tu fais un truc assez controversé sur les jeux vidéo, ça va faire du clic, ça va faire du buzz. On va forcément parler de toi. T'as soit une approche perverse par rapport à ça, et on viendra sur les réseaux sociaux par la suite, soit je pense aussi qu'il y a certains médias qui, pour eux, ne voient pas le jeu vidéo comme quelque chose de game changer ou qui fait vraiment partie de la société, comme le cinéma peut faire partie de la société et de la culture aujourd'hui, et qui choisissent vraiment d'avoir une approche assez dédaigneuse parce que pour eux ne font pas l'effort intellectuel de se poser la question pourquoi ça marche et ne prennent pas vraiment au sérieux. Et je pense que ça marche aussi avec leur ligne édito d'une certaine manière. Et t'as certains médias qui s'intéressent à l'e-sport, et ça c'est ce que je disais, je l'ai vu en 2017 quand beaucoup de chaînes de télé ont commencé à vouloir vraiment mettre de l'e-sport dans leur grille, parce que voilà, Bein, Canal et compagnie, j'ai bossé avec les deux et c'était vraiment bien, mais tu voyais vraiment quelle chaîne de télé mettait de l'e-sport pour parce qu'il fallait en mettre dans la grille. Ou lesquels le feraient en faisant confiance à des bonnes personnes pour en parler de la meilleure des manières.
Il y a des gens qui étaient interpellés que tu as parlé de Dekkaun, c'est Antoine Dekkaun. Oui. Les gens pensaient que tu confondais avec Ardisson. Non, Dekkaun.
Non, Dekkaun, c'était bien avant Dekkaun, c'était par rapport à Twitch.
Oui, il avait dit un truc. Mais d'ailleurs, il s'est excusé.
Oui, bien sûr.
Et après,
oui,
c'est revenu quelques temps après. Je ne sais plus ce qu'il avait dit, Antoine Dekkaun.
C'est faut vraiment avoir rien à foutre pour regarder des gens jouer aux jeux vidéo. C'était ce truc-là.
Et il s'est platement excusé quelques mois ou quelques années après, effectivement. Ardisson avait dit.
Ardisson, Amélie Sarrazou, pareil, une attitude exécrable avec Yellowstar, enfin il y en avait pas mal, hein, la liste est longue, mais je pense que ça vient aussi de personnes qui refusent de voir le changement et de prendre en considération le fait que c'est quelque chose qui existe.
C'est peut-être des gens dont le logiciel n'est pas à jour.
C'est ça, ils ont manqué de mâche, quoi.
Oui, déjà, c'est sûr.
Bon, moi je fais un effort, j'essaie de comprendre, tout ça n'est pas encore très très clair pour moi, je fais un effort. D'ailleurs, j'arrête pas d'embêter Joe avec ça. Une de mes grandes résolutions de la rentrée prochaine, septembre, c'est de vraiment lancer mon corps de vieux bonhomme dans cet univers-là.
Oh.
Je veux explorer le monde du jeu vidéo, vraiment, parce que je pense que culturellement, aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel, même pour comprendre le monde dans lequel on vit. Donc, à partir de septembre, je vais trouver un moyen de faire un truc hebdomadairement sur le jeu vidéo. Genre Papy Sam à la découverte des jeux vidéo.
Il y a un espace vraiment dédié à la mémoire, à la culture des jeux vidéo qui va ouvrir à Paris. Je sais qu'il y en avait un aux Arts Ludiques pendant longtemps dans tout ce complexe-là. Ils faisaient souvent des expos autour des jeux vidéo et même de la culture pop. Et il me semble, faut que je me renseigne vraiment là-dessus, mais je sais que tu étais intéressé par les visites de musées, ce genre de choses. Je crois qu'il y a un espace de musée qui va ouvrir à Paris et qui va être vraiment dédié aux jeux vidéo.
Ça serait bien. Il y a un à Strasbourg, mais qui a malheureusement fermé.
Oui.
Il y a Tev ici Japon qui a comme projet d'ouvrir un musée avec la collection du plus grand collectionneur de consoles du monde
en
France. C'est un projet. Ça me permet d'en parler rapido parce que je suis toutes ces vidéos.
Ce serait où, Zach, ça ?
Ce sera en France.
D'accord, ok.
Et donc le projet est absolument exceptionnel. Je le place en.
Ben, tu vois que ce genre de choses puissent naître, ça montre quand même que le regard est en train de changer, quoi.
Ouais.
Peut-être pas du côté de certains journalistes. Là, c'est une séquence qui est peut-être pas représentative. Tout à l'heure, on parlait de certains journaux qui parlaient avec intelligence du monde de jeux vidéo. Dans le Figaro, il y a des articles intéressants. Dans le Monde, des articles intéressants. On parlait de Paul dans l'équipe et voilà, donc c'est pas
TV, super reportage,
c'est vrai.
M6 aussi, ouais, pareil. Non, il y a eu des traits,
c'est pas tout le monde,
ça dépend tellement des journalistes.
Oui,
c'est ça qui est fou, c'est que tu peux avoir un média comme M6 par exemple qui peut faire un super sujet et tu peux en avoir un qui
de
tombe
la
du
même
jour au lendemain.
C'est ça.
Par exemple, même sur M6, il y avait un reportage, une chroniqueuse, je veux même pas savoir son nom. C'était sur le 1945. Non, elle avait fait une chronique pour parler des salaires des joueurs professionnels.
Ouais.
Et moi, je vois ma tête avec un selfie que j'avais pris de chez Game One il y a 3 jours.
35 000 balles par mois, c'est ça ?
Alors, c'était 12 000 euros net plus le SMIC.
C'est quoi ce calcul ?
NBK, genre 100 000 euros par an. Et elle nous a jamais consulté, elle a jamais demandé à avoir mon avis sur la question, et elle a balancé ça comme ça. Donc moi j'ai fait un drama sur Twitter en mode, mais Mais pourquoi on me consulte pas avant de faire un sujet sur moi, surtout sur la question du salaire par exemple.
Bah, c'est la base.
La base, ouais.
Et on t'a répondu ?
Déjà, elle ne m'a pas répondu, mais c'est le rédacteur en chef qui m'a répondu en DM, qui s'est excusé en disant pour les fausses informations, on veut se rattraper en faisant un véritable portrait sur toi. Tu dis, mais c'est un peu tard, quoi.
Non, en vrai, c'est vrai que ce genre de séquences, elles sont quand même bien drôles. Mais pour ceux qui ont un peu d'expérience, franchement, après, si je dois quand même donner un mot un peu positif, elles sont de moins en moins présentes.
Oui, franchement, oui, bien sûr.
Et c'est ce qui rend la séquence que tu as vécue encore plus lunaire, parce que ça, c'est le traitement 2013. Là, on est en 2023, donc forcément, on se dit, comment ça se fait qu'en 2023, c'est toujours ça, mais ça l'est X fois moins, tu vois.
Ah,
genre, faut pas non plus, je dis pas que c'est ce qu'on fait, mais faut pas croire que c'est le traitement général. Ça a changé.
C'était pour dire que ça dépend tellement du journaliste.
Carrément, total.
Là, ils ont déconné. Après, ils ont fait un vrai portrait sur moi. Du coup, j'ai validé. Plus tard, tu vas avoir la même chaîne qui va dire de la merde, mais et qui va être rattrapée après par un autre journaliste qui fait bien son travail.
Mmh. Ouais.
Mais c'est fou que...
Un truc qui est super basique pour connaître ce milieu depuis près de 30 ans maintenant. Ben, en fait, le journalisme, c'est comme tous les métiers. C'est-à-dire qu'il y a des bons médecins, des mauvais médecins, des bons bouchers, des mauvais bouchers. Et il y a des journalistes qui font bien leur travail et d'autres qui font moins bien leur travail.
Toi, quand tu prépares par exemple une chronique sur un sujet sur lequel tu n'es pas familier, ça prend combien de temps? En moyenne, bon, bien sûr, ça dépend si tu fais de la physique quantique ou un truc plus simple.
Il n'y a pas de règle, mais je pense qu'effectivement, tu vois, une préparation de matinale par exemple, donc je peux arriver, il y a des gens qui arrivent une demi-heure, trois quarts d'heure avant l'antenne. Pour moi, c'est 3 heures de préparation minimum parce que je ne veux pas arriver à l'antenne en ayant l'impression de ne pas avoir fait le maximum pour à peu près maîtriser l'actu dont je vais parler. Tu vois, et c'est le minimum, mais après, bon, bah, chacun de. Même dans le jeu vidéo, je suppose qu'il y a des gens qui travaillent sérieusement, d'autres pas aussi, tu vois. Mais donc. Là, on avait des journalistes qui n'avaient pas bossé, manifestement.
Ouais.
Ou alors, et dans le chat, les gens qui disaient des trucs intéressants, qui a une forme d'excuse, mais j'ai pas trop envie de la saisir quand même, qui disent oui, alors ce sont des gens qui parlent à un public qui n'est pas spécialiste, donc ils font exprès de poser des questions un peu naïves et basiques.
Non, je
pense qu'on peut quand même mettre de l'intelligence dans des questions, même en voulant parler au grand public. Là, on était plus dans les poncifs. Dans les trucs un peu éculés sur le jeu vidéo. Mais ce que Zach dit me fait plaisir, c'est-à-dire que globalement, c'est quand même en train de changer. Dans les questions sur Twitter, l'évolution de l'e-sport, c'était quelle perspective pour l'e-sport ? Est-ce que, moi, j'ai l'impression, vu de l'extérieur, de très loin, que les budgets sont en train de grandir, qu'il y a de plus en plus d'investissements ? Est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que les médias traditionnels, tu en parlais lors de certaines chaînes de télé qui avaient commencé à faire des choses, vont davantage s'ouvrir à l'e-sport en, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, diffuser demain, à une heure de grande écoute, un match d'e-sport comme on peut le faire, Zach, je sais que t'es passionné de football, pour un match de foot. D'ailleurs, on me dit que t'es en train de rater le match de Lyon. Lyon joue ce soir ou pas?
Oui, totalement.
Donc t'es en train de match. Dis-moi que tu surveilles le score.
Non, pas du tout. Je regarde le chat et si j'avais pas été là, j'aurais été à la Baie des Champs, à Auxerre. Y a pas de problème.
Donc merci. Ça peut être demain sur les télé mainstream l'e-sport ou pas? Alors toi, tu connais bien ce sujet.
Je pense qu'on a. Comment dire? Pourquoi pas, si les chaînes y voient un intérêt, si certains médias y voient un intérêt. Je pense qu'on a dépassé ce stade où l'industrie de l'e-sport a besoin, pas de reconnaissance, tu vois, mais besoin d'une association avec des médias traditionnels.
Ok.
Et en ce sens, d'un e-sport à l'autre, ça va être différent parce que tu as des e-sports comme Rocket League qui sont assez réduits en termes de temps et qui sont assez standardisés, mais quand tu regardes une partie de Counter-Strike, une partie de League of Legends, où ça peut aller de 1 heure à 20 minutes, 45 minutes, Tu sais comme moi comment la télé fonctionne en termes de vente d'espace publicitaire et de calibration de la grille. C'est assez compliqué d'avoir de l'e-sport comme ça à la télé.
Ouais.
Et je pense même pas que ce soit intéressant pour des matchs d'e-sport d'être diffusé à la télé aujourd'hui.
C'est peut-être pas le bon endroit, le bon format.
Ouais,
ça dépend des jeux. Puis quand tu tombes sur la chaîne, il faut que tu comprennes tout de suite à peu près ce qui se passe. Quoi.
Puis même les matchs, ça peut durer vraiment longtemps.
Ouais, c'est ça.
Genre ça te demande une place sur la grille qui est énorme sans assurance d'audience derrière. Et puis l'e-sport s'est construit avec Twitch, etc. Ouais, d'une certaine manière, tu vois. Genre j'ai du mal à voir un step-up tout de suite, à commencer à voir ne serait-ce que par exemple, allez, on va dire une bêtise, mais la LFL d'un coup... Sur la NFL, vu comment c'est construit, c'est imbuvable. Genre imbuvable pour une télé, je veux dire.
En fait, c'est ce que dit Laure, c'est-à-dire qu'en fait, l'e-sport et le jeu vidéo n'a pas besoin aujourd'hui de la télé pour se développer, en fait, c'est ça que tu dis. Les canaux, les supports, ils existent déjà.
Bien sûr,
c'est ça.
Samuel, l'âge moyen du spectateur de télévision, 58 ans,
ouais,
58,5 ans.
C'est ça, voilà. Zach. C'est ça.
Bon, 58, est-ce que l'auditeur, avec tout le respect que je lui dois, de 58,5 ans, va vouloir voir Counter-Strike et Rocket League
son match de Garmin toutes les semaines.
Ouais, ou la cassé, tu vois. Bon, après, moi, j'aimerais bien voir pas tout casser.
J'adorerais.
Ouais, ça me ferait plaisir, tu vois. Mais disons que j'ai un peu de mal à y croire.
Et alors, autre question que j'ai vue tout à l'heure, est-ce que l'e-sport doit devenir olympique? Je sais qu'il y a une édition des JO il y a quelques années où il y avait eu quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait une compétition d'e-sport qui était dans les JO, mais pas officiellement considérée comme un sport olympique.
En marge des Jeux olympiques.
En marge, oui. Voilà, mais il y avait déjà quelque chose. Pour Paris, j'ai rien vu, mais j'ai l'impression que pour
l'édition... Il y a l'Olympique e-sport week qui...
Il y a un truc,
Enfin, ils veulent faire une Olympique e-sport week l'année prochaine.
Mais j'ai vu que pour 4 ans après, 2028, donc, il y avait une vraie réflexion pour peut-être faire... alors de quel jeu vidéo d'ailleurs c'est la question.
C'est justement le problème.
Des sports olympiques. Alors c'est ça la difficulté, c'est quel jeu vidéo choisir, c'est ça.
Il y en a aucun qui. Jeu de combat. Est-ce que fait qu'est-ce qui représente
aucun qui représenterait
sport,
tout le monde
et
en
oui.
fait.
Et qui représenterait pas non plus les valeurs du CIO et des Jeux olympiques. Donc justement cette compétition qui s'était fait en marge, à moins que je dise des bêtises, c'était avec des jeux basés sur le sport.
Oui.
Donc t'avais du virtual regatta, t'avais des jeux
et cyclisme, l'aviron,
exactement.
Je sais plus quoi.
Et ce qui est en e-sport, enfin force à eux, mais on,
mais non, on
voilà,
s'en fout,
on s'en fout un peu quoi.
Ouais.
On s'en fout un petit peu. Mais tu vas pas prendre du Counter-Strike parce que bah terroriste anti-terroriste, forcément ça ne marche pas. Tu vas pas prendre du League of Legends parce que c'est ingardable. Jeu de combat, c'est regardable. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on mettrait pas et en plus la violence, tu vois. Donc c'est hyper compliqué de trouver.
Moi, je vois pas l'intérêt.
Et je vois pas l'intérêt.
Je vois pas l'apport que ça aurait, que ce soit pour le jeu vidéo.
C'est pas une revendication, Zach, du gaming et
non, non, non. Moi, je trouve que l'e-sport devrait avoir ses propres Olympiques faits. Après, il n'y a pas vraiment encore de comité ou de truc officiel, tu vois. Mais je pense que
c'est hyper compliqué avec. Bah, on n'a pas de fédération.
Et en plus, c'est les éditeurs et tout. Par exemple, regarde, le football, ça appartient à personne. Même s'il y a la FIFA, même s'il y a l'UEFA, tu peux faire des choses.
Mais t'as une entité qui est responsable. Ouais,
voilà. Ça appartient à Valve, Rocket League, à Psyonix, tu vois. Donc déjà, ça, c'est compliqué. Et pour répondre à une de tes questions assez intéressantes, il y a. Aux États-Unis, Call of Duty avait été mis aux X Games. Donc les X Games, si je dis pas de bêtises, c'est un énorme événement, je crois, pour le sport extrême.
Ouais, exactement.
Alors, est-ce que c'est équivalent de l'Olympique des sports extrêmes? J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est vraiment un truc très gros. Ils avaient mis Call of Duty, ils avaient mis des machins, tout ça. C'est resté quelques années. Ils avaient pas mis de cash prize, c'était vraiment le prestige de gagner une épreuve des X Games, tu vois, donc avec la médaille d'or et compagnie. Ça a rien apporté.
Ouais.
Voilà, franchement, ça s'est resté une ou deux ans, puis ça a arrêté.
C'est mignon parce que chacun y va de sa proposition un peu en rigolant. Farm Simulator, Rocket League, jeu parfait pour les JO, me dit The Ploid.
C'est sponsor par Red Bull. C'est peut-être ça aussi.
Ah,
peut-être.
Tu vois. Ça aide.
Mais c'est intéressant ce que vous dites là, parce que moi je vois ce débat dans les médias traditionnels, de temps en temps, et si l'e-sport devenait sport olympique? Et puis en fait, vous me dites, donc il n'y a pas vraiment de demande du milieu pour que ce soit le cas. C'est ça qui est intéressant.
Et c'est un peu un fantasme
bah, oui,
pour enrichir
non,
des boîtes,
que...
limite.
Ou un ancien monde
qui
essaie d'assimiler de nouvelles... nouvelles pratiques, mais dans des cadres qui sont pas les bons en fait.
Mais de l'autre côté, je comprends ce qu'on veut dire ici, mais de l'autre côté, si tu regardes la situation de parfaite, enfin pour moi de façon objective, en tant que personne qui travaille dans l'e-sport et veut voir l'e-sport se développer, si demain on a l'e-sport qui est plus considéré au niveau de grandes instances et du gouvernement et de ce genre de choses, et que ça peut débloquer sur soit l'organisation de plus grands événements. Je sais pas quel a été l'impact. On avait été reçu à l'Elysée l'an dernier justement. Et Emmanuel Macron avait annoncé on vous donnera un major de CS, un événement, machin. Je ne sais pas si ses prises de parole et son implication entre guillemets a eu un réel impact. Mais c'est vrai qu'on a eu des compétitions qui ont été organisées. Moi, si demain c'est le genre de visibilité qui peut aider l'e-sport à se développer, à lâcher des budgets,
ça,
à annoncer des, carrément.
Ça, oui.
Allons-y, vraiment. Il y a aucun souci là-dessus.
Mais il y a des choses qui ont été annoncées en France là, effectivement.
Ouais, effectivement, il y a plein de choses qui ont été annoncées.
Des
donc encore une fois, je sais pas s'il y a vraiment.
C'est ça, hein.
Des grandes compétitions, c'est Blast.
Il y a eu Blast et on a
la finale
du LEC.
Oui.
Et du coup, ça m'amène à la question suivante que je vois beaucoup dans le chat. Quelle est la place de la France aujourd'hui dans l'e-sport? On est dans les grandes nations de l'e-sport ou pas?
Bah oui.
Oui,
sans aucun doute.
On a dans chaque jeu, il y a au moins un ou des Français dans le top.
On a des champions partout.
On a des champions littéralement partout. On a des grosses équipes. Franchement, on a l'archétype d'un pays qui est au top dans cette discipline, tu vois. On a accueilli énormément de gros événements, on en accueille encore. Franchement, à l'heure actuelle, la France a une place prépondérante, tu vois, vraiment bonne.
Grave.
La KX, enfin le tournoi, le gala, Carmine, ça avait réuni 12 000 personnes à l'Accor Arena.
C'est
énorme, c'est une salle de concert gigantesque.
On a fait des compétitions e-sport à l'Accor Hotel Arena, là c'est la première fois que tu as une équipe qui arrive à réunir autant de monde, quoi. Une équipe e-sport, t'en as pas beaucoup qui peuvent le faire après. Hein. Je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent s'asseoir à la table de Kameto et dire je peux remplir un site.
Je suis curieuse de voir ce que va faire le Stade de France parce que ça fait un moment que c'est en mode e-sport ready et e-sport ready, j'ai pas vu grand chose.
E-sport ready, ça fait pas 80K non plus.
Ouais, voilà, c'est ça.
quoi, il devrait se passer des trucs au Stade de France, c'est ça, c'est ce qui a été annoncé.
En gros, si tu veux, ils ont un partenariat avec Vitality qui est une des plus grosses.
Ils ont leur camp d'entraînement au Stade de France.
Et ça, exactement. Et ça n'a pas encore donné de grands événements, c'est ça.
Non, mais en même temps, là, le Stade de France, c'est encore à l'autre niveau.
Mais pourquoi pas?
Parce que je vois pas 80 000 personnes françaises.
C'est beaucoup quand même.
Mais c'est étonnant parce qu'il y avait une grosse campagne. Il y avait vraiment, il était brandé Sport Ready. Le Stade de France, je veux dire, même en bagnole, tu passes à côté sur l'autoroute, tu vois Sport Ready de loin. Et pour le coup, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc, c'est un peu surprenant et j'aurais aimé voir un peu plus. Ça aurait été chouette.
C'est à cette échelle-là, je crois qu'un des plus gros endroits qui avait été rempli pour de l'e-sport, c'était le Nid d'Oiseau. Du coup, qui est
Pékin,
exactement.
Ouais, exactement.
Et mais c'est la Chine. C'est la Chine, c'est avec la fanbase chinoise et avec énormément de monde qui se déplace en événement. Quoi. Je pense pas qu'on soit capable de faire ce genre de choses en France encore aujourd'hui.
Dans pas longtemps, je devrais recevoir Néo, d'ailleurs.
Ah, cool. Tu travailles directement avec le Stade de France.
Oui, parce que comme du coup, j'ai une grande curiosité et une culture de cet univers qui est encore assez faible, malgré toutes les infos que vous me donnez. J'ai envie de creuser ça et donc peut-être caler Néo de Vitality dans pas longtemps à la maison.
Très bonne idée.
Genre une rencontre Étienne.
Vraiment bonne idée.
Je vais le saouler avec mes questions pendant 7 heures.
Il parle beaucoup.
Non, il parle
vous
beaucoup.
Allez, vous adorez. Vous allez vous adorer.
Ouais. Là, t'as un bon client. Là.
Ça va voir. Il y a Joe qui rigole. Tout le monde. Ok, d'accord. Oui, oui. C'est un bon client.
Parfait. Interview, je dis on a 3 minutes. Ouais, d'accord. Non, 3 minutes, c'est 2 questions.
C'est vrai.
Ouais, vraiment.
Bah, Twitch, c'est parfait pour lui.
Il est génial.
C'est parfait. Vous connaissez Sturi, le streamer passionné de catch? Vous voyez, Sturi, manifestement, c'est le même profil. Il peut parler de catch pendant des journées. Oui. Tu vois ? Donc, il est venu à la maison pour un stream. On a fait un petit 7 heures. 7 heures et des brouettes.
7 heures ?
Ouais.
Sérieusement ?
Et à la fin, et tu sais, et moi, j'avais une semaine de fou. Ce qu'il me racontait me passionnait. Tu vois, il est passionné par son truc. C'était génial de l'écouter. Tu vois. Et moi, je suis très curieux. Donc, 2 heures, 3 heures, impeccable. 4 heures, 5 heures. Puis 6 heures, 7 heures. Tu vois, il était 2 heures du mat. Et j'en pouvais plus. Et à chaque fois, il remettait une pièce. Tu sais, je disais, bon, ben. Et puis, à un moment, je disais, bon, ben, merci, c'est super intéressant. On fera une deuxième partie, tu vois. Et il remettait. Oui, il faut que je te raconte aussi.
Une deuxième partie de cette
Samuel, au bout de 5h40, t'entends parler de Tombstone Piledriver et de 619.
Alors, Néo, ça va être pareil, c'est ça? Je vais en prendre pour 7 heures.
Pas 7 heures, mais un bon. Prévoir un bon 3-4.
Ouais. Il est très passionné, il aime beaucoup.
Moi, c'est super. Bon, ben, je vais caler ça dans les prochains mois.
Quand t'as du temps.
Prévois-toi un week-end.
Il y a un autre aspect sur le gaming. Là, on a parlé beaucoup d'e-sport, mais même sur le gaming de façon générale, que vous aimeriez mettre en avant, qui est un peu dans l'actu, dans les questions du moment.
Cette tendance des éditeurs à nous sortir des jeux qui sont pas finis, mais alors là, on peut.
C'est quoi? C'est une chose qui se développe? C'est plus qu'avant? Il y a un truc qui va pas?
Je sais pas.
En gros, c'est le classique depuis quelques années, d'éditeurs qui sortent des jeux qui sont pas finis et qui sont prêts qu'un an après leur sortie. Quoi.
C'est ça.
Mais commercialement, ils prennent pas vachement de risques en faisant ça?
Bah, t'as la première salle de vente. Puis ils espèrent reconquérir des joueurs un an après, quand le jeu est à peu près prêt. Et donc il y a des jeux qui réussissent à faire leur rédemption, comme celui dans l'espace.
Il y a Cyberpunk, No Man's Sky.
Voilà, c'est lui dont je parlais.
Ouais.
Battlefield 2042.
Oui.
Bon, lui, est-ce qu'il a réussi à se rattraper?
Quand ils l'ont mis dans le Game Pass, je crois qu'il a eu un peu un second souffle, léger.
Il y a Jacques qui dit les testeurs, c'est nous. Ah ouais?
Okay. Ah, c'est vrai. Okay. Bah, les développeurs comptent de plus en plus sur les joueurs en fait, avec des formulaires qu'ils remplissent pour dire on a trouvé tel bug, faut arranger ci, ça, ça.
Ouais, c'est ça.
Telou, trop de pression pour sortir un jeu trop vite. Joueur du grenier en parle très bien.
Bah oui.
Ok, d'accord.
C'est le classique.
Des jeux, parce que c'est
deadline intenable.
C'est des jeux qui coûtent cher quand même.
Ouais, ouais. À produire, puis même à acheter.
Non, mais acheter après, je mets à la place du joueur qui achète un jeu.
Ah oui, oui.
Un jeu de. Comment ça s'appelle? C'est un nom, les jeux très chers.
Un triple A.
Un triple A. Ouais. Ça vaut quoi? 80,
70, ouais.
Bon, ben, tu joues avec un jeu qui n'est pas tout à fait terminé, ça?
Non, pas du tout.
C'est un petit peu énervant, ça.
Oui.
Ouais, puis dans le DLC, pour 60€ de plus, t'auras le jeu qui peut être fini un an plus tard.
Ok. Ah, c'est pas cool.
Cyberpunk.
Ouais, ouais. En plus, du coup, il y a des tonnes de jeux qui ont vraiment une durée de vie absolument ridicule. Alors, je peux te le dire parce que j'ai un Call of Duty, donc là, c'est vraiment le top. Hein. Le jeu sort.
C'est-à-dire durée de vie ridicule, c'est-à-dire.
En gros, ça veut dire que au bout de quelques semaines, mois, le nombre de joueurs s'est effondré.
Ah bon?
Oui, il a une durée de vie ridicule. Avant, un jeu correct, pour parler Call of Duty, ça pouvait durer un an, deux ans, voire certains avaient des communautés pendant assez longtemps. Maintenant, tu trouves toujours des parties, hein, sans problème. Hein. Il y a toujours de la vie, entre guillemets. C'est pas complètement mort.
Parce qu'il y a trop d'offres.
Mais
parce
c'est pas ouf. Non, c'est parce que le jeu pue, en fait.
D'accord.
Désolé. Il y a pas
c'est même pas pour la concurrence. C'est juste que le contenu du jeu est pas suffisant pour y rester longtemps.
Ouais, ouais.
C'est ce qu'elle dit.
Malgré, j'ai l'impression que les budgets, pourtant, autour de la conception d'un jeu vidéo sont de plus en plus importants.
Autour du marketing, surtout.
Ah.
Ouais, c'est ça, parce que t'as toujours ces gros titres pour citer FIFA, Call of Duty, qui généralement vont faire leur chiffre de l'année sur des sorties de fin d'année, parce que c'est le moment où les gens vont acheter des consoles, vont acheter des jeux, donc t'as une durée de vie d'un an, donc t'as aussi une nécessité de sortir des jeux tous les ans, donc tu sors des jeux qui... Il y a eu beaucoup de loupés, il y a eu beaucoup de loupés. Mais t'as aussi des problèmes de burn-out du côté des développeurs, de personnes qui quittent, de culture d'entreprise vraiment qui va être toxique parce qu'on te force à rester des heures pas possibles au bureau. Donc il y a un gros problème avec l'industrie du jeu vidéo de ce côté-là.
Ça, j'en avais entendu parler, mais ça n'a pas évolué, ça, les conditions de travail
Il y a eu pas mal de choses qui ont été dénoncées,
dans le monde du jeu vidéo,
mais est-ce que ça a vraiment évolué? Il y a eu pas mal de développeurs qui ont été pointés du doigt et qui ont fait le ménage, entre guillemets, et qui ont assaini leur culture d'entreprise. Ouais. De là à dire si c'est vraiment résolu, j'en ai aucune idée.
Tiens, Kayane, du côté des sportifs, des spécialistes de l'e-sport, est-ce qu'on est aussi sur parfois des cadences infernales? Est-ce que c'est en solo ou en équipe, est-ce que ça peut être épuisant aussi ou est-ce que c'est un peu...
En fait, ce qui est vraiment épuisant dans le cas des jeux de combat, notamment, c'est surtout les voyages. Et en fait, les joueurs ne se rendent pas compte parce qu'il y a des ligues, des circuits compétitifs mondiaux qui sont avec des tournois tous les week-ends quasiment, mais... D'un autre bout du monde à l'autre. Et parfois, je prends l'exemple de Luffy, qui est un champion de Street Fighter, qui me dit « Bon, bah là, je vais faire 2 semaines de voyage. Alors, à un moment donné, je vais au Canada, il fait moins 20 degrés. Et juste après, je vais à Porto Rico. » Donc, il doit prendre la grosse doudoune. Et la semaine d'après, il est en short claquette. Et en fait, c'est hyper fatigant parce qu'il rentre chez lui... 3 jours maximum, le temps de voir la famille, les amis.
Ou de vivre.
De vivre tout simplement, mais il doit aussi s'entraîner pour le prochain tournoi. Et en fait, c'est un rythme incessant où tu as beaucoup d'argent du coup investi, où tu n'as même pas le temps de te reposer. Donc quand tu es dans le voyage, tu performes comme une merde. C'est un rythme effréné que les éditeurs ne pensent pas forcément parce qu'ils veulent faire un circuit mondial où les joueurs doivent voyager
beaucoup.
En claquant énormément de thunes, des sponsors. Et ça se trouve, tu vas mourir en poule et personne ne va te voir jouer. Donc c'est ça qui est surtout difficile.
Okay.
Et le fait de devoir s'adapter aussi parfois chaque mois ou tous les 6 mois, ça dépend au bon vouloir de l'éditeur. Il faut s'adapter aux mises à jour. Et ça, tu le fais sur tout le temps qui reste, finalement, entre les voyages, et il ne reste pas beaucoup de temps.
C'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui soulignent que ça rejoint les problèmes du sport de haut niveau, le tennisman, par exemple. Voilà.
Mmh. Oui.
Et les questions écologiques, du coup, parce qu'il y a des circuits qui sont organisés, qui font voyager les sportifs, que ce soit e-sport ou traditionnel, aux quatre coins de la planète tout le temps. C'est épuisant pour les joueurs. Et puis, sur un plan écologique, c'est pas terrible non plus, quoi.
Ouais, sur Counter-Strike, il en parlait, Max, l'un des joueurs principaux. Je crois qu'il avait fait une sorte de timeline où, en gros, sur 6 mois, il avait été chez lui genre 14 jours, un truc comme ça. Où, en fait, comme elle a dit, tu sautes d'un tournoi à l'autre. Au tournoi avant le prochain, il y a un bout de camp, tout ça, machin. Tu restes 4 jours ici, 5 jours là, 7 jours là. C'est compliqué. Mais bon, c'est faisable et c'est juste très, très difficile.
Là, ça peut être entre 3h, 7h d'entraînement par jour quand tu es professionnel. Et sur des jeux de combat, les parties sont très courtes. Donc, finalement, quand tu joues 3 heures, tu joues énormément de parties. Mais après, tu as les sessions d'entraînement, tu as les tournois, tu as la séquence où tu vas regarder les matchs, les replays, voir les tournois qui se font. Donc, tu as beaucoup d'analyses aussi de vidéos et de tournois en stream. Et cette partie-là aussi, elle compte dans l'entraînement. Donc, ça, plus se remettre en question en permanence et s'entraîner sur ses combos tout seul, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, en plus des
plus
voyages.
La création de la salon de thé, on en parle tout à l'heure, parce que les gâteaux et la gourmandise, très important. Et Kayane a ouvert son salon de thé il y a 2 semaines.
Voilà, 2 semaines.
À Paris, je vous en parlerai.
C'est incroyable, ça.
Parce que je suis allé voir les images sur les réseaux sociaux et ça a l'air très bon. Zach, t'as vu les images de la carte?
Bien sûr. En fait, j'ai pas vu les images de la carte, mais j'ai vu les images de l'intérieur. Je crois que t'avais posté les photos il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui, c'est très.
Avec ma femme, on est férus de salon de thé, on kiffe trop.
Il faut qu'on y aille.
On y va très souvent.
Il faut qu'on y aille. Tu es déjà allé déjà?
Non.
Laure, t'es déjà allé?
Non, non, non.
Il faut qu'on y aille.
Invite-moi, Samuel.
Ah oui, non, mais regarde.
C'est d'ailleurs page de pub. C'est dans le 11e arrondissement, je crois.
Oui, ça s'appelle chez Yumi.
Chez Yumi.
Paris
11e. Y-U-M-I. Voilà. Et moi, j'ai vu les photos. Il faut vous dire que le gourmand peut en témoigner. Ça a l'air très, très.
Tu fais quoi un petit peu? Tu fais du thé, des choses comme ça? Des pâtisseries? Des
pâtisseries japonaises. Tu vois, si tu vois les taiyaki, les friandises à base de poisson. En forme de poisson.
Oui, oui, oui.
Ouais, où tu mets de la chantilly dedans,
j'ai vu
les crémeux et tout.
Bah, ça vient d'où?
Du Japon.
C'est la première fois que je voyais ça.
Ouais, mais c'est ce que je préfère là-bas.
Donc c'est quoi, c'est une pâte à biscuits, le poisson, c'est quoi?
Ouais, c'est une sorte de pâte un peu gaufre et qui, du coup, a une forme de poisson. Ouais, et tu mets ce que tu veux dedans.
Qu'est-ce qu'on met alors, du coup?
Alors, haricots rouges ou... Moi, j'aime pas trop les haricots rouges, mais j'avoue que le crème haricots rouges est très bon. Ou sinon, tu mets du matcha.
Quelqu'un a mis l'adresse dans le chat, chez yumi.fr. Voilà, dans le chat, vous avez épinglé, vous avez l'adresse.
C'est matcha.
Ok, d'accord. Ouais. Ok, ben on va passer.
N'hésitez surtout pas à passer. Ça me fera très plaisir.
Genre, t'as des employés là-bas ou de temps en temps, toi, tu y vas?
J'y vais aussi. D'ailleurs, lundi, j'organise un événement autour de Final Fantasy. Parce que, comme je le disais dans l'interview avec Pascal Pro, j'adore Final Fantasy. ils ont sorti un jeu musical.
Et ça t'a rendu violente ou pas?
Du coup, ouais, j'ai appris le piano grâce au jeu vidéo.
Demande-le 3-4 fois encore, peut-être que ça va la rendre violente.
En vrai, le site est super joli.
Merci.
Regardez. Le lieu.
Ah mais c'est tellement toi.
Attends, on va montrer. Je vais vous montrer.
Les viewers, ils nous entendent parler et tout, ils ont envie de voir. Ils aiment bien.
C'est rose.
Je peux pas. On est sur un média de l'image quand même. On va taper chez Yumi. On va trouver ça. Hop. Et déjà le site est super joli. Et j'espère qu'il y a des photos de dessert. Kayane, il y a sûrement des photos de dessert.
Ah bah j'espère.
J'espère aussi.
Oh là, c'est bien noté. Je l'ai vu tout.
Fait péter. Regardez déjà, regardez comme c'est beau. Mais je sais pas qui a fait la déco, mais c'est super joli.
C'est un artiste qui s'appelle Thierry Janet.
Voilà. Et là, je vois le mot magique qui est le mot menu. Voilà, la carte.
Ah ouais, mais attends, mais t'es ouverte demain?
Et regarde
on est ouvert, ouais.
Regarde les bubble tea. Les bubble tea sont magnifiques. Voilà.
Ils sont très bons.
Mais le site, il est superbe.
Ah, je crois qu'on va venir demain.
L'été chaud, et là, je descends. Pâtisserie, sponge cake. Dorayaki, les taiyaki dont tu parlais, le poisson là à droite, ça je connais pas ça. Voilà. Les crémeux, on dit mochi.
Et mochi.
Voilà. Est-ce qu'on peut streamer de là-bas juste,
tu peux streamer de là-bas. Oui, tu peux faire un live IRL dégustation de mochi.
Ok, Joe, on va voilà.
Non, mais on va venir. T'inquiète pas, Kayane, on va venir.
Non, moi je vais vous rincer là-bas.
Tu fais prix d'amis ou pas?
C'est gratuit pour moi.
Oh là. Demain, Zach, 8h30.
Ah, mais c'est ça, à l'ouverture.
Kayane, elle a dit gratuit. C'est ton employé, je vais montrer le clip.
Que pour eux, regarde.
Merde, c'est sur l'iPhone.
Ouais, je tenais cette page de pub parce que je pense qu'à mon avis c'est très très bon. Il faut soutenir les nouvelles entreprises. Celle-ci elle a 15 jours.
Oui, elle a que 15 jours. Oui, et en fait je voulais vraiment un endroit sur Paris où faire les événements que je voulais. Parce que j'avoue qu'en organisant des événements de jeux de combat, j'ai un peu galéré de cybercafé, de bar en bar, de salle de jeu, et à chaque fois on est un peu en mode ouais mais vous consommez pas assez les gars.
C'est impersonnel aussi.
Ouais, et là t'es chez toi.
Et là j'ai mon chez moi.
Et donc il y aura des événements
et
aussi.
Et j'organiserai les événements que je veux.
Tu sais que c'est assez drôle, petite question, comme ça là rapide, débat parallèle. Genre là quand t'as tapé chez Yumi, j'ai vu de loin les avis, ils avaient l'air excellents, tu vois.
Ouais.
Moi, je sais pas pour vous, c'est quoi, même le chat, etc. Je pose la question. Moi, maintenant, je suis devenu un psychopathe des avis. Ouais, quand je dis un psychopathe des avis, j'en mets pas spécialement moi, j'en mets un petit peu de temps en temps.
Tu regardes.
Je regarde tout le temps.
Ah, moi aussi.
C'est-à-dire que Samuel, je ne vais plus dans un seul endroit sans avoir checké les avis avant de cet endroit. Du resto, les avis les plus récents, ce que disent les gens.
Bien sûr.
Sous sa machin nanin. Vraiment tout le temps, tout le temps. Et je vis que avec Google Maps. En plus, parce que c'est excellent. Parce qu'en plus, tu vois, genre, tu tapes restaurant asiatique et tu vas voir tous les trucs. Géorgien, j'aime bien la cuisine géorgienne, je cherche, tu vois, les machins. Et c'est vrai que je ne regarde que les avis. Quand je vois de temps en temps les balles que j'ai évitées. Des restos à 2,8 alors j'ai commandé un steak et j'ai reçu du chien sens que t'as évité vraiment des choses bien
médecin,
dégueulasses
ton
tu vois.
Médecin de quartier maintenant il est noté, c'est pareil sur tout, c'est incroyable.
Oui, j'ai vu sur Doctolib et tout, c'est incroyable.
Et c'est incroyable, t'as les avis des gens, mais en vrai moi je trouve ça intéressant.
Moi je regarde que ça maintenant.
Faut toujours se méfier éventuellement que tu sais, parfois il peut y avoir des petites manipulations, des gens qui veulent, mais globalement quand t'as, je dis n'importe quoi, 500 avis sur un truc et 500 avis très positifs ou 500 avis très très moyens, bon, au moment tu te dis les avis ça va?
Oui, ça va pour l'instant, mais j'avoue que j'ai eu peur à un moment donné, je me suis dit mais c'est vrai qu'il peut y avoir des gens qui veulent te pourrir en fait.
Carrément.
Tu vois, il peut y avoir des gens qui veulent pourrir ton lieu et c'est des avis négatifs.
Ça en général, tu peux l'enlever quand c'est vraiment trop de gens.
Quand c'est du harcèlement, il peut y avoir des
formes d'appel.
Exactement. Ouais. Mais tu sais que c'est vrai qu'on pourrait.
Le site a crash. On a fait crasher. De...
Mais c'est vrai qu'on pourrait penser que les gens vont mettre des avis que quand ça leur plaît pas, mais pas vraiment. Pas tant que ça.
Ah non.
Où il y a vraiment des endroits qui ont 4,8, 4,9 avec 600 avis, c'est des endroits
où je mets plus facilement quand je suis très content.
Oui, pareil.
Ça m'arrive. C'est très rare que je mette vraiment des très mauvaises expériences J'ai dû en mettre deux dans ma vie, mais je préfère. Par contre, j'ai un vrai coup de cœur pour un endroit. Je le dis, je me dis que c'est un service à rendre au prochain client, quoi.
Ouais.
Et moi, c'est pas. Mais c'est vrai que du coup.
Partager des adresses et tout, des comptes Insta, Mapster aussi, qui est trop bien aussi pour ça. C'est...
Je vois que t'as 4-9 pour l'instant. Ouf. Sur 5.
Très bien.
D'après Yumi, très bien dans le chat. Une info
merci.
Chat.
En plus, Yumi, c'est le nom de ma chienne. Donc ça me ferait du mal qu'on lui mette 0 étoile, tu vois.
Il y a Gunner qui dit mon médecin traitant à 1,8. Change de médecin traitant. Monsieur Martin, mon commissariat a 1,5 étoiles. C'est pas très très bon. Ne va pas là non plus.
Généralement, t'en sors pas très content quand tu ressens un commissariat.
C'est comme les journalistes, il y a des bons policiers, des mauvais policiers. Moi, récemment, je suis dans un commissariat.
Tu vas rarement au commissariat pour une bonne nouvelle.
J'ai été super bien accueilli.
Ah bah.
Bon, c'était mon scooter qui était parti à la fourrière.
Non, mais tu sais qu'en général, même le classique de truc qui a des avis à mourir de rire, enfin, mourir de rire, tout est relatif, je veux dire, mais qui sont souvent très mauvais, c'est les hôpitaux ou les médecins.
Ouais.
Quand tu cliques dessus, tu vois. Alors là, par contre, j'ai dit que de temps en temps, quand les gens
sont
contents, ils n'hésitent pas à mettre 5 étoiles.
Ouais.
Pour les services qui ne sont pas de la bouffe ou quoi. Ah là, les gens, quand ils ne sont pas contents, ils n'hésitent pas à les mettre le 1 étoile. Hein. Vraiment. Et donc, du coup, ça fait lire des fois des choses assez marrantes. Alors, bien sûr, toute proportion gardée, parce que hôpitaux, c'est rarement marrant.
Mais médecins,
c'est hyper drôle.
Je regarde, moi. Sur les médecins, je regarde. Hein, avant de choisir un nouveau médecin, je regarde. Et les avis, maintenant, c'est fou, c'est génial.
Moi, c'est mon ancienne société de comptabilité qui est absolument catastrophique. Elle a des avis horribles. Et je vais lui mettre une étoile.
Bah, change de comptabilité.
Je vais lui mettre une étoile. Pavé comme ça. Plus 32 votes. Et je fais yes.
Et t'as changé de comptable.
C'était horrible.
Il y a eu 32 avis derrière, enfin, qui ont noté.
Oui. 32 personnes qui ont dit c'était utile.
C'est comme Reddit.
Wow.
Ouais. Et dans la foulée, genre après mon commentaire à moi, il y avait déjà des commentaires avant, et il y a eu des commentaires après. Et là, tous les 3-4 mois, je vais voir, je fais ah oui, c'était bien lui en fait. Voilà.
Il y a les gens qui notent leur centre des impôts dans le chat. Le centre des impôts.
Yeah.
Je surveille l'heure parce que j'aime pas amuser la gentillesse de mes invités. On se fixe des streams de 2h30, 3h max. On a passé une petite 1h30 à la fois sur l'intro et sur e-sport, mais en même temps, ça me semblait vraiment un minimum parce que c'est un sujet qui est très vaste. On l'a que effleuré et c'est on a l'occasion d'y revenir. Je sais notamment que Laure décolle tôt demain matin.
Ouais, hein. À Berlin demain.
Ouais, bravo.
Merci.
Je crois que le deuxième thème, Joe va me le confirmer, que vous avez choisi dans votre vote du début pour classer les 4 thèmes de ce soir, c'est TikTok. Ouais. TikTok toxique. Alors pourquoi cette semaine? C'était un dossier dans La Croix, qui est un bon journal, là-dessus, qui résumait un petit peu toutes les infos, les questions qu'on se posait sur TikTok. Alors on dit que c'est le réseau social préféré des plus jeunes. Hein. Mm. On dit qu'il est très addictif, qu'il a un algorithme très efficace, voilà, que beaucoup de personnes y passent des heures à scroller. Voilà. Il est opaque, son algorithme n'est pas rendu public. Il y a un problème au niveau aussi de la collecte des données. Voilà.
Ah, aussi.
Aussi.
Ah, voilà. Ouais, c'était sûr.
Ouais, forcément, de toute façon.
Et du coup, il y a de plus en plus d'enquêtes qui sont lancées dans le monde entier, aux États-Unis, en France. Le Sénat, le très sérieux Sénat, va lancer une commission d'enquête sur TikTok pour voir quelles sont les questions qui se posent sur TikTok. Je voulais savoir, tiens, il y a Captain McBurney qui dit mon fils n'y touchera jamais, par exemple, à TikTok.
On en reparle.
Quel est votre rapport à TikTok, tous les trois? Laure, tu me disais que toi tu...
Je reste curieuse parce que ça fait partie de... Pas mon métier parce que je me considère pas comme influenceuse, mais être présent sur Instagram et sur Twitter, c'est intéressant dans ma perspective de développement de carrière et dans mon business model. Donc TikTok en fait partie aussi parce que c'est une des grosses plateformes. Donc un intérêt pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe dessus. J'ai essayé de me mettre sur TikTok, j'ai essayé, mais que ce soit pour en poster ou pour regarder ce qui se passe. Non, quoi, la flemme. Je n'y arrive pas.
T'es pas rentrée encore dedans?
Non, en fait, même en regardant les choses qui m'intéressent, je n'arrivais pas à avoir une page pour moi, enfin une For You page, qui correspondait à ce que j'avais envie de voir. Et au bout de 50 danses TikTok de personnes que je connais même pas en plus, je suis là, ça me saoule.
Zach,
mais je comprends que ça marche.
Zach, toi?
Bah, tiens, je suis allé voir directement.
Ouais.
iPhone de Zacharia, mon temps cette semaine, TikTok, 7 minutes.
Ok, donc
je n'y vais pas du tout. J'y vais très très peu, j'y vais que pour regarder. Et aussi parce que moi j'ai eu mon côté addict des réseaux sociaux, mais avec Twitter. Parce que je passais beaucoup 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 de temps dessus.
Tu parles au passé, t'as bossé là-dessus?
J'ai plus Twitter sur mon téléphone.
Ah ouais?
Ah oui, ça se voit là.
Voilà. Parce que tu y passais beaucoup de temps?
Ouais, beaucoup trop. Ouais. Et donc j'ai divisé mon temps d'écran par deux par ça. Donc j'en avais déjà parlé public, hein, c'est pas vraiment une surprise, tu vois. J'en ai déjà parlé notamment dans Popcorn. Et parce que en fait je passais vraiment trop de temps dessus, je trouvais ça trop divertissant. En fait, t'avais les news quand ça se passait, tu pouvais parler avec les gens, tu pouvais troll, tu pouvais rigoler. Moi le classique, j'avais 3 heures de train, franchement, je rentrais dans le train, j'allais sur Twitter, je commençais à tweeter un petit peu, je pouvais répondre avec les gens, je disais des bêtises et tout ça, machin, je relevais le nez et hop, on était arrivé, tu vois. Et bon, autant pour le train ça peut être utile, autant quand ça pouvait être de longues heures dans le lit, tout ça, tu vois.
Ah, le soir.
Ouais, ça avait vraiment commencé à me faire fondre le cerveau, ce truc-là, parce que je n'arrivais même plus à regarder un film sans aller checker un moment, tu vois, juste comme ça, le téléphone et tout. Et j'ai décidé de prendre quelques mesures sur ça.
D'après ce qu'on lit, alors moi je suis un peu accro à Twitter, donc j'ai le même problème, mais d'après ce qu'on lit, TikTok serait encore plus addictif.
Ouais, Léo Duff a fait une vidéo dessus.
Qui ? Oui.
Alors, elle est excellente. Apparemment, j'avais vu un neurologue réagir dessus comme quoi tout n'était pas parfait dedans. Il y avait peut-être quelques précisions ou quelque chose qui n'était pas nickel, notamment sur la dopamine. Mais il a fait une vidéo très bonne dessus sur l'algorithme de TikTok, sur justement pourquoi est-ce qu'il est si addictif, tout ça, machin. Donc, je la conseille à absolument tout le monde. Et en gros, oui, pour moi, cette appli... elle a un côté... ça va que j'ai tapé Twitter et que maintenant, du coup, TikTok, je n'ai pas plongé dedans parce que je pense que j'aurais plongé dedans. Ouais. Moi, j'aime bien les réseaux sociaux. J'aime bien notamment aussi YouTube, Twitch, YouTube, beaucoup. Je suis friand de contenu vidéo. TikTok, je suis déjà allé un petit peu sur le toilette dessus et je vois comment tu te fais vite aspirer comme ça.
Ouais, mais ça t'aspire, mais dans le mal.
C'est que tu vois ce que je veux dire. Ouais,
et après, en soi, c'est divertissant. Il y a des choses très intéressantes dessus. Attention, moi, je ne veux pas faire le boomer en mode TikTok, c'est le mal, c'est pourri et tout. Non, 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 il y a des gens, c'est des génies. Hein. Attention, il y a des... et vraiment, il y a du lourd. Hein. Ouais. Moi, j'ai regardé des Reels Insta à côté, tu vois, histoire de un petit peu quand même avoir ce petit format de téléphone et de ça machin. Il y a vraiment des choses très intéressantes, du très très bon. Comme d'habitude, quand tu fais avec parcimonie les choses, ça peut aller. Après, le danger, c'est que c'est qui fait les choses sans parcimonie, bah ça va être souvent les plus jeunes ou alors aussi les plus âgés, hein. Ça c'est pas l'apanage que d'eux, mais c'est surtout le danger pour les plus jeunes du côté de l'attention, tu vois, notamment. Et moi maintenant qui vais prendre beaucoup le métro parisien, tu vois, tout ça machin, franchement dans le métro c'est statistique sorti de mon imaginaire, mais de ce que j'ai vu de mes yeux, franchement tu regardes deux téléphones sur trois,
c'est dessus,
c'est souvent TikTok, quoi. Statistique qui n'a aucune valeur, hein. Je dis juste
non,
que moi...
On le voit au quotidien, dès que tu vois une masse de gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans le métro, dans les transports, c'est vraiment scroller TikTok.
Toi, Kayane, hein. t'es principalement sur quel réseau social ?
Alors, principalement Twitter,
ouais.
Insta, Facebook, TikTok. J'ai essayé TikTok il y a 2 ans, en fait pendant le confinement, je me suis dit, bon, je m'emmerde un peu. On va se mettre dessus, on va voir ce que ça donne.
Et alors ?
Et je crois que j'ai un compte à 70 000 environ abonnés. Donc, c'est que ça a pas mal avancé. Le truc, c'est que ça m'a vraiment mis dans une sorte de spirale. Genre, en fait, tu dois réfléchir différemment quand tu fais un contenu sur TikTok. Comme c'est des contenus très courts, en fait, ça te force à penser différemment. Et ça te pense surtout à te dire comment tu captes l'attention de quelqu'un en 3 secondes. Et, ouais. Et du coup, tu te mets dans cette dans l'optique du viewer. Tu te mets et tu te dis, bah moi, pour captiver quelqu'un, enfin, comment je vais être captivé par quelqu'un en 3 secondes, et qu'est-ce qu'il faut,
ouais.
Et en fait, tu te mets à la place de la personne qui regarde. Tu te mets à faire des trucs en fait qui te ressemblent pas aussi, parce que c'est pas dans ma nature de vouloir captiver. J'ai fait un truc super, regardez jusqu'au bout. Quand t'es obligé de faire ça. C'est que ça te ressemble pas, mais en même temps, tu dis, pour faire les vues, t'es obligé de faire un peu putaclic. Dès le début de la vidéo, tu dis, bon, et à un moment donné, c'est rigolo, c'est marrant. Et puis ensuite, tu dis, non, mais je vais pas être dans cette spirale-là où, en fait, j'absorbe les gens dès les 3 premières secondes pour qu'ils m'écoutent. Et pour moi, c'était vraiment fatigant, en fait, de me mettre dans cet état-là. Et même, une fois que t'as posté la vidéo, c'est même pas fini. Parce que après, tu te dis... Ok, là ça fait 500 vues. 3 heures après, il y a genre 100 000 vues. Tu dis, waouh, attends, qu'est-ce qui s'est passé? La vidéo, elle a buzzé, j'ai pas compris comment, j'ai pas compris pourquoi.
Ça, c'est un peu mystérieux d'ailleurs.
C'est hyper mystérieux, l'algorithme.
Comment certaines vidéos peuvent.
Ouais, ça puis l'algorithme buzzer. Te capte si jamais tu bugs trop, enfin si tu buzzes trop et tout. Et c'est pour ça que c'est un côté un petit peu pervers, je trouve aussi, je pense.
Ça, parce que
t'as pas du reach et de. Et de ce que X nombre de likes ou nombre de vues genre vont t'apporter et dire ah tiens c'est cool, puis t'as pas vraiment de cohérence entre un contenu qui va buzzer et un contenu qui va pas buzzer, donc je pense que c'est vraiment très prise de tête.
Mais en même temps la valeur d'une vue TikTok elle est relative.
Oui, voilà, c'est surtout ça.
Une vue TikTok n'a pas du tout la même valeur qu'une vue YouTube par
c'est
exemple.
Ça. Clairement.
La vue TikTok c'est souvent la vue d'un scroll qui des fois n'a même pas regardé un quart de la vidéo, tu vois, c'est boosté pour pas grand chose. Après, je dis pas, il y a des superstars de TikTok qui sont ultra reconnus dans la rue. Hein. C'est pas pour dire que ça vaut rien, mais ça vaut un peu moins. Ouais. Pas très longtemps, j'ai pu parler à des entreprises, des machins, et les entreprises, elles ont souvent des objectifs chiffrés, des trucs, et les mecs disent, nous, on remplit nos KPI, donc nos objectifs de reach avec TikTok. Ils disent, TikTok, ouais, pour nous, c'est un bonheur. Genre, les entreprises, elles vont sur TikTok, elles font un petit coup de sponsor, ou alors des fois, elles engagent un mec pas trop naze pour gérer le TikTok.
Tiens, j'ai
les
chiffres.
Et boum, les mecs explosent facilement.
Un message épinglé dans le chat sur les chiffres, les statistiques. Le nombre utilisateurs actifs mensuels de TikTok, 1,7 milliard. Mmh. 51% de l'audience des femmes entre 13 et 24 ans.
Oui, d'accord.
23% des utilisateurs, donc un quart entre 13 et 24 ans, donc c'est très jeune. C'est assez féminin aussi. 40% des visiteurs quotidiens dans la tranche 15-24 ans. Donc, c'est, quand on dit que c'est le réseau social des jeunes, ben les statistiques confirment en fait. Ah, 70% de la communauté en France a plus de 18 ans par contre. Il y a peut-être en France, c'est un peu plus âgé.
Et là, j'ai essayé de me connecter parce que j'ai ouais. complètement arrêté quasiment de poster des contenus dessus. Et j'ai essayé de me reconnecter parce que les gens disaient « Ah, c'est marrant, regarde les vidéos de chiens. » Du coup, moi, je suis abonnée qu'à des vidéos d'animaux. Hein. Et quand je vois ce qu'il y a, c'est en ce moment que des vidéos qui pop dans les pour toi,
ouais.
en mode l'algorithme TikTok a changé, alors maintenant pour faire des vues, il faut faire ci, ça, ça. Et je me dis, mais ça ne m'intéresse absolument pas de savoir comment gérer l'algorithme. Et donc tu scrolles pour voir d'autres choses, voir si.
Mais t'as que ça.
Et j'ai que ça dans toutes les langues, en anglais, en espagnol, en français.
C'est bizarre, pénible.
Mais en fait, du coup, en fait, rien que dans les pour toi, en fait, on te pousse à faire des vues. On te pousse dans cette sphère de si tu veux être quelqu'un, si tu veux buzzer, en fait, il faut respecter ce qu'il faut faire dans ses vidéos. Faut...
Et c'est ça qui est malsain. Parce que en fait. Si on parle d'un public assez jeune qui est conditionné à inciter à faire du buzz et à organiser sa vie, ses pratiques, son quotidien pour faire du buzz, d'ailleurs, tout à l'heure, on parlera de l'évolution de l'amitié. C'est pas très très sain en fait.
C'est ça qui est pas sain, c'est ça qui me fait aussi arrêter un peu progressivement la plateforme.
On me signale un but pour l'OL. Ouais.
Merci à tous ceux qui regardent en double screen et qui viennent me tenir au courant de ça, ça fait plaisir. Donc on est bon, je vous remercie. Non, plus sérieusement, moi je pense après bien plus facile à faire, tu vois, mais encore une fois, il y a du bon dedans, tu vois. Faut pas reprendre les mêmes réactions qu'ont pu avoir des fois nos aînés vis-à-vis de ce que nous on faisait, tu vois, même si ce qu'on faisait c'est pas forcément comparé au TikTok, mais faut pas avoir la même réaction épidermique de voir tout par le mal de ces choses-là, même s'il faut quand même faire attention. Parce qu'il y a du bon dedans. Faut juste quand même essayer de se renseigner.
Il y avait, comme tu disais, des contenus intéressants aussi.
Il y a vraiment de l'intéressant.
Après, Jacques, est-ce qu'on peut les trouver facilement? Parce que j'ai l'impression que l'algorithme te cible un peu, décide de te cibler, de te proposer des choses. Mais est-ce que les contenus intéressants que tu as vus, toi, Jacques, est-ce qu'on peut les trouver?
Oui.
On peut les trouver.
Je vais te donner un exemple concret, Samuel. Je vais te donner un exemple concret. Déjà, Léo Duff le dit bien dans sa vidéo. En fait, TikTok, l'avantage de son algorithme par rapport à l'algorithme des autres réseaux, c'est qu'il te met un contenu de base. T'arrives sur YouTube, on te met rien sous la gueule. Tu choisis, tu cliques un peu au hasard. Et après, là, l'algorithme se fait au fur et à mesure du temps avec ce que t'as regardé. Et si d'un coup, tu commences à regarder beaucoup de vidéos de cuisine, tu vas avoir un peu plus de cuisine et ainsi de suite. Sur TikTok, de base, t'arrives, il y a un truc. Donc là, tu scrolles. Et là, l'algorithme, il analyse combien de temps t'as regardé. Si t'as cliqué, si t'as regardé les commentaires ou pas. Si t'as partagé ou non. Si t'as ci, si t'as ça. Et là, il t'envoie une variété de choses tellement énormes. Et c'est là la magie du format court plus téléphone, c'est que ça permet à des choses qui auraient sûrement pas buzzé sur YouTube ou ailleurs de pouvoir faire leur trou. Moi, sur TikTok, tu sais, je suis tombé sur quoi? Et j'ai trouvé ça fascinant. J'ai trouvé un mec qui parle de ses fromages, un fromager. Et il te sort des camemberts de l'enfer qui ont 135 ans, il faut les découper à la cisailleuse, comme ça. Mais c'est passionnant. Et ce mec-là, sur YouTube, il t'aurait fait 14 vues. Sur TikTok, il t'en a fait 500K. Et c'était vraiment super intéressant, tu vois, et donc oui, ces contenus là sont là, et par la variété de ce qu'ils te proposent,
il y a des gens qui le connaissent,
bien sûr, le gars est connu,
Louis Affineur,
ouais, c'est sûrement lui, et franchement, c'est génial,
tout le monde en parle.
Et ce format un petit peu il change, c'est cool, tu vois. Après, encore une fois, la difficulté c'est l'algorithme, tout ce que ça a sur l'attention, les petits dangers aussi, parce qu'il y a des fois des utilisations détournées qui sont assez malsains.
Au début, ouais, c'était très grave.
Il y avait des gens, ils mettaient les codes couleurs de sites pour adultes,
ouais,
ou alors ils mettaient des codes couleurs de sites pour adultes, et après derrière, ils prenaient des photos de streameuses ou de personnalités féminines connues. Et ils postaient des photos d'elles, genre quand elles étaient en stream, ou alors leurs photos Insta ou quoi, ou dans des positions suggestives. Terrible. Mais bon, ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas qu'au début. Il y a eu une sorte de purge. Mais pour en revenir, moi, effectivement, il faut juste y faire un peu attention, et somme toute, après, derrière, si on se rend compte un peu de... Bah, moi, il y a toujours un truc que je vous accorde, c'est l'impression que l'utilisation de TikTok en Chine n'est pas la même.
Ouais. Ah oui,
j'avais lu des articles sur ça. Là-bas, je crois qu'ils limitent ou qu'ils sont utilisés à une, oui, à une certaine portée. Et c'est vrai que c'est pas pour faire le « Ah, waouh, c'est envoyé par la méchante Chine pour nous détruire », mais j'ai l'impression qu'eux, ils se sont rendus compte, ou alors peut-être ils ont un peu plus limité la chose, ouais.
C'est peut-être ce qui va se passer chez nous, parce que s'il y a des commissions d'enquête qui se font dans certains pays comme la France, peut-être qu'il y a une réflexion qui va se faire en encadrement. Quoi.
Après, Samuel, là où j'ai peur, c'est que la commission d'enquête du Sénat.
Ouais.
Alors, je dis pas que c'est les sénateurs qui le font lui-même, mais c'est quoi la moyenne d'âge là-bas?
Après,
est-ce que la commission d'enquête va arriver sur les conclusions les plus fraîches?
Normalement, ils sont censés, tu vois, inviter des experts, en fait.
Bien sûr.
Tu vois, qui vont essayer de les...
Bien sûr, je me doute.
D'ailleurs, je propose aux sénateurs qui nous regardent d'inviter Zach, parce que je pense qu'il a bien compris le truc globalement. Donc, Zach, tu vas te retrouver au Sénat en commission d'enquête, tu vas rien comprendre.
Bah, j'aimerais bien avoir leur régime de retraite.
Joli.
Elle est pas mal.
T'as bossé, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai problème avec la...
Oui.
En fait, petite parenthèse ouverte par Zach, qui est très très juste. Dans le débat actuellement sur la réforme des retraites, juste pour mettre en perspective ce que dit Zach, parce que c'est assez pertinent, il y a la question des régimes spécifiques, les régimes spéciaux.
Et le Sénat, ils ont un régime très spécial.
Ouais, ouais, ouais. Et effectivement, les parlementaires, les députés et les sénateurs ont un régime particulier. À un moment, il y a des gens, il y a même des élus qui ont dit « Attendez, vous voulez réformer la retraite des Français, mais peut-être qu'il faudrait aussi réformer votre système de retraite. » C'est pas prévu. Et Zach a raison, il y a le système des députés, mais celui des sénateurs est encore plus intéressant.
Genre, c'est une retraite c'est hyper tôt, ah ouais, avec genre vraiment des conditions de ouf. Et en fait, leur argumentation aux sénateurs, c'est de dire que leur régime de retraite est financé par notamment ce qu'ils cotisent, mais ouais, c'est financé qu'à 50%, parce que les roses de 50%, c'est l'argent public.
Quel culot.
Il a bossé, Zach. Ouais, wow. C'est juste. Bon, c'est vrai pour le coup.
Bref, c'était pour la petite bastos, comme ça, on peut repasser.
Non, mais quand tu demandes aux Français de changer leur système de retraite et que ceux qui sont censés la voter
et vous
veulent pas faire l'effort, c'est vrai que c'est dur de convaincre les gens.
Ouais.
Pas mal ce petit tacle glissé, bien propre, Zach. Il n'y a pas carton. Plaisir. C'est nickel. Bon, en tout cas, Joe, nous, on s'est lancé dans l'affaire TikTok puisque Joe m'a forcé, il m'a agrippé, il m'a mis dans un coin et il m'a obligé à créer un compte TikTok à quoi, 15 jours.
Alors, Samuel Etienne sur TikTok.
Bah oui, en fait, ce qu'on poste pour l'instant, il y a une jeune fille qui regarde l'émission, là, que je salue, qui s'appelle
Iris.
C'est Iris.
Dédicace
voilà.
À Iris.
Iris qui nous regarde et qui, en fait, la semaine dernière, a fait 3 vidéos, par exemple, de l'émission qu'elle a mis sur TikTok.
Ouais.
Voilà, j'en ai une que j'ai remise sur Twitter d'ailleurs.
Ouais.
Et un super boulot. En fait, elle prend une petite séquence un peu sympa, elle monte, elle clip ça. Et en fait, c'est plutôt sympa. Ouais. Donc. Déjà une qui est faite.
Ça marche bien ce genre de contenu.
Tiens, je peux aller voir en direct ce que. Ouais, vas-y. Iris, c'est pas que je surveille ton travail, mais j'ai trouvé ça super que tu as fait la semaine dernière. J'y vais. Attends, où est-ce que. Ouais. Hop, Iris, ici. Tu as peut-être trouvé la vidéo qu'elle a faite. Et par exemple, la vidéo qu'on a postée la semaine dernière, Joe, c'était sur. Ouais, j'ai pris un gros vent par Virginie Efira. Donc ça a bien fait.
Ah oui, j'ai vu.
Je crois que j'ai vu ça passer.
Elle a eu son petit succès. Un petit 160 000, voilà. Pour un compte qui avait 15 jours. Voilà, c'était plutôt pas mal. Et là, je vois. Où est-ce qu'elle a mis. C'est là ? Non, ça, c'est là. J'ai pas encore la nouvelle, Joe, je crois.
Alors, elle est postée sur TikTok. Je sais pas si elle est.
Ah non, mais je suis allé voir dans le Drive. Ok. Ouais, je suis complètement dans ma cuisine. Ouais. Ah, il y a une actu de Naotech Team. Vous connaissez la chaîne Naotech ?
Ouais.
Sur YouTube, sur Twitch, l'actualité de la tech, super boulot.
C'est très bien.
Jérôme et ses potes. TikTok veut faire payer les vidéos et la France sera un bêta test. Payer les vidéos, c'est-à-dire faire payer les vidéos.
Ah, peut-être avoir certaines vidéos qui sont payantes, si tu veux.
Ah ouais ?
On va les voir.
Au bout de 40 fois où tu scrolles par jour, il faut que tu aies un abonnement pour pouvoir continuer à scroll plus.
Ah ouais ? Okay.
Oh non.
Je sais pas, moi j'en vends des trucs. Hein.
Attention, Laure, t'as un poste à aller prendre là.
C'est pas mal, non ?
C'est pas mal. Bah, ils essayent de peut-être financer leur CPM de pub absolument absurde,
mais en fait,
pour lequel on profite bien pour l'instant.
J'allais dire, c'est complètement ça.
Voilà, tu es en séquence sur TikTok, ça y est, je vois mes vidéos.
Mais ça, je crois, c'est mets sur ton mur Facebook, sinon ça va être payant. Hein,
c'est la séquence
pour les plus anciens.
On a commenté la cayenne de 15 ans versus un journaliste qui avait été ressuscité par Laure, et c'est devenu une vidéo sur TikTok.
Parfait.
Voilà. Les amis, vous êtes sur TikTok.
Elle est rigolote.
Iris, merci beaucoup. Voilà, et merci, bonne Iris. Soirée à toi. Bon, bah écoute, Joe, on va poursuivre l'exploration de cette plateforme de laquelle je ne comprends rien. TikTok, déjà, je ne comprends rien à Instagram. Twitter, j'aime bien. Twitter, c'est moite-moite. Parce que ce que j'aime sur Twitter, alors l'aspect, les gens se lynchent et se déchirent gratuitement, c'est... non. L'aspect info m'intéresse.
Ouais, l'aspect info,
pour un journaliste, il y a quand même plein d'émetteurs d'infos. plus ou moins fiables, il faut savoir faire son tri. Mais il y a quand même des émetteurs d'infos sur Twitter, des infos que tu trouves pas forcément ailleurs, des infos que tu trouves souvent avant les médias traditionnels.
Oui, total.
Et, quand tu sais trouver les bonnes sources et les sources fiables, du coup, pour un journaliste, c'est intéressant.
Non, même c'est l'âge d'or de Trump et d'Elon Musk sur Twitter, t'as envie de voir les tweets en premier, quoi.
Mais en fait, c'est ça le gros avantage de Twitter, si on veut parler des bons points, comme t'as dit Samuel, c'est le côté actu. C'est-à-dire que dès qu'il y a une dinguerie qui se passe partout dans le monde, ça va bien sûr aller sur les chaînes d'infos et tout. Hein. Je dis pas que c'est l'apanage de Twitter, mais c'est là-bas où tu vas en voir les premières annonces, les premiers médias qui envoient tout, les premiers tweets passés, les trucs. C'est la première source d'infos quand t'es pas devant justement la télé et que tu peux avoir l'accès assez vite. Alors bien sûr, il y a aussi les articles en ligne et tout ça, mais Twitter, ça permet d'avoir aussi avec les réactions des gens et aussi le développement, parce que du coup t'as des fils, t'as machin, c'est pratique, tu vois.
Et puis il y a de la violence sur Twitter, mais il y a beaucoup d'humour aussi.
Et t'as l'impression de vivre le truc en fait. Genre notamment moi, je suis fan de football. Quelqu'un a mentionné dans le chat Fabrizio Romano. Fabrizio Romano, c'est un journaliste footballistique qui annonce très souvent les transferts en exclusivité. Lui, il le fait via un tweet. Et quand c'est les périodes de mercato très chaudes, etc., machin, et que t'as le tweet de Fabrizio Romano qui dégaine Here we go, machin, un tel a signé pour tel club, c'est la folie. T'as vraiment ce truc d'être dans... Et le temps que le site chope l'info en face d'un article sort, il a déjà 40 minutes de retard, tu vois. Et c'est là où l'impression de vivre l'actu. Moi, je sais pas pour vous, la première. Une des premières, il y a deux actus que j'ai l'impression d'avoir vécu vraiment quand j'étais plus jeune. Vous avez sans doute certaines qui vous ont marqué. Il y a deux actus que j'ai l'impression de les avoir vécues un peu en live, tu vois. Une des premières actus qui m'avait marqué quand j'étais jeune, alors celle-là, je ne l'ai pas vécue en live parce que ça s'était passé tôt le matin, c'était le tsunami de 2004. J'avais 9 ans. Elle, je m'en rappellerai toute ma vie. Et un autre que là, j'ai vécu en live, c'était la mort de Michael Jackson. La mort de Michael Jackson, j'étais scotché devant ma télé avec les infos, le ci, le ça, et cette impression de vivre l'actu, de la vivre, tu vois, d'être là, putain, qu'est-ce qui se passe ? Une heure plus tard, ouais, alors machin, nanana, tu vois. Et bah, Twitter, elle te donne cette impression-là.
En permanence. Oui, ouais, c'est ça qui est assez addictif.
Ouais,
pour le coup, c'est même pas la construction du. C'est juste que partout où tu vas, il se passe quelque chose, quoi. Il y a des infos de partout.
Ouais, je regarde tous les jours Twitter dès le matin, c'est le premier réflexe, c'est de voir les sujets les plus discutés dans le monde, en fait. Là, tu vois les grosses news aussi niveau jeux vidéo, tu vois les annonces des Nintendo Direct, de ci, de ça. En fait, tu les apprends direct sur Twitter. Hein. Et ensuite, tout ce qui est épisode, moi j'adore regarder par exemple Last of Us en ce moment.
Qui ne regarde pas Last of Us en ce moment?
Si vous ne regardez pas, regardez. C'est super.
T'as regardé?
Non, mais j'ai joué au jeu et je l'ai fini.
Ah oui, j'ai vu.
Le 1.
Ah. Ouais, j'étais même raid, t'étais en train de jouer.
T'étais un amour.
Laure,
moi, je suis une énorme fan du jeu. Donc ça m'a d'ailleurs fait relancer le jeu de regarder la série.
Ouais, ça donne envie.
Ouais. Ouais. Mais c'est super de voir les avis des gens à chaque épisode. Et je pense que ça, Twitter a vraiment boosté les plateformes de streaming qui diffusent les épisodes semaine. C'est parce que t'es là en mode, c'est bon, tout le monde veut parler de ça, tout le monde veut donner son avis, tu vois. Bon, parfois beaucoup de merde, mais c'est intéressant de voir comment chaque personne a vécu son épisode. Et je pense que ça booste encore plus la série de le sortir comme ça.
Ouais, complètement.
Ça a été,
mais tu vois, je reviens à ce que disait Zach sur TikTok, qui peut être un truc affreux et un truc formidable si tu trouves les bons contenus. En fait, je pense que chaque réseau social est qu'un outil. Chaque réseau social a ses soucis. Twitter, par exemple, c'est la violence, parfois des clashs et des mots. TikTok, c'est passer des heures à scroller et finalement rien apprendre. Avec un algorithme extrêmement puissant, mais finalement avec un peu de rigueur, je pense qu'un réseau social, si tu l'utilises bien, si tu sais limiter le temps que tu passes dessus aussi, ça peut être un chouette outil.
Oui, totalement d'accord. Voilà. Moi, la seule chose avec Twitter, c'est que j'ai l'impression que du coup, vu que les gens sont très souvent dans leur bulle, dans leur machin, tout ça, il y a un phénomène sociologique archi intéressant à étudier, c'est voir à quel point des gens entre eux se sont à des moments mis dans des matrix, tu vois, avec des façons de penser, des façons de raisonner qui leur sont bien propres et qui pour eux sont la norme, alors que sorti de ça, pas spécialement.
Ça s'appelle des bulles, comment on dit, c'est un nom, les bulles.
C'est un nom, les bulles, quelque chose, mais vraiment, il y a des gens.
Le chat va nous dire.
Tu le sens, il y a des gens vraiment.
Bulles de filtre.
Voilà.
Bulles
de filtre, des gens sur certains sujets, sur certains bails, etc., tu vois, vraiment, ils ont développé une façon de penser bien à eux, comme je viens de te dire, qui pour eux maintenant est la norme, c'est comme ça, donc certaines choses vont être bien ou alors mauvaises pour eux, tu vois, ou classiques.
Et ils sont dans leur bulle.
Et ils sont vraiment dans un bail où pour eux, c'est comme ça, tu vois. Et donc, du coup, la vie contraire, la vie inverse, ou même la vie de tous les jours, tu vois, avec ce que ça inclut, bah, pour eux, ils en sont déconnectés un petit peu. Des fois, moi, sur Twitter, je vois des choses qui font drama, et je dis, mais les gens, si vous vous connectez un tout petit peu à la vie réelle, ça là, soit c'est plus grave que ce que ça nous laisse penser, soit c'est trois fois rien, tu vois. Et des gens, à des moments, vont très très loin sur vraiment des fois pas grand chose. Et quand tu prends un tout petit peu de hauteur par rapport au choc initial d'une info, ou notamment d'une mauvaise chose ou quoi, c'est vrai que tu te rends compte que ça réagit très fort très vite, mais par contre aussi ça le régurgite.
Ben,
aussi,
je sais pas si c'est un bon exemple, mais ici même, Zach, la semaine dernière, on a parlé de la polémique autour du jeu Harry Potter. Ouais. Comment ça s'appelle
Hogwarts Legacy.
Donc, avec la question sur la transidentité, J.K. Rowling. Mm-hmm. Pendant une semaine sur Twitter, on a l'impression que c'était le débat, tu vois. Tout le monde ne parlait que de ça. On en a parlé d'ailleurs. C'était intéressant d'ailleurs parce qu'on avait une journaliste féministe qui avait vachement bossé sur la question de la transidentité. Donc on allait au fond du sujet. Donc je ne regrette pas de l'avoir abordé. Mais aujourd'hui, on est une semaine après, tu vois. Et j'ai l'impression que le débat, ça y est, il est passé. C'est exactement ce que tu décris. C'est un débat qui n'est pas forcément inintéressant d'ailleurs. Hein. La question de la transidentité, c'est hyper intéressant de se pencher là-dessus. Mais à un moment, tu as l'impression qu'il n'y a que ça. On ne parle que de ça. Et une semaine après. Bah, Zach, aujourd'hui, cette polémique, elles sont déjà un petit peu passées. Quoi. Mmh. C'est un petit peu une illustration.
Donc la tempête passe à chaque fois. Hein. Quand t'as un buzz comme ça, un bad buzz, où il y avait même une liste de tous les streamers et youtubeurs qui parlaient ou jouaient le jeu et ça partait en guerre. Alors que enfin, ça divise les gens plus que de les rassembler autour d'une cause. Quoi.
C'est le problème de Twitter, selon moi.
C'est ça, le problème.
C'est que certes, t'as accès à toutes les tendances quand tu, comment dire, quand tu vas regarder les hashtags en vogue, etc. Sauf qu'à la fin de la journée, c'est quand même un réseau social qui te permet de faire toi-même ton propre filtre et de suivre seulement ce que tu as envie de suivre. C'est un truc qu'on a... Pardon. C'est un truc qu'on a remarqué notamment pendant les élections, avec l'opinion globale, ce que les gens pensaient, ce qu'ils allaient voter, et justement ce qui ressortait des réseaux sociaux qui était vraiment très différent des résultats et du suffrage au final. Et le problème de Twitter, c'est que, comme le disait Zach, ça t'isole et ça te conforte dans seulement ce que tu as envie de regarder, ce qui n'est pas forcément le cas de la réalité au final. Et ça fait qu'au lieu de... Au lieu d'avoir un réseau social qui est censé unir les gens pour que les gens partagent, ça met chacun dans une catégorie, chacun dans une case, et ça crée des différences plutôt que ça rassemble. C'est assez dommage.
Et puis sur les réseaux sociaux, s'expriment les plus actifs, les plus militants parfois, qui ne sont pas forcément l'opinion générale. Sur un stream, vous le savez, vous pouvez avoir une tendance qui s'exprime dans le chat de gens très actifs. Si vous faites un sondage auprès des gens qui regardent votre stream sur cette même question, vous n'allez pas avoir le même ressenti. Parce qu'il y a des gens qui sont parfois plus actifs, mais qui ne représentent pas le sentiment général.
Et puis il y a un spectre très très grand.
Twitter, chambre d'écho, géante, carcade. Oui,
exactement.
Je vous lis, hein. Je vous lis. On se rappelle la tête de Twitter à l'annonce du The Event 2022. AEG, très bonne remarque aussi.
Pour finir sur juste un point, parce qu'on parlait de TikTok qui est toxique tout à l'heure, et je pense que sur un certain degré, tous les réseaux sociaux le sont si jamais on ne sait pas s'en servir.
C'est ça.
Moi, pour moi, le plus gros problème aujourd'hui qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est que nous, on a grandissant. Et c'est quelque chose qui a été amené par la suite, de la même façon que j'ai eu une époque où j'avais pas Internet. Et ensuite, Internet est venu par la suite, puis Facebook est venu, et les réseaux sociaux sont venus. Et j'ai pas l'impression que les plus jeunes, enfants, adolescents aujourd'hui sont formés pour les réseaux sociaux et comment justement bien s'en servir. Et on a une énorme catégorie de la population qui aujourd'hui est avec des outils qu'ils ne sont pas capables de maîtriser. Et c'est ça qui va être dommageable à l'avenir, je pense.
Il y a une question, d'éducation, sensibilisation. Est-ce que c'est à l'école de le faire? Est-ce que c'est aux parents? Est-ce que c'est un petit peu les deux? Je pense un enfant aujourd'hui, il est co-éduqué. Il doit l'être à la fois par l'école et les parents. Et je pense que c'est de la responsabilité de l'école et des parents, sans doute, de former l'utilisation de ces outils. On s'en serve bien, quoi.
On avait des cours d'éducation civique, on avait des cours de technologie où on apprenait à servir de Word et apprendre à taper sur un PC. Pour moi, c'est des outils qui sont tellement essentiels à la société aujourd'hui que ça doit en faire partie, quoi. Mais oui, bien sûr. Pour moi, c'est essentiel.
Et Akinos dit la culture informatique, très important. Mais t'as raison, je pense qu'à l'école aujourd'hui, il y a des choses dans certaines écoles, mais c'est que le début, quoi. Et il y a des choses à mettre en place là-dessus. Mais parfois, la technologie va tellement vite que le temps que la société comprennent les problèmes qui se posent et proposent un encadrement, un accompagnement, une sensibilisation, une éducation, le temps que ça se mette en place, c'est normal qu'il y ait un décalage de quelques mois et surtout même de quelques années. Quoi.
Bien sûr.
Que ces problèmes, on est en train de les découvrir. Tu vois, TikTok, c'est quand même, la création de TikTok, c'est quand même super récent. Les défis vertigineux de l'intelligence artificielle, on est en train de se rendre compte de tous ces défis. Le temps de mettre en place l'accompagnement, la formation des gens là-dessus, ça prend du temps, quoi.
Les gens, ça a été déjà dépassé par le jeu vidéo.
C'est clair.
Il y avait beaucoup de parents qui, en fait, achetaient n'importe quoi pour leur gamin en disant parce que le gamin voulait ça. Et puis, en fait, ils ne surveillaient pas le contenu du jeu. Ils ne savaient pas si ça allait avec sa sensibilité, si ça convenait, en fait, à l'enfant. Et ils n'accompagnaient pas. Et j'ai l'impression que les réseaux sociaux, le smartphone, ça sert de babysitter pour beaucoup de parents.
La tablette.
Bon, allez, vas-y, tiens, la tablette, le téléphone, t'arrêtes de pleurer. Et le gamin arrête de pleurer. Vraiment. Parce qu'il est fasciné par ça et tout. Et c'est pas une bonne éducation à avoir, je trouve. Et je le dis parce que je le vois dans mon quotidien. Je vois beaucoup de parents le faire et, ouais. et c'est pas quelque chose qui.
Tu vois, il y a Goji BZH qui dit, et ça me fait flipper, je pense qu'il a raison. Parce que c'est vrai qu'il y a une accélération du temps technologique, tu vois. Quand on prend l'histoire des réseaux sociaux, tu vois, Facebook, Twitter, Insta, TikTok, demain, dans quelques mois, sans doute clairement autre chose, tu vois.
Ouais.
Y a Goji qui dit, le temps de mettre en place une solution, un encadrement. Trois nouveaux réseaux sortiront. Mais c'est vrai que, parce que comme à chaque fois, c'est des algorithmes différents, des tentations différentes,
des dangers différents.
Des dangers différents. Ouais. Après, je pense que globalement, comme on est en train de comprendre quel danger tout ça représente, il y a peut-être un corpus général, global, de sensibilisation à toutes ces questions qui va se mettre en place au sein de l'école ou de la famille pour un peu nous alerter.
Ouais, mais c'est là où la famille, c'est aussi difficile, tu vois. Les parents, ouais. Alors nous on va peut-être être une génération, une partie en tout cas qui sera plus sensible à ça parce qu'on l'aura vécu beaucoup plus que nos propres parents, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant et qui ont été réfractaires à reconnaître le mauvais de certaines choses dans les réseaux, tout ça, parce que leurs parents étaient très restrictifs eux-mêmes sur le jeu vidéo, sur ces trucs, souvent en disant justement des poncifs, tu vois. Ouais. Du coup, ça les rendait allergiques à entendre au fait qu'il pouvait y avoir des vrais dangers, même si ce que papa maman te disait, c'était pas vrai, tu vois.
Mais en vrai, c'est chaud pour les parents de rester à la page dans cette accélération de tout ça, quoi. Tu vois.
Moi, j'ai une question. Tes enfants, ils ont un écran, ils regardent un petit peu ou pas du tout? Toi, tu les éduques comment à cet égard?
Je vais être honnête, hein, c'est des questions qu'on se pose au quotidien. On n'est pas parfait. C'est-à-dire que les médecins qu'on rencontre et les spécialistes de l'éducation, ils disent par exemple pas d'écran avant 3 ans. Ben, nous, on a essayé. Mais le problème, c'est que et c'est nous qui sommes fautifs. Papa, maman, on a notre téléphone toute la journée avec nous. Tu vois, moi, je suis sur Twitter, sur mes mails tout le temps, je bosse un peu non-stop. Mon iPad est toujours avec moi parce que je lis les journaux dessus. Voilà. Donc, d'un côté, on dit aux enfants qu'il ne faut pas regarder la tablette, le téléphone. On leur dit, c'est pas bon pour ta vue, c'est pas bon pour ton cerveau, etc. Et on leur montre l'exemple inverse. Donc, l'enfant, il ne peut pas entendre ce message, quoi. Donc, il y a ce dont on a conscience, qu'effectivement, les écrans, c'est pas bon chez les trop petits. Et surtout trop longtemps. Et après, il y a notre comportement individuel. Donc là, moi, je réfléchis beaucoup à ça. Et de plus en plus, avec Hélène, on se dit, bon, bah, à table, déjà, on sort le téléphone, on l'enlève, tu vois. Le soir, quand. Moi, j'aime bien passer du temps avec les enfants le soir parce que.
C'est plus calme.
Voilà, et puis dans la journée, je ne suis pas là. Et à un moment, j'allais dans leur lit tous les deux avec ma tablette pour lire Le Monde, tu vois. Mais je me dis, mais non, mais quel exemple tu leur montres? Donc c'est
difficile.
Tu vois, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que. Je pense que dans le monde dans lequel on est, même auprès des petits, leur interdire complètement les écrans, je pense que c'est pas une bonne solution. Parce que de toute façon, les écrans sont là. C'est les outils de découverte, de connaissance, de curiosité, de connaissance. Ça peut être des bons outils. Donc c'est débile de leur dire que c'est mal. C'est pas vrai, en fait. C'est l'excès, c'est l'abus, c'est trop de temps. Mmh. Et donc, par exemple, bah, nous, chez nous, il y a, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est des petites règles. Par exemple, Malo, influencé par l'ami Joe et par son tonton Hugo, à un moment, il a débarqué, il avait 5 ans, il a dit, je veux une Switch.
Ok.
Tu vois, 5 ans.
Oh, la tête que t'as dû tirer.
Et ouais, j'ai dit, quoi, une console de jeux vidéo à 5 ans, mais donc, avec sa mère, on s'est regardé, il m'a dit, ben, non, quoi. Et on lui a dit, oui, quand tu auras 12 ans, tu auras une console. Donc, il a pleuré, donc on a dit, ok, 10 ans, il a continué à pleurer, on a dit, ok, 8 ans, il a continué à pleurer.
Dans deux semaines.
Ok, on va l'acheter demain. Et par contre, donc on a acheté la Switch. Mais on a encadré. Et sur Malo, ouais, il a le droit de jouer aux jeux vidéo le vendredi soir et avec papa et maman. Voilà. Alors, plus avec papa parce que maintenant je stream, mais souvent, là, il est parti chez sa grand-mère. Mais Malo, le vendredi soir, il est avec sa maman et ils font des petites parties de Mario Kart ou autre.
C'est trop mignon.
Tous les deux. Donc, c'est un moment familial et c'est un moment d'échange, quoi. Mmh. D'ailleurs, parfois, comme c'est assez encadré finalement et qu'il ne joue pas le reste de la semaine, il n'est pas tellement en demande. Et parfois même, il préfère autre chose et regarde Twitch. Et regarde des streams de gars qui ouvrent des cartes Pokémon.
Le kiff.
Et il sub. Et il sub.
Ah. Oh là là, avec la carte bleue de papa.
Avec la CV
du daron.
C'est génial. Il s'appelle Malo, fan de Pokémon, je crois. C'est son, c'est son compte. Et il sub.
Adorable.
Voilà. C'est mignon.
Et donc, en fait, on lui interdit pas les écrans, mais on encadre, quoi. Et le petit, c'est pareil. Ben, on s'est rendu compte sur Netflix et autres qu'il y avait des dessins animés plutôt pédagogiques, un peu ambiance science et tout, découverte des fonds marins, donc des dessins animés un peu intelligents. Ben, on se dit qu'un petit peu de temps en temps, voilà, Ça pouvait être cool, quoi.
Tu, tu glisses un petit Les Zinzins de l'espace au milieu, quand même, histoire de kiffer un peu.
Je connais pas ça.
Les Zinzins de l'espace.
Incroyable. C'est incroyable.
Samuel.
Samuel. C'est bien ça, c'est bien ça.
C'est une masterclass.
Ouais, ouais, bah, c'est ambiance fond marin. Non, c'est l'espace, bah oui. Bah, ouais. Du coup,
nous, c'est l'espace.
Ouais, Jupiter.
Nous, c'est les octonautes. Un truc dans la mer. Donc, octonautes, vous connaissez?
Ouais, ça a l'air trop bien.
Bah, c'est pas tes Zinzins de l'espace, mais dans l'eau, quoi. Mais donc, voilà, je pense qu'il faut. Oh, il y a Marie Palot qui est là.
Coucou Marie.
Donc en fait oui, je pense qu'on, tu vois, il faut accompagner, faire avec, je pense, être avec eux et pas, par contre, pas laisser seul un enfant devant un écran, c'est sûr.
Non, ouais, c'est vraiment ça, l'accompagnement, ouais, l'encadrement, ouais. Et pas leur donner en mode voilà comme ça, je suis tranquille. Ça c'est vraiment pire truc.
Bah, Malo, que je vois beaucoup trop régulièrement avec moi maintenant.
Revient à, pour moi, ce que tu disais au début quand tu décrivais encore une fois chez RTL ton expérience du jeu vidéo et le fait que ça t'a ouvert aux gens et ça t'a ouvert à la culture. Je pense qu'en fonction de ce que tu donnes et de la façon dont tu présentes, que ce soit une tablette ou un jeu vidéo à un enfant, ça peut soit devenir une expérience qui est hyper solitaire ou quelque chose qui partage. Et dans votre cas ou dans le cas de...
Ouais, complètement partagé dans mon cas.
Je pense que c'est là où c'est positif, justement, en tout cas.
J'essaie de retrouver mon sondage sur l'ordre des thèmes. Je crois que vous aviez placé la récession de l'amitié en 3. C'est drôle parce que ça renvoie aussi un petit peu la question des réseaux sociaux. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, on a évoqué 4 thèmes d'actu sur lesquels on pouvait évoquer. E-sport, état des lieux, on en a parlé assez longuement ensemble. On vient de parler de TikTok, toxique point d'interrogation avec l'interrogation de certains états, certaines nations par rapport à TikTok, et ça nous a permis de parler des réseaux sociaux. Et puis il y a un thème dans l'actu de cette semaine, la récession de l'amitié. Alors, il faut que je réexplique parce que c'est, tout le monde n'a peut-être pas vu ce dossier dans la presse cette semaine. Ça vient en fait de chercheurs en sciences sociales aux États-Unis qui se demandent si l'amitié n'est pas en train de se déliter, les liens d'amitié, s'il n'y a pas une récession de l'amitié avec des amis qu'on verrait de moins en moins, notamment physiquement. Il y a les réseaux sociaux, voilà. Il y a une plus grande mobilité aussi des jeunes pour les études, pour le travail. On change plus facilement de ville, on change plus souvent de pays aussi. Voilà. Je pense que vous avez plein de potes que vous connaissez, qui sont peut-être partis...
Déjà, pour ça.
J'en ai une à ma droite, ouais.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On se perd plus de vue. Alors d'un côté, on a plus de relations qu'avant, notamment par les réseaux sociaux, avec plus de gens. Et en même temps, on verrait, conditionnel, parce que reste à voir si c'est vrai, moins ses vrais amis, ses vieux amis, moins souvent, moins longtemps. Et donc les valeurs de l'amitié dans notre société là, moderne, 2023, aurait tendance à se déliter un petit peu. Qu'est-ce que vous vivez, vous, par rapport à ça?
J'ai une piste là-dessus, ok, alors ça va être compliqué, donc je vais essayer de structurer ma pensée. D'expérience, j'ai pas l'impression de le ressentir, et j'ai l'impression que justement, quand on a traversé des crises sanitaires comme le Covid, ce genre de choses, et qu'on a été contraints d'avoir des rapports différents avec nos proches, famille, amis, etc., pour moi, le lien social a été peut-être... Alors, ça a dû être difficile pour beaucoup de personnes, mais j'ai l'impression qu'à nos âges, ça a plutôt été renforcé par des plateformes qu'on peut utiliser. Le fait que on est hyper présent sur les réseaux sociaux avec nos portables, Discord notamment, qui a pas mal aidé, et le fait qu'on se réunissait de plus en plus avec nos amis.
Donc ça, moi, c'est l'inverse, les outils ont plutôt aidé à garder
les
liens.
Et ça a renforcé le lien de ce côté-là. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce que tu présentes, c'est que tu cites une étude américaine. Ouais. Et je ne sais pas si c'est une américaine qui a été conduite sur les comportements sociaux au sein des États-Unis ou dans le monde, mais j'aimerais bien le savoir parce que pour le coup, socialement et culturellement...
Là, c'est plutôt sur les Américains.
Ok. Ouais. Alors, les Américains, socialement, n'interagissent... Les interactions sociales sont très différentes de ce qu'on peut connaître en Europe.
Bah déjà par leur ville.
Par leur ville, ouais, exactement, par leur ville, par le fait que la mobilité n'est pas du tout vue de la même façon, parce que les villes ne sont pas du tout de la même taille, que justement, tu as aussi ce côté bouger une fois que tu as fini le lycée, c'est hyper fréquent, tu vas aller faire la fac ailleurs, tu vas aller faire ta carrière ailleurs. Et en ce sens, même les interactions sociales basiques que tu peux avoir entre Américains ou avec des Américains, j'ai pas envie de dire que c'est superficiel parce que c'est une connotation qui est péjorative et vraiment qui est pas gentille, mais les gens vont avoir des relations qui sont peut-être un peu plus en surface et c'est beaucoup plus compliqué de tisser des liens en profondeur avec les personnes.
Okay.
Donc j'imagine que quand tu regardes ça, plus la façon dont les Américains évoluent et l'utilisation des réseaux sociaux, je comprends que ça ait pu, contrairement à l'Europe, à créer un gouffre.
Toi, t'as pas le sentiment que dans un pays comme la France, il y ait cet affaiblissement des liens amicaux entre les gens. C'est pas ton...
J'ai du mal à me sortir de mon spectre, okay, honnêtement, et de ce que je vis de ce côté-là, donc c'est très difficile de donner un avis. Mais par rapport
pareil,
à ce que
j'ai, j'ai des amis, mais j'ai pas le sentiment de vivre ça.
Non.
Ouais.
Et malgré vos, le fait que vous soyez tous des passionnés, très engagés dans votre boulot, est-ce que ça affaiblit pas non plus le temps que vous pouvez passer avec des vrais amis?
Non, pas du tout. Je trouve toujours le temps d'aller voir mes amis, je trouve toujours le temps de faire des choses, je trouve toujours le temps d'être avec ma femme et tout. C'est un équilibre à tenir, tu vois. Après, on reste des êtres humains. Il y a des êtres humains qui sont plus sociaux que sociables que d'autres. Il y en a d'autres qui ont plus de facilité à sortir, d'autres qui sont plus de facilité à être tranquilles dans leur coin ou chez eux. Voilà, casaniers, etc. Ouais.
Mais il y a Man qui dit que, grâce à tous les outils dont on dispose, la relation, même avec ses propres potes, elle peut être plus virtuelle. Réseaux sociaux, Discord.
Ouais,
mais est-ce qu'elle est moins profonde pour autant?
Ouais,
c'est une bonne question.
Et aussi parce que le virtuel, il remplacera quand même jamais le réel. Hein. Se voir, sortir un coup, se balader, vivre quelque chose de fort physique, ça sera jamais remplacé pour moi par Discord et une duo cul sur LOL. Hein.
Joe,
je dis pas que ça va être le cas, mais.
Tu fais toujours tes streams apéro. Joe, à un moment, il faisait des. Alors Lou, il a pas son micro, mais Joe depuis quelques temps il a lancé des streams. Il va boire des coups en fait.
Ouais.
Il part avec des potes.
Il est formidable.
En terrasse à Paris.
Bien quand.
Mets moi la caméra Joe là, parce que on t'entend pas mais j'aimerais bien te voir. Joe il a lancé ça. Il invite des potes. Là il y a Mimi Hegel qui était avec nous la semaine dernière, la journaliste qui avait bossé Mademoiselle là, avec qui on a beaucoup parlé justement de transidentité. Vous allez prendre un petit apéro.
Ouais. Donc ça, mais vous allez prendre un apéro en vrai ou sur Discord?
Non.
Ah ouais. En gros, ce que je fais,
ils vont en terrasse.
Ils m'entendent, je crois. Mais en gros, ce que je fais, c'est que vers 19h, on se met en terrasse. On se met globalement une limite de 3 verres max.
Il y a une limite de verres. 3
verres. Non, mais c'est important.
3 verres max.
Parce que ça, tu gardes un peu le contrôle et machin. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment de se faire une discussion en bâton rompu, mais en se baladant. Tu vois. Et on fait bar en bar.
Faut que j'aille voir ça. Faut que j'aille voir. Bon, là, c'est clairement la technologie qui est pas qui délite pas l'amitié, plutôt qui renforce, puisque là, c'est IRL, quoi. Kayane, toi, bon, t'es très occupé aussi.
Ouais.
Voilà. Est-ce que, ces dernières années, est-ce que t'as réussi à garder des liens d'amitié forts avec de vieux amis? Ou est-ce qu'au contraire, t'as l'impression d'une multiplication de relations, mais plus faible?
Les questions d'amitié, c'est très délicat avec moi. Parce que j'ai, comme je vous l'avais dit au début du stream, j'ai grandi dès mes 9 ans en compétition,
ouais.
Dans des tournois avec 99% de joueurs masculins qui ont deux fois, trois fois mon âge. Et du coup, les week-ends, en fait, j'ai 9 ans, je joue avec des grands qui ont 20 ans, 30 ans. Et du coup, je me liais d'amitié avec eux, c'était comme des frères.
Ouais.
Et en fait, en grandissant, leur regard a changé envers moi. Et une fois passé ado, ils pouvaient me sexualiser. Okay. Du coup, c'était hyper compliqué parce que pour moi, ça reste des grands frères, mais ça commence à complètement changer de relation et j'ai eu mes premiers dramas à 14 piges. Quoi.
Okay.
Donc, t'es là en disant, mais je comprends pas comment je suis passée de la petite sœur de tout le monde à celle que tout le monde veut fracasser sur des forums parce que j'ai mis un râteau auprès de gens que je considérais comme des frères.
Ouais.
Et c'est même pas l'anonymat ou quoi sur les forums, c'était vraiment des gens que je connaissais, que je considérais vraiment comme des proches et qui me descendaient sur la place publique.
Ça devait être dur à vivre, ça.
Ah, c'était hyper dur, je pleurais tous les soirs.
Ouais, ouais.
Mais à mes 14-15 ans, mes parents me demandaient à mes frères, mais pourquoi Marie-Laure, elle pleure comme ça tous les soirs? Faut arrêter d'aller en tournoi, faut arrêter les forums. J'ai vraiment très très mal vécu cette période-là. Et maintenant, en fait, il a fallu attendre plus de 15 ans pour avoir des excuses. Ces gens-là, maintenant, ils ont quasiment 40 ans.
Ouais.
Ils ont réalisé, il y a 5 ans, le mal qu'ils ont fait. Ils se sont excusés. Je suis en mode, c'est du passé. Mais du coup, toute ma période d'amitié à ce moment-là, elle était hyper délicate parce que je me questionnais tout le temps sur qui sont mes vrais amis, du coup. Vu que tous ceux en qui je croyais m'ont un peu défoncé.
Et ces dernières années, est-ce que tu as noué de nouvelles relations d'amitié avec...
Oui, maintenant, j'ai... En fait, c'est ça qui prend du temps, c'est de savoir qui sont ses vrais amis. Et je pense que j'ai gardé aucun contact avec les gens du collège, du lycée. J'ai gardé des contacts, mais avec des gens, par exemple, que j'ai connus dans un MMORPG qui s'appelle Ragnarok Online.
Ouais.
J'en ai gardé
ça
un.
Ça serait
bien. On aime bien ce petit RPG.
Mais voilà, et c'est le genre d'amis, finalement, qui...
Tu reçois plein de cœurs dans le chat pour toi.
Ils sont adorables.
Des milliers.
C'est,
C'est mignon, mais j'ai vraiment vécu ouais, cette période où, en fait, c'est facile d'avoir un bouc émissaire et tout le monde va critiquer. Et comme j'étais la seule fille dans cette communauté-là, j'étais la plus médiatisée.
Ouais, bien sûr.
Et ça fait qu'il y a eu beaucoup de jalousie envers moi. Et parfois, quand je m'exprimais auprès des médias, ce n'était pas de la meilleure façon, hein, parce que je n'étais pas formée pour. J'avais 15 ans. Mais les gars disaient, bah, pourquoi c'est elle qui est interviewée et pas nous Et même quand je parlais d'eux, souvent, c'était coupé dans les montages de la vidéo finale. Et les gens disaient, mais en plus, elle ne parle même pas de nous, alors que je parlais d'eux, c'est juste coupé. Mais quand tu dis
merci
ça...
Et quand bien même tu ne parlerais pas d'eux, c'est ton moment, en fait. Il n'y a pas à avoir de jalousie parce que tu es médiatisé plus que des personnes à côté de qui tu évolues. Je sais pas.
Mais moi, comme je voulais bien faire les choses, j'en parlais quand même.
Oui, bien sûr.
Du coup, de voir que les gens me flinguaient pour ça, alors que j'avais bien fait les choses, ça me faisait beaucoup de mal. Donc, ouais, la période d'amitié était délicate dans cette période-là. Et après, quand j'ai voyagé pour mes premiers tournois, c'est là que j'ai pu me faire de vrais amis, finalement. Et après, j'étais en déprime totale en rentrant en France parce que je me suis dit, bah, mes vrais amis, finalement, c'est ceux que je vois à l'étranger. C'est des Américains, des Japonais que je rencontrais dans des tournois étrangers. Et en fait, j'avais un peu le blues de rentrer en France. Et après, par hasard, je suis tombée sur un article auquel je pense encore aujourd'hui. Mais c'est un article qui parle du fil rouge du destin. Alors souvent, on parle de ça parce que c'est une légende japonaise et chinoise qui explique comment les gens sont destinés à se rencontrer. Donc c'est un truc un peu amoureux. Mais ça existe aussi pour les amis et pour les rencontres qu'on a comme ça en l'espace de 5 minutes. Quelqu'un que tu aides dans la rue, tu as changé sa journée, etc. En fait, on va expliquer que chaque personne que tu rencontres, même si tu n'es pas à côté tout le temps, en fait, il t'apporte quelque chose, positif ou pas. Mais au moins, il faut garder cette expérience-là avec toi. Et je me suis dit que du coup, j'allais vivre comme ça. Donc si je ne vois pas mes amis qui vivent aux États-Unis tous les jours, ce n'est pas grave parce que je garde les meilleurs souvenirs, les meilleurs moments.
Et du coup,
ils ont changé quelque chose en moi et c'est ça que je vais garder.
Et avec ces amis que tu as rencontrés, tu t'es fait à l'étranger et qui t'ont fait du bien, tu restes en contact avec eux quand tu es en France par divers moyens ou...
Ouais, par WhatsApp. Ouais, voilà. Je vois les stories sur Instagram. Du coup, ça me permet de garder une certaine proximité avec eux.
Ouais, un lien.
En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est que ces outils sont plutôt des outils qui permettent de maintenir les liens de l'amitié plutôt que les détendre.
Bah moi, je trouve, je sais pas, quand je regarde le groupe d'amis que j'ai aujourd'hui, la plupart, on habite en Europe, mais moi, j'habite pas en France. Eux habitent tous en France, mais dans divers coins. On en a un qui habite aux États-Unis. Là, je vais partir en Corée. Oui, effectivement, on a un groupe où on se retrouve tous sur WhatsApp, en vocal sur Discord ou autre. Mais il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, je trouve, qui ont eu plutôt tendance à nous rapprocher, alors qu'on se voyait moins, même quand on était dans la même ville. Quoi. Donc, c'est...
Le pauvre Zach, parce que vous abreuvez Zach de résultats
oui,
sportifs.
Je ne veux pas déranger la discussion.
Ah, mais ça a l'air de bien se passer, non ?
Il y a eu
non,
non, je ne vous dérange pas avec ça.
Non, non, mais quoi.
C'est futile.
Non, j'ai cru comprendre qu'il y avait 1-0 pour l'OL, puis 1 partout, c'est ça ?
2-1 pour Auxerre.
Et maintenant, il y a 2-1 pour Auxerre, c'est ça ?
Oui.
On n'en parle pas.
Les liens de l'amitié, du coup, je disais, c'est ça, c'est réel.
Mon pauvre.
Oh là là.
C'est ton club de cœur. Ouais, mais t'as vécu très longtemps à Lyon.
Ah bah, je suis né là-bas.
T'es né là.
Ouais, je suis pur lyonnais.
Et les liens d'amitié avec Lyon alors. Du coup.
Ouais. Alors moi j'ai des bons liens d'amitié avec Laure ici présente.
Tiens, mais d'ailleurs toi t'es un peu un déraciné parce que là t'es en région parisienne depuis peu, Zach.
Ouais, total.
Et du coup ça, tous tes potes lyonnais, ça te manque pas trop comment tu
Non, alors je reviens une fois par mois donc ça c'est ouais, pas mais une fois un problème. Par mois, ouais, c'est vrai que c'est pas ouf non plus, mais après
tu dois avoir des potes très très proches.
Mais après je sais pas si c'est parce que j'ai vieilli, mais je les voyais de moins en moins souvent.
Parce qu'on est clairement dans l'illustration où effectivement. On bouge plus qu'avant. Et là, toi, par exemple, après X années à Lyon, tu débarques à Paris.
Ouais, exactement. Parce que l'année dernière, j'ai fait 30 000 km en train pour réussir à continuer à vivre à Lyon et produire, ce qui n'était pas facile. Donc là, de faciliter à vie. Mais pour être tout à fait honnête avec toi, déjà, en habitant encore à Lyon, là, dans les derniers mois, et de toute façon, depuis peut-être un an, deux ans, je vois moins mes potes. Mais pas parce que c'est contre eux. Parce que quand on se voit, on passe toujours des bons moments. C'est juste que je sais pas si c'est la trajectoire de vie, le bail.
Ouais.
Mais avant, par exemple, quand un week-end approchait, j'étais incapable de pas bouger, tu vois, de pas faire un truc, oui. De pas aller voir, de pas faire des bails, de ci, de ça. Maintenant, je peux vraiment ne rien foutre un week-end sans avoir aucun souci. Alors qu'avant, j'avais la bougeotte de ouf. Mais maintenant, franchement, absolument pas. Après, si, je peux toujours avoir l'envie un week-end de sortir, passer les voir, de ci, de ça, mais franchement, à cet égard, j'ai évolué. Alors, je sais pas si c'est une sagesse ou n'importe quoi, ou je sais pas, le fait d'avoir vieilli, peut-être, hein, je pense aussi.
Un peu.
Ah, bah, j'ai plus 21 ans, tu vois, maintenant j'arrive 27, et ça reste jeune, mais voilà, tu vois, je pense que ça a aussi eu une certaine influence, tu vois.
J'ai cru que t'allais dire que t'as passé la trentaine, et du
non,
coup.
Non, ça va
Je me sens vieille d'un coup
Arrêtez de citer des nombres comme ça.
Non, on ne parlait,
on parlait
pas d'âge ici.
Non, mais
une des personnes de cette pièce qui ne veut pas qu'on parle d'âge.
Non, mais sincèrement, je pense qu'à cet égard, j'ai un petit peu évolué. Après aussi, c'est parce que maintenant, je vis avec ma femme et tout, tu vois, c'est pas... Ça a changé. Ouais. Ça a changé. Mais ouais, c'est vrai que je suis un peu moins sociable et tout, mais il n'y a pas vraiment de souci avec ça. Et pour moi, je ne sais pas ce qu'elle dit exactement, enfin, ce qu'elle dit exactement l'article sur lequel tu t'es appuyé. Ce serait intéressant de regarder les détails pour voir pourquoi
ils arrivent à cette conclusion. Je suis content d'avoir parlé avec vous parce qu'en fait, j'étais sceptique par rapport à ce constat qu'aujourd'hui, dans la société moderne, les liens d'amitié se délitraient.
Ouais.
Et en fait, à vous entendre, j'ai l'impression que ça me confirme mon sentiment que peut-être qu'aux États-Unis ça a du sens aujourd'hui.
Ouais, je sais pas.
Mais je suis pas sûr.
Ça.
Tiens, vous savez quoi, on va faire un petit sondage. Je vais vous poser cette question.
Le chat, qu'en pensez-vous?
Ouais. Bah oui. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que dit cette étude en fait? Qu'il y a une récession de l'amitié carrément. Quoi. Que l'amitié c'est un truc qui est.
Mais comment elle le justifie?
C'est fini.
Comment elle le justifie cette étude?
Bah, je sais pas.
Quels sont les arguments apportés qui disent que pour eux il y a une récession?
Bah, c'est les chercheurs qui bossent là-dessus, tu vois, et estiment, alors ils quantifient le fait que on a moins d'amis et qu'avec ses amis, je pense qu'ils parlent aux États-Unis, on a aussi moins de relations. Moins de relations, ça veut dire qu'ils vont moins se voir, moins s'appeler. Voilà, c'est un petit peu chiffré. Mais je suis pas sûr que ça nous concerne.
Je pense que c'est plus lié à eux, ouais.
Ouais.
Mais
y a-t-il? Je vais vous poser la question.
Après, c'est vrai qu'en grandissant, enfin plus tu grandis, moi j'ai plein de potes qui commencent à avoir des enfants ou à aller vivre ailleurs. Et moi je travaille le week-end, font un 9 à 6 classique et avec leur week-end où ils veulent plus leurs enfants forcément. Donc je sais pas. Je pense que c'est inévitable de toute façon moins voir ses amis. Puis même, tu le disais, t'arrives le week-end. Soit tu vas passer une soirée en boîte à sortir, soit tu te dis j'ai envie de me reposer. Là, faire ma solo queue.
Les week-ends que tu as pour te reposer, tu les comptes
non, mais
sur les doigts d'humain.
Avec Yann, écoute, hier à la sortie des FL Days, on était avec Laure, comme ça, posé. Il y avait un bar, tout ça, machin. Moi, j'étais avec mon Perrier tranche. Laure était avec son petit verre. On était sur la côté, on a parlé, puis après, on a fait. Bon, c'est l'heure de rentrer. Ouais, c'est l'heure de rentrer à 1h du matin. On est rentré parmi les premiers comme des vieillards. Et là, quand on est arrivé, on a dormi.
Il y a le sondage qui est lancé. Je ne le commande pas pour l'instant, mais il est en train de me surprendre. Alors, ça, c'est.
Alors,
ouais. Alors, je le laisse pas un petit peu passer parce qu'il y a deux minutes. Et en fait, je m'attendais à plutôt la confirmation
mais dans quel
sens, tiens. Bah, regarde, y a-t-il une récession de l'amitié? J'ai mis beaucoup, un peu, non, je ne sais pas. Alors, non, 30%. Mais il y a 45% des gens qui disent un peu. Je trouve ça surprenant.
Ouais.
Et il y a quand même 16% qui disent beaucoup. Donc, ce truc-là, il y a peut-être un truc quand même.
Ouais. Franchement, il y a aussi un truc je commence à m'en rendre compte. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, pendant très longtemps, j'étais capable, quand moi j'étais encore étudiant, il n'y a pas si longtemps, de pouvoir parler en termes jeunes, les jeunes, tout ça, machin. Je me rends compte que maintenant, ça va commencer à faire un paquet d'années que je suis moins concerné par les délires des jeunes qui ont 18, 20, 21 ans,
ça,
tu vois. Et bien sûr, je m'en plains pas, attention. Ce que je veux dire, c'est que du coup, on rate des choses. On rate des choses.
T'as aussi cet effet FOMO un peu de genre, c'est pas parce que tu vas rater 2-3 tendances de la semaine que t'es complètement genre.
Ah, bah bien sûr, il y a aucun souci.
Asbin, pour dire si
non,
t'es un mec.
Attention, je parlais pas du tout du fait d'être Asbin, je parlais pas de ça. Je parlais
okay,
pas de
d'accord.
Ça. Je parlais de certaines réalités.
D'accord, ok.
Que ces gens de 18, 19, 20, 21, 22 peuvent vivre et que nous, maintenant, avec notre expérience passée, bah, n'est peut-être plus capable de comprendre juste grâce à cette expérience passée.
Ouais.
Parce que maintenant, les choses sont différentes.
Il y a Damon Ripley pour expliquer un petit peu le sondage qui me surprend un peu, qui dit c'est un peu dans le sens, tu vas avoir aujourd'hui beaucoup d'infos grâce aux réseaux sociaux et autres, via les réseaux, les messages, donc tu vas peut-être moins voir les gens, moins faire des choses en vrai. C'est peut-être ce sentiment qui se dégage dans ce sondage, en fait.
Alors après, ça dépend quelle est ta vision de l'amitié. Est-ce que ta vision de l'amitié est définie par le fait de voir les gens au quotidien, de les avoir en face de toi, de les toucher entre guillemets si t'en as envie, mais ou alors de leur parler, de maintenir des liens que tu peux avoir. Je sais pas. Pour moi, il y a des personnes dont je suis proche, j'ai pas l'impression d'être moins proche d'eux parce que je les vois pas au quotidien.
Ouais, je suis d'accord.
Tu vois, il y a Farouche qui va dans cette idée. On est dans une époque où les gens passent de plus en plus de temps dans le virtuel, loisir, passent moins de temps dans l'espace physique avec leurs amis. C'est peut-être ce sentiment qui s'exprime dans le chat.
Ouais, je pense que Laure, comme tu vis une vie très active et tout...
Ouais, je suis d'accord, je suis un cas
en fait,
part,
je pense qu'il y a des amis qui attendent plus de toi, de moi, de nous qui vivons une vie un peu partout aux quatre coins de la Terre. qui sommes occupés avec une multitude d'événements. Et moi, je me vois, à chaque fois, je me dis que j'ai une très mauvaise amie parce qu'il y a plein de moments où je me book une soirée entre amis. Et puis, en fait, là, on me dit qu'il y a une bêta de Street Fighter 6. Et là, je dis bon, alors, je suis désolée, mais il faut que je joue à Street Fighter 6.
C'est la passion, là.
Tu vois, ouais. Mais en fait, comme on est dans un milieu de jeux vidéo, de l'e-sport, qui chaque jour, il y a quelque chose. En fait, à chaque fois, tu peux devoir annuler une rencontre avec des amis. Et c'est pas tous les amis aussi qui peuvent comprendre ça. Donc, t'en as qui
sont... Et parfois, tu fais l'arbitrage inverse. Parfois, ça t'arrive d'être super tenté par un événement e-sport très important pour toi. Et tu dis non, non, là, je fais un petit break et je vais faire autre chose. Famille, amis. Ou...
J'ai annulé pendant 3 ans d'affilée mes vacances, ouais, à Porto Rico. Parce qu'il y avait du boulot.
Pendant les premières années où je bossais, et ça vient aussi avec le fait d'être freelance, de te dire, ah, mais si j'ai ce truc, parce qu'en plus, les mariages sont le week-end, les événements e-sport sont le week-end, tu dois avoir le même effet. Ouais, j'ai raté pas mal d'anniversaires de cousins, de cousines et tout, parce que je me disais, il faut que je bosse. Et c'est vraiment quand je suis venue très proche de faire un burn-out que... pour moi, c'est horrible. Hein. J'adore ma meilleure amie, mais pour moi, ça a été une décision difficile de me dire je vais au mariage de ma meilleure amie pour rater des jours de championnat du monde de LOL. Ça a été un arbitrage qui a été hyper dur.
Que tu adores ce que tu fais.
Ouais, mais c'est hyper toxique aussi comme relation, parce que tout gravite autour de ton boulot. Et c'est là, justement, que tu commences à prendre de la distance avec les gens.
Exact, ce côté accro au taf ou à certains aspects de ton taf qui fait que si tu as à choisir entre un moment ami, même fort, on parle d'un mariage de meilleur ami par exemple, hein, et un truc de taf, tu vas tenter de faire plutôt le taf.
Alors j'ai moins ce souci là que l'or, parce que moi j'ai pas vraiment d'employeur. C'est moi qui plus ou moins décide ce que j'ai à faire, et c'est rare du coup que j'ai un événement qui se pose à côté d'un truc vraiment important. Parce que les quelques trucs plus importants, ça peut être une invitation quelque part, comme par exemple à Popcorn ou quoi, mais c'est rare que ça vienne se chevaucher sur quelque chose, tu vois. Donc à côté de ça, vu que c'est moi qui décide, j'ai rarement cet arbitrage à faire. Par contre, je suis totalement dans le moule dont leur parle, à savoir travail, l'importance de ça, l'importance d'y foutre une régularité, d'être très sérieux, tout ça, machin.
La chance de vivre, le sentiment de vivre un truc... un peu exceptionnel d'être au bon endroit au bon moment.
Bien sûr, mais après, franchement, j'ai aussi eu toujours un côté bon vivant qui m'a bien sauvé sur ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'aime les voyages, j'aime bouger, j'aime faire des choses, tu vois. Et donc, du coup, toujours, je prends le temps de, tu vois, genre, je voyage plusieurs fois par an, j'ai visité quasi toute l'Europe, j'ai eu de la chance. Ouais. Je suis conscient des privilèges qu'indique ma position et ce que je fais, tu vois. Et il y a des gens qui veulent toujours plus. Moi, je suis très content de ce que j'ai, franchement. Je suis bien. Et donc, du coup, en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que j'ai appris à un peu lâcher le truc.
Ouais.
Je n'ai pas ce côté à deux doigts du burn-out. J'ai pas trop ce côté waouh machin. J'ai des semaines chargées à des moments, mais déjà le fait de me rendre compte que je suis très chanceux de faire ce que je fais, ça me permet souvent de relativiser par rapport à des gens qui ont des positions beaucoup plus difficiles, des métiers beaucoup plus durs. Et au-delà de ça, j'arrive à dégager du temps pour dormir, des fois pour pas stream ou littéralement rien faire, tout ça. J'ai des collègues qui n'arrivent pas à faire ça. Ils ont du mal. Il y en a, ils partent pas en vacances depuis 4 ans, tout ça, machin.
Et ça va les abîmer.
Ah, bien sûr que ça t'abîme au long terme. Ouais. Et ça, moi, ça va, j'ai moins ce truc. J'arrive à bouger sans avoir peur pour mon métier, tu vois. Alors, la semaine dernière, j'étais une semaine au Maroc. Je me suis pas posé la question de est-ce que je vais perdre des viewers, tu vois, machin.
Qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question-là, les streamers surtout, qui en vivent.
À l'époque, c'était plus le cas. En 2017, 2018, ça te tapait plus.
Il y a une grosse prise de conscience, quand même. Avec des AlphaCast, ce genre de personnes.
En 2023, les gens, ils sont plus comme ça. T'es pas là une semaine, c'est bon, tu reviens, c'est qu'est-ce ok. Moi, si t'es pas là 6 mois, ça peut être un peu plus.
Qu'est-ce qu'il a dit, AlphaCast? C'est intéressant.
C'était un des premiers streamers français, si je raconte pas de bêtises, à vraiment se faire des vidéos et à parler du burn-out et de la réalité que tu peux avoir en tant que créateur de contenu. T'as pas mal de créateurs américains aussi qui avaient commencé à en parler. Mais le fait que justement, tu as ce côté, si je suis absent pendant une semaine, qui va prendre cette part d'audience? Est-ce que mon audience sera là quand je reviens?
Je vais être oublié, machin. Ouais, je sais qu'en France, il le cite justement dans le chat, Étoile, il avait ça aussi.
Et ouais, exactement.
Étoile aussi, il a parlé de ça. Étoile, ouais. il a eu souci aussi.
Il a un rythme.
Il en a parlé.
De fou aussi.
Mais il en parle.
Ouais.
Mais il en souffre aussi. Enfin, c'est ça.
Étoile va lui faire prendre 3 jours off. Hein.
Ouais. Ouais. Pourquoi? Quand il le dit. Mais tu le sens dans. Il n'y a pas du tout de critique de ce côté-là, mais tu vois, quand il dit, je suis à bout, machin, je dois prendre un jour off, t'as vraiment l'impression que ça lui pèse.
T'as l'impression que le moment où il va prendre son jour off, c'est parce que l'étape d'après, il pleure, quoi. Et je me moque pas en disant ça. Hein. Non, que vraiment, t'as l'impression que c'est
le jour off, il le passe dans un tournoi Smash Bros. En plus. Je l'ai vu.
Mon Ayou.
Si, étant étoile, t'es là.
Force non, à toi,
bien sûr. Après, c'est aussi, tu vois, après, c'est le grind que le métier impose.
Bien
tu
sûr.
Vois. Mmh. T'es obligé, surtout au début quand tu veux faire ton trou, d'envoyer un volume, un paquet de trucs, tu vois.
Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que tu es meilleur, t'es très bon quand t'es créatif, mais tu restes créatif si tu te libères du temps de cerveau pour le rester, quoi.
Ah oui. Donc, t'imagines les. Bon, après, ça, c'est pas du tout la même chose parce que c'est un autre métier, mais il y a bien une raison pour laquelle souvent un artiste a du temps entre deux albums.
Ouais, bien sûr.
Tu vois, parce que si certains charbonnent, mais si tu sors toujours machin, c'est difficile d'aller garder une créativité élevée quand elle est toujours au service d'une productivité qui est.
Mais c'est sûr que sur le long terme, ce rythme que certains s'imposent, il est forcément un moment destructeur et toxique, et il faut trouver un équilibre. Celui que tu sembles avoir trouvé, Zach, d'ailleurs.
Non, ça va, je suis pas à plaindre. Je suis pas à plaindre. Après, quand moi, ma femme, de temps en temps, elle gueule. Hein. Enfin, pas elle gueule, mais elle boude quand je vais envoyer cette extra heure de stream. Où, ouais, ce soir, j'ai besoin de le faire.
Mais c'est bien d'avoir quelqu'un à ses côtés, d'ailleurs, qui t'entend tire la sonnette d'alarme. Tu vois, tout en étant compréhensif par rapport à ce que tu fais et ta passion, tu vois. Mais t'entends qu'il dit, pour ton bien, oh, attention, peut-être.
C'est important, je pense.
Ouais, c'est clair. Je surveille l'heure, 22h25.
On est bien. Bon,
je veux pas trop abuser de vous, mais du coup, je vais me faire un petit plaisir. Juste quelques minutes, parce que ça, c'est ma. C'est un thème secret. C'est un thème que j'ai pas annoncé.
Let's go.
Oh. Ah, la surprise.
Ah ouais. Ouais, c'est pas du tout dans le. Joe ne cherche pas à le mettre.
Il est pas là.
Est-ce que j'ai raté un truc?
En fait, je vous en ai parlé, vous, rapidement en DM cette semaine, mais je l'ai pas mis au sommaire. C'est un peu ma marotte, parce que moi, je rêve, dans ma carrière journalistique un jour, d'interviewer un extraterrestre. Et je voudrais juste en 5 minutes votre sentiment là-dessus. Pourquoi? Cette semaine, j'ai lu un entretien passionnant. D'une astrobiologiste qui s'appelle Nathalie Cabrol, okay. Dans la presse.
Ouais.
Donc elle bosse au CETI, vous savez, c'est le centre de recherche qui traque les signaux extraterrestres aux États-Unis. Voilà. Donc je pense que c'est une Française, mais aux États-Unis, tout le monde se moque dans le chat.
J'adore.
C'est parce qu'aux États-Unis.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette Nathalie Cabrol? Elle dit, au vu du nombre de planètes d'étoiles hein, dans la galaxie, 300 milliards, du nombre de galaxies, 125 milliards, dit-elle. Statistiquement, elle dit, il y a forcément de la vie ailleurs que sur Terre. Elle dit, c'est pas la question, c'est pas de savoir s'il y a. Elle dit, il y a. Après, quelle est la forme de cette vie?
Ouais, ça, c'est ça. On sait pas. Si c'est des microbes. Bon.
Évidemment. Donc elle dit, la vie, il y en a.
Pas impressionnant.
Quelle forme peut avoir cette vie, on sait pas. Mais vu le nombre de planètes, d'étoiles, de galaxies, des milliards et des milliards et des milliards.
Statistiquement, ouais.
Il y a forcément une forme de vie évoluée quelque part. Moi, je voudrais dire juste si vous y pensez de temps en temps, moi c'est bête, mais c'est un truc, j'y pense tout le temps, ça.
Ouais, ouais, de ouf.
Et en fait, j'adorerais de ma vie à moi vivre cette rencontre, pas personnellement, mais de l'humanité.
Ça, je sais pas.
Avec une forme de vie extraterrestre. Non, Laure, elle est pas. Elle est pas Laure.
J'adore la science-fiction, mais justement parce que c'est de la science-fiction, tu vois. Non, en vrai, oui, ça serait hyper intéressant, mais.
Tu vois, là l'hebdo Étienne avec. Tu vois, Zach, à ta place, je sais pas, Zébulon de la planète, tu vois.
Je suis autant intéressée et fascinée. J'aime bien dans Zébulon. Non, c'est génial. C'est génial.
Mais là, ça te fait plus peur qu'envie.
Je trouve ça fascinant et intéressant, mais justement encore parce que c'est quelque chose de conceptuel à mes yeux et que ça ne devient pas encore une réalité. Mais il y a plein de phénomènes de photos qu'on voit, de phénomènes. Pas, comment ça s'appelle, les UFO?
Ouais,
ce genre UFO, des UFO. Mmh. Moi, ça me fascine ce genre de truc. Je trouve ça hyper intéressant, mais je pense que ça me fascine aussi parce que j'ai une part de mon cerveau qui, je sais pas si j'y crois pas ou si je me dis c'est encore de l'ordre du surnaturel ou du fictif. Mais ouais.
Puis on a vu tellement de films, de séries aborder ces sujets-là, donc
on est conditionné par ça.
Mais est-ce que par les films,
est-ce que vous y pensez souvent? Moi, j'y pense beaucoup.
Ouais, ouais, grave.
Je pense jamais.
Jamais.
Toi, c'est. Non plus, j'y pense pas.
Ils viennent pas.
C'est pas grave, quoi.
Non, franchement, je.
Est-ce que on est pas. Enfin, on est tout petit, nous, à l'échelle de.
Ouais. De la galaxie, on est tout petit.
Total. Mais après, tu vois, genre, c'est vrai que moi, après, je suis musulman, tu vois, et donc du coup, c'est vrai que je me pose moins cette question-là. Parce que je sais pas si c'est un point qu'il faut aborder parce que j'ai pas la science de ouf.
C'est ta foi qui fait que du coup tu te poses pas cette question, c'est ça?
Ouais, je pense, ouais. En partie.
Ah, mais j'avoue. Bah ouais.
Je me pose pas vraiment la question est-ce qu'il y a un autre monde, tout ça, machin. Après, franchement, sans mentir, j'ai pas la culture de ouf suffisante de ma religion pour dire si ça c'est un point abordé ou pas dans ce qui est niveau texte. Mais du coup, j'avoue que c'est un pan, c'est assez intéressant que t'en parles, qui est totalement qui est inexistant dans ma tête.
Je crois pas que les religions se posent beaucoup la question de l'extraterrestre, tu vois.
Par contre, tu vois, un truc qui est vraiment intéressant, désolé, je t'ai coupé l'heure. Un truc qui est vraiment intéressant, si tu veux interviewer, alors quasi impossible, mais quelqu'un qui aurait. Qui serait l'équivalent. Sans dire péjorative à un extraterrestre, il y a encore des civilisations en Amazonie, des trucs comme ça, de mecs qui vivent en autarcie complète, sans avoir vraiment de contact avec.
Ce sont des extraterrestres, mais sur notre terre.
Ils viennent d'ici.
Ouais, c'est vrai, mais ils vivent d'une manière tellement différente. Sans
c'est un
être
peu extraterrestre,
crois,
ouais.
Genre de choses que ce serait intéressant.
Bon, Zach, je pose pas trop la question.
Ben, en Amazonie.
Laure, pas trop partante.
Je crois que c'est en Amazonie, j'ai pas envie de dire bêtises.
C'est intéressant.
Kayane, c'est une question que tu te poses de temps en temps ou pas? Genre, je suis tout seul.
Non, c'est quand je regarde les étoiles, une fois que je suis dans le sud et loin de la pollution et qu'on peut voir des étoiles, je me dis, c'est fascinant ce qu'il y a dans la galaxie. Mais je me dis pas, je vais parler en extraterrestre. Samuel, je pense que là, tu es tout seul.
Moi, je rêve d'en avoir un en plateau un jour. Ou ici, tu vois, avec Joe à la réalisation qui est en train de se foutre de ma gueule.
Je suis pas sûr que Joe sera à la réalisation ce jour-là, tu vois.
Alors bon, après, le mec va peut-être faire du mal, tu vois. Et alors, j'ai posé la question rapidement dans le chat, j'ai lancé un sondage là. Est-ce que vous rêvez de rencontrer des extraterrestres ? Ben, c'est plutôt non à 50%, tu vois. Oui, 39%, je suis pas tout seul dans mon trip, mais c'est pas majoritaire. Je ne sais pas, 11%, je comprends qu'il y ait 11% des gens à dire je ne sais pas. Mais je voulais partager ce truc avec vous parce que. De lire cette astrobiologiste super sérieuse, scientifique de haut niveau, qui dit, en fait, la question n'est pas de savoir s'il y a une vie, il y a de la vie. Par contre, on ne connaît pas quelle forme.
Ah, bien sûr.
Et elle dit surtout, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des formes de vie extrêmement basiques, genre virus, tu vois, tout le truc. Que
ça va finir en Last of Us ce soir. Ah, ça va.
Restez tranquille, s'il vous plaît. C'est bon.
Il voulait juste me dire bonjour.
Oui, tranquille.
Est-ce qu'on peut terminer par une petite actu de chacun ce que vos projets, ce que vos projets dans 15 jours, vos projets dans 6 mois, ce que vous avez envie de faire. Kayane, par exemple, alors, on a parlé de ton salon de thé. Moi, je trouve que c'est une belle aventure. Avec Zach, avec Laure, on va peut-être passer te voir. Moi, c'est sûr.
Avec plaisir.
Ça, c'est ouvert depuis 15 jours, 3 semaines, 15 jours. Projet, compétition dans les jours.
Voilà, la vie va changer dans 3 mois quand il y aura Street Fighter 6.
Ouais, on sent que ça.
Est-ce que tu connais ce jeu de combat sur moi?
Je pense que j'ai joué au premier, voilà, il y a très longtemps. Voilà.
Bon, ça me rassure.
T'as une bande chez toi?
Chez moi,
oui.
Dans la maison.
Oui, oui.
Non.
Il me semble. Non mais je crois que t'avais.
Non, mais en fait, ce qui est drôle, il y a un magasin de vêtements pas loin dans la rue là.
Ouais.
Où pour attirer les clients, c'est malin. À l'étage, ils ont mis des bornes d'arcade graphiques, notamment avec Street Fighter.
Voilà. Ah, c'est bons alors. Hein.
Et du coup, mes enfants, à chaque fois qu'ils passent devant le magasin, ils veulent qu'on aille acheter des vêtements là pour jouer, tu vois.
Oh là là, quelle technique. Donc, je valide complètement.
C'est bon.
Très créatif.
D'ailleurs, je serais très curieux de voir ce qu'est devenu Street Fighter, parce que moi, je connais la première version.
Bah, Street Fighter 6, ça va arriver.
Ça a beaucoup changé par rapport à mon
époque. Ça a énormément changé, ouais. Là, ils assument complètement leur nom Street. Tu vois, il y a beaucoup dans la direction artistique, ça fait
trop
vraiment
bien.
Street.
Ouais,
même
street
dans
art,
les musiques,
des trucs comme ça.
Énormément de street art, de graphes. C'est super
stylé. C'est beau.
C'est très joli, moi je trouve. Après, c'est le genre de direction artistique qui divise.
Okay.
Tu peux regarder si tu veux. Mais il y en a qui sont complètement pour, il y en a qui sont complètement contre, parce que c'est hyper coloré. Donc, je trouve que c'est bien. Tu vois, avant, tu peux te dire, si tu veux satisfaire tout le monde, finalement, tu satisfais personne parce que tu es trop neutre. Mais là, ils ont vraiment fait une DA très punchy que j'aime beaucoup. Et du coup, forcément, tous les joueurs de jeux de combat l'attendent.
Ça sort dans, tu nous as dit
C'est le 2 juin.
2 juin, ok.
Et du coup, je vais partir m'entraîner au Japon.
Trop bien, ça.
Quand ça?
Alors, je vais au Japon déjà en fin mars.
Ok.
À l'Evo Japan.
Ok.
Et ensuite, je vais rester 3 semaines au mois d'avril.
Je vais t'envoyer des petits messages.
Je vais aller pour le travail et 2 semaines au Japon. Et là, j'apprends le japonais encore plus activement du coup, parce qu'un de mes rêves, c'est de pouvoir interviewer des personnes en japonais.
Génial. Et t'as déjà commencé à apprendre le japonais?
J'ai déjà commencé à apprendre.
Trop bien. Si à la rentrée prochaine, je t'invite à la maison pour un stream, tu me fais découvrir Street Fighter, c'est possible?
Ah, c'est complètement possible.
Tu aurais un instant?
Oui. Oh ouais,
c'est
carrément.
Ok. Joe, ça, on fait ça à la rentrée.
Fais-lui pas comme au journaliste en 2006. Hein.
Non, je me suis calmée depuis.
Ah non,
monsieur, je compte bien continuer à gagner.
T'as un mode facile, en fait, dans le jeu. Maintenant, tu peux appuyer sur carré, ça fait Hadoken.
Sérieux?
Oui. Mais en fait, c'est pour vraiment rendre le jeu accessible pour ceux qui n'ont pas le temps d'apprendre les manips à quart de cercle ou à charge. Tu vois, si je dis ça à Samuel, il va me dire c'est quoi les quarts de cercle, c'est quoi les trucs à charge.
Je sens qu'il y a des trucs compliqués là.
Donc,
il y a un mode facile.
Il y a un mode où tu as les commandes plus faciles. Okay. Donc tu es limité en termes de coups, forcément. Tu n'auras pas accès à tous les coups, mais tu auras accès à des coups spéciaux.
Mais imaginons que tu
me
montres un peu à la maison comment jouer. Tu vas réussir à être très douce et pédagogique avec moi.
Ou
tu vas mettre 120-0 comme je vois beaucoup dans
Il y aura 120-0, mais ce sera avec douceur.
Avec douceur. Ce sera des tartes de sel.
Tu vas te faire défoncer, mais.
Ce sera des gifs avec des cœurs.
Je vais pas le sentir passer.
Oh, je pense qu'on va bien rire. Rendez-vous est pris. Laure, actualité.
Moi, j'attends toujours qu'on fasse une partie de League of Legends ensemble. On en avait parlé la dernière fois quand j'étais venue.
Ah, mais on cale ça.
Ah,
mais
on avait même parlé de chape, qu'on fasse un midi chapi ensemble.
Mais ces deux dernières années, tu sais, en fait, j'ai mis trop de choses dans mon emploi du temps.
Je suis pareil.
Les trois boulots, les enfants.
Samuel sur LOL,
je vais voir ça.
À partir de septembre prochain, c'est super sérieux. Moi, je veux découvrir, comprendre cet univers-là. Donc,
on va faire un Wild Rift déjà, voilà. Et ensuite on passera sur la version.
Non, mais
PC.
Oui, donc là, tu serais d'accord aussi pour
grand plaisir.
Des trucs.
Ouais.
Demain Berlin, qu'est-ce que tu
demain Berlin, où se passe le LEC, donc qui est le championnat européen de League of Legends.
C'est gros,
lequel
ça.
C'est très gros, c'est très cool. Et je travaille là-bas toutes les semaines. Après quoi, je suis censée partir en Corée du Sud d'ici quelques semaines, une fois que j'aurai mon visa, pour aller travailler sur la ligue de League of Legends, mais coréenne cette fois-ci.
C'est ce que je te disais.
Et j'apprends aussi le coréen depuis quelques années, parce que j'ai envie d'interviewer des joueurs coréens. Et je passe normalement à Tokyo en fin mars.
Ah ouais?
Ouais.
Là, il y aura les Coupes Japan.
Vous allez vous voir,
alors. Ouais, c'est pour ça que je te...
Tu devrais...
Je suis jamais allée, donc je compte sur toi. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vais y aller de la Corée.
L'autre trotteuse à mort, quoi.
Et après, on a un event à Londres, qui est l'événement de mi-saison. Et après quoi, je vais travailler sur du CSGO pour la première fois de ma vie, puisqu'on a un major de CS qui est organisé à Paris par Blast.
Le Blast, ouais.
Et voilà, c'est pour les prochains mois. Déjà.
Agenda bien rempli.
Très, très bien rempli. J'ai des événements jusqu'à la fin de l'année, je suis très contente.
Zach,
alors tu vas venir faire Football Manager avec moi?
Mais carrément.
J'espère que t'as les cordes vocales solides. Hein.
Pourquoi il faut donner de la voix
Non, ça fait donner de la voix.
Ça fait donner de la voix.
Peut-être pas dans le bon
ça,
sens.
C'est un jeu de gestion d'équipe, c'est ça?
Ouais, c'est un jeu de gestion d'équipe avec de la tactique, etc. Mais bon, au-delà de ça, j'ai arrêté le jeu parce qu'il me faisait trop brailler. En réalité, déjà, j'aimerais
ça,
bien.
Ça fait rager, me dit.
Oui, ça fait rager. J'aimerais bien continuer comme je fais à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire des vidéos, des streams, tout ça, des émissions. Et j'ai un projet de quiz foot, mais pas que quiz foot, parce que ce sera d'émissions quiz foot et aussi un petit peu porté sport en général. Si t'as envie. Et donc ça devrait se lancer dans les prochaines semaines. Un truc bien produit avec des bons invités, un truc qui fait la passerelle entre des invités de notre monde et des invités des médias normaux, tu vois. Un petit peu de jeu,
Accès sport.
Ouais, c'est ça. Ça manque un peu de jeu sur Twitch, je trouve. Donc c'est cool. Après, je dis pas que j'ai inventé le show avec les quiz.
Ah non, mais t'as raison, Zach. Je pense, moi,
je pense qu'il y a de la place pour un truc.
Il y a des trucs à faire autour du jeu.
Exactement. Ouais, donc ça, c'est un de mes projets. Ensuite, je crois que comme l'année dernière, quand je suis allé en Corée, tout le monde y est allé, je vais aller au Japon aussi, normalement.
Ah, nice.
Ouais, tu sais voir là-bas.
À partir de... ce sera fin avril, je crois. Parce que je veux faire Zach en roue libre là-bas pour interviewer les créateurs de contenu français qui habitent au Japon. Donc, Tev, Louison, ici, enfin, comment il s'appelle l'autre? Bon, il y en a d'autres, mais vous allez sortir les noms dans le chat, Japania, tout ça. Je sais qu'il y a du monde, mais en tout cas, voilà, je voulais faire ça. Ça aurait été un bon projet. Ishiban Japan, c'est lui que je cherchais, merci.
Ah oui,
le chat, vous
ne
l'aviez pas encore sorti. Haha, je suis plus rapide que vous.
Il y a une autre qui dit interview Zach en roue avec Kayane, please.
Oui, Kayane, tu viens quand tu veux, je te le dis.
Alors,
si t'as du temps soon,
alors,
avant Street Fighter.
Est-ce qu'on peut échanger avec moi qui t'invite à faire un circuit training en Muay Thai?
Muay Thai le vrai, pas le
jeu
en vrai.
Ouais, parce que.
Parce que je sais que
mais c'est trop bien.
Parce que je pratique du Muay Thai.
Je sais.
Et du coup,
tu veux me démolir?
Attendez, il faut qu'on voit
t'as
ça.
T'as déjà vu la vidéo?
Attends.
Non.
Oh là.
Et alors?
Non, mais elle est impressionnante. Impressionnante.
Bon, écoute.
Attends.
Officiellement la pince.
Voilà.
Vas-y.
Son perso préféré, c'est Kayane
X Zach en roue libre, mais Zach X Muay Thai avec Kayane.
Ah, c'est
sur son Twitter.
C'est fait.
Récemment.
Non, c'était l'an dernier.
Sur YouTube aussi.
La vidéo
tu l'as trouvée.
Tu l'as IRL.
Kayane Muay Thai.
Comment on dit Muay Thai? C'est M-Y-E, je crois.
M-U-A-Y.
C'est ça?
M-U-A-Y.
Et Thai, T-A.
THI.
Est-ce que je peux quitter une émission sans un défi physique un jour?
On m'a dit que t'aimais bien le sport.
Tu crois que c'est quoi?
J'aime bien le regarder.
Avant de se quitter, on va se regarder une petite vidéo de Kayane en Muay Thai pour voir la misère.
Oh là là,
celle-là, elle est incroyable.
Oh la vache. Ok, c'est bon, Joe, pour toi?
Attends.
Tu peux.
Un banger.
J'attends que Joe.
Avant qu'on regarde, on a bien dit initiation.
Initiation.
C'est toi là?
Ouais, c'est moi.
Elle va te
ans.
Démolir.
Si, non, moi j'ai. Toi, juste une nouvelle enceinte. C'est l'enceinte, c'est pour nous, c'est pour qu'on descend. Ouais, bien sûr.
Hop. Ce qui t'attend, Nani.
T'es bon, Joe? C'est parce qu'en fait.
Zach dans la Seso.
Mais attends, mais t'as un coup de pied ? C'est bon.
Zach, donc t'as dit oui ou j'ai pas suivi? T'as
il
dit oui dit...
De... Alors, c'est pour ça que je suis bien content de l'avoir dit juste avant qu'on voit la vidéo. On a bien dit initiation.
Mais c'était il y a deux ans, j'ai progressé de tout.
C'est ça l'initiation.
Le bruit que ça fait, ça fait.
Bon, bah, on a hâte de voir ça.
Voilà, moi aussi j'ai hâte.
Mais t'as envie de me goumer? Je t'ai fait un truc?
Non. N'en fais pas.
C'est mignon.
Tout ira bien.
Streamez ça, s'il vous plaît.
On s'est calé plein de rendez-vous. On s'est calé plein de rendez-vous.
Mais c'est bien, Street Fighter avec toi en douceur.
Ah non, mais avec plaisir. Pas en douceur.
Zach, je sais pas si c'est en douceur. Elle est là pour démolir des gens.
Tu verras, quand on va faire une date une heure et que tu vas attendre 40 minutes sans que personne vienne, autant pas faire la... Elle sera en live.
Désolé,
ouais, il arrive, Zach. Ouais, il arrive.
Il y avait des bouchons, je suis désolée.
Je serai sur l'aube.
J'adore cette idée. On a fait un stream qui va lancer plein d'autres streams.
C'est un délire.
On va casser Twitch dans les mois prochains. Merci. Et bravo à tous les trois. Merci de m'avoir conseillé.
Merci à toi.
Bravo pour cette passion que vous mettez dans toutes vos activités. Moi, je trouve ça, voilà. Moi, je suis passionné de mon métier et de rencontrer des gens comme vous, passionnés de vos secteurs d'activité. Quand je vois l'énergie, le temps, l'application que vous mettez et votre volonté de partage aussi avec les autres, moi, je trouve ça, voilà, ça m'a beaucoup touché.
Donc, merci Samuel.
Merci beaucoup Samuel.
J'espère que nos chemins se recroiseront souvent. Voilà, j'ai eu la chance d'aller chez les uns, chez les autres, de recevoir les uns et les autres. Cayenne, on a pris rendez-vous déjà pour la rentrée.
Ah, c'est ça qui est beau.
Merci à Joe. Pour
dédicace à Joe.
La qualité de la réalisation. Joe, je veux plus l'entendre. Il met plus son micro là. Je veux qu'il participe. La semaine prochaine, il remet son micro. Ce soir, on avait une nouvelle table de mixage, justement, spéciale Valérie Damido, pour que Valérie puisse hurler ici sans souci. Donc, ça a plutôt bien marché d'ailleurs, Joe, hein, le son ce soir.
C'était cool.
Ok. Joe fait un stream demain, débrief technique sur sa chaîne.
Très bien.
Joe Coco, DJOWCOCO, si je dis pas de bêtises.
Exact.
N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de tout le monde. Hein, on a dit que ça pouvait être de très bons outils aussi quand on savait bien les utiliser.
Exact.
On va doucement se diriger vers un raid. Et ce soir, je vais pas vous demander vers qui on raid. Alors je le demande.
Tu sais qui tu veux raid.
Ouais, je sais.
Ça.
Parce que je crois que j'ai l'ami Jean Massier. Oh. Qui est en raid actuellement, voilà. La semaine a été complètement folle à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Vous savez, c'était une semaine de débat intense. Il y a eu des rebondissements de fou. On est dans la dernière ligne droite parce que si mes infos sont bonnes, le débat s'arrête à minuit ce soir. Du coup, je viens de regarder à l'instant. Jean, il est en stream. Il y a du monde d'ailleurs. Il est en train de faire vivre en fait à sa communauté les dernières heures de ce débat à l'Assemblée, à savoir si notamment le fameux article sur le report de l'âge de 62 à 64 ans, l'article 7, va être voté ou pas, ce qui impliquait le retrait de milliers d'amendements, notamment de LFI. Je en parle en détail, mais Jean vous l'expliquera mieux que moi. Il y a un vrai suspense là. Donc c'est Jean qui est sur le coup. Faites-lui coucou de notre part à tous les quatre. On se retrouve dimanche matin pour une petite matinée Étienne de Revue de Presse. Pardon pour mon absence cette semaine, j'étais sur Question pour un champion depuis quelques jours là, à mort. Donc j'avais pas trop de temps pour streamer. Heureux de vous avoir retrouvé. On se retrouve dimanche et on va tous chez Jean. Je vais charger le raid. Ah, il est où l'ami Jean? C'est parti. Ah oui, il est là. Voilà. Il y a du monde. Vous arrivez, vous êtes nombreux aussi. Faites-lui coucou. Vous allez voir, il va vous faire vivre sa passion. Merci à tous.
Vraiment, merci encore Samuel.
Merci encore.
Et puis j'espère que nos chemins se recroiseront très très vite. Je lance le raid. Joe, ça va prendre quelques secondes. Et puis Joe, demain matin, à partir de quelle heure tu streams, mon ami?
9h30.
Let's go. La chaîne Joe Coco. Ouais. Allez voir mon compte TikTok, il est tout jeune. Je n'y comprends rien, mais c'est sûrement sympa. Hop, je lance le raid. Bonne soirée, prenez soin de vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
À très vite.
À bientôt.
On va aller voir.